Bonjour et bienvenue dans le Roi Steven. Chers auditeurs et auditrices, toute l'équipe est là pour vous souhaiter une merveilleuse année. Allez les gars, allez les filles, c'est parti.
Allô?
Allô? Bon, bah a priori c'est la flemme de début d'année et personne au rendez-vous. À la place, je vais demander sur patreon.com/podcut à nos fidèles patriotes quel est le meilleur épisode pour découvrir notre podcast. Il y a du monde, yes! Le suspense est insoutenable. Et ce sera... Cimetière que l'on vous propose en réécoute pour bien débuter l'année. Cet épisode de novembre 2018 nous plonge dans une histoire difficile et triste, contrairement à l'enregistrement, et notre hilarante invité Victoire du podcast Adapte-moi si tu peux. Bonne écoute!
Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode 6 du Roi Steven. Pour commencer, des petites nouvelles pour le podcast. On a rejoint récemment un label qui s'appelle Podcut avec 14 autres podcasts de tout genre, tout temps, tout style.
Et toute qualité aussi.
Toute qualité.
Ça commence à clasher.
Ouais, j'essaie de ça pue un peu.
La particularité de ce label, c'est qu'il a été fondé en partie par Julien qui est avec nous autour de la table comme à chaque fois.
Bonjour à tous, mais bonjour.
Bonjour Julien.
Bonjour Pomme, ça va?
Mais également avec Fanny, tu as fait ça, et avec Sous-X.
Exactement. On est content. Bon, ça fait que un mois et demi hein, pour l'instant.
Donc, ouais, mais pour l'instant c'est cool. En tout cas, nous on est bien avec avec les copains copines des autres podcasts.
Ouais.
Aujourd'hui, donc nous allons parler de cimetière. Mais avant, on va faire un petit tour de table quand même, savoir qui est là. Alors. Petite particularité, c'est que cette fois, nous sommes quatre autour de la même table et les trois autres sont chacun chez eux, mais c'était jamais arrivé avant. Mmh. Alors, je vais commencer par ceux qui sont pas là, quand même. Oh. Emeric.
Oui. Bonjour. Bonsoir.
Je t'ai réveillé, je suis désolée.
C'est moi.
Urde.
Je suis là.
Hey, coucou, ça va les gens?
Grand Poil.
Bonsoir.
Et autour de la table,
tu as oublié Petit Poil.
Petit Poil est là?
Non, il est pas là. Pour l'instant.
Et Mamie Poil est là, par contre, pas loin.
C'est ça.
Il n'est pas couché à cette heure-là?
Il est couché dans ses bras régulièrement.
Ouais. Ah.
Autour de la table avec moi, de la vraie table, donc il y a Émilie.
Salut.
Julien.
Salut.
Et nous avons une invitée, Victoire, du podcast Adapte-moi si tu peux.
Salut Pomme. Ah. Salut tout le monde.
Allez, on applaudit.
Salut, oui.
Je vais pleurer.
Ça va?
Ça va et toi? Je suis ravie d'être là.
L'heure, tu pisseras moins, comme vous êtes.
C'est qui cette meuf?
Sache que Béa avait été accueillie à peu près de la même manière.
Okay. Donc, voilà. Ouais, mais je l'avais écouté cet épisode, donc tu vois, je suis voilà. Au courant.
Et t'as pensé quoi de Marche ou Crève? T'as bien aimé ou pas?
Bah, en fait, du coup, j'ai eu envie de lire le livre.
Ah!
Okay. Ça repart au clash, ça y est.
Moi, je suis team, me faire ma propre opinion, en fait. Surtout quand ça concerne des livres.
Bon, bah, tu nous diras.
T'as bien raison.
Exactement.
Et du coup, tu pourras peut-être bientôt faire un Adapte-moi si tu peux dessus. Puisque le soi-disant, il y a un film qui va sortir un jour.
Il paraît.
Non, bah, mais j'ai déjà au moins 4 Stephen King qui ont des adaptations dans ma bibliothèque. Donc, mais en tout cas, si ça arrive, j'espère que l'un de vous me fera l'honneur de sa présence.
Oui. Donc, comme vous l'avez compris, un petit mot sur ton podcast.
Oui, oui. Bah en gros, Adapte-moi si tu peux, c'est un podcast qui compare des livres à leurs adaptations en film ou en série. Donc c'est assez récent, pour l'instant il n'y a que 6 épisodes.
Oh, c'est déjà pas mal, nous aussi c'est le 6ème.
Ah, ouais.
Voilà.
Bravo, c'est très bien.
Voilà, et comme vous, je suis sur une base mensuelle, donc Donc voilà.
Bon, bah, très bien. Nickel. Et donc, t'es là parce que tu nous as envoyé un message en nous disant...
Oui, je me suis complètement incrustée, on est d'accord.
Cimetière, je vous adore. Voilà,
voilà, bah, en fait, là. C'est parce que j'avais acheté Cimetière sur une brocante, genre quelques semaines avant que vous postiez le sondage. Et j'avais même pas lu le, je n'avais pas lu le résumé, sinon j'aurais peut-être été moins enthousiaste. Mais en plus j'ai aimé. Mais bref. Et du coup, quand j'ai vu votre sondage, je me suis dit, oh, bah c'est l'occasion de m'incruster.
Bah,
et du coup voilà.
Bon bah très
bien. Bonne idée.
On va se lancer dans le livre. Julien, c'est toi aujourd'hui qui nous fait...
Alors attendez, je sors mon dossier que j'ai préparé. Je le pose sur la table. Je fais du bruit. Hein.
Dossier de plusieurs pages.
Alors, Cimetière, auteur Stephen King. Faut le préciser, ça peut être...
On dit Richard Stephen Bachmann. Ou Stephen?
Oui, c'est vrai.
Stephen
alors,
King.
Moi, je dis Stephen.
Ouais, merci. Moi aussi.
Moi, je dis King depuis le début.
Voilà, livre de Monsieur King. Roman classé horreur par son éditeur. Donc, le titre en anglais est Pet Cemetery, avec une faute d'orthographe voulue, je suppose.
On double faute.
Plus tard.
Deux fautes, oui.
Ou alors il est très con.
Et il est sorti en 83, novembre 83, à New York. Alors, je sais pas si c'est utile de préciser New York, on s'en fout.
États-Unis, quoi.
Aux États-Unis.
Donc, ça va bientôt faire 35 ans qu'il est sorti. 14 novembre, 35 ans, ça fera.
Ah, c'est beau.
Ouais.
Putain, bah, donc, le fait qu'il y ait une nouvelle adaptation, c'est pour reconduire les droits.
Peut-être.
Voilà.
Ah, bah oui. C'est pas idiot, en fait.
Non, mais c'est le cas, c'est ce qu'ils ont fait pour ça. Et c'est parce qu'en fait, le premier téléfilm était sorti il y a 30 ans, je crois.
27.
Il y a 27 ans,
ouais. C'est le gros soir.
Non, mais c'était pour le lit. C'était pour la blague, mais c'était aussi une question de droit, tout simplement. Tous les 30 ans, tu perds tes droits
sur
un
blague,
livre.
Parce que le premier film, c'est déjà la Paramount.
Oui, c'est la Paramount.
Ouais, c'est ça.
Premier,
ça c'est déjà c'est la Paramount pour le deuxième aussi.
C'est pas des blagues, on rigole pas avec ce genre d'historique.
Pardon, je pensais que je pouvais me permettre.
Pourquoi le capitalisme a tout sa vie, quoi. Voilà. Et il est sorti
on
en
4
quatre...
là-dessus.
On rebondira pas là-dessus. Il est sorti 2 ans plus tard en France chez Albin Michel en octobre 85, le 31 octobre 85, qui est le jour d'Halloween.
Ouais,
c'est beau.
Ouais.
C'est un livre qui fait 475 pages en français.
Moi j'ai pas ça comme nombre de pages.
Ah ouais, t'as combien?
Bah moi attends, sur ma version, je crois que j'ai 580.
577 pour la mienne.
Moi j'ai 570.
636.
Wow. Mais vous l'avez en poche?
Ouais, je l'ai en poche.
Ouais.
Oui, bah c'est
ouais,
ça.
C'est la version.
C'est la version.
Oui, bon, on va pas se battre sur le nombre de pages.
Non, c'est moi qui ai la vraie version. J'ai plus de pages. J'ai une vraie fin.
Alors moi, je tiens à dire qu'il a écrit texte intégral sur la mienne, donc quoi qu'il arrive, j'ai raison.
C'est un King de taille moyenne, voilà, en gros.
Exactement. Et il a été adapté au cinéma. On en parlera plus tard. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Et je vais commencer par... Certains se cachent. Grand poil.
Ah, pardon. Ah bah merde, tu me prends au dépourvu. Non, bah moi j'aime beaucoup... Je prépare jamais l'intro, jamais. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vrai que je me suis aperçu que c'était pas les mêmes passages qui m'avaient choqué que la première lecture. Ça faisait longtemps, j'ai dû lire ça quand j'étais ado... Ça commence à dater un peu, mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ce bouquin.
Ok. Pomme, t'en as pensé quoi de ce livre?
Alors, pour ma part, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, c'est pas un mauvais livre, mais tu te touches déjà le foot, t'as peur de m'énerver.
Exactement.
C'est pas que j'ai pas aimé le livre, je l'ai aimé en partie, il y a des passages qui m'ont beaucoup plu. Il y en a beaucoup, il y a des passages qui m'ont gonflé, pour moi c'est un livre mouef.
Moyen.
Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas un excellent livre.
Ok. Victoire.
Alors moi, ce n'est que le deuxième Stephen King que je lis, donc je suis vraiment une néophyte du King, comme dit Hurd. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je suis pas du tout livre d'horreur, d'épouvante en général. Moi, je suis complètement une flippette, donc c'est pas du tout le genre de littérature que je lis. C'est pour ça que je disais que si j'avais su ce que ça racontait exactement, je serais peut-être partie avec un peu moins d'enthousiasme, parce que là, clairement, j'ai flippé, j'ai jamais autant flippé en lisant un livre.
Ah ouais?
Ouais, il y a eu un moment où je le lisais dans mon lit un soir et je l'ai jeté. Parce que j'étais juste plus capable de...
Il lit pas de Jessie alors.
Ouais, bah oui, j'ai cru comprendre que c'était encore pire, mais ouais, je l'ai jeté et tellement j'avais peur. En fait, je me suis dit, ah non, là c'est plus possible. Mais ouais, j'ai vraiment...
N'achète jamais de Kindle.
Ah oui, non, j'ai... Ah oui, moi, oui. je suis très poche, très, très livre physique, donc ça va.
Ça va, ouais.
Mais ouais, mais sinon, moi, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé à la fin. C'est simple, le dernier tiers, j'arrivais juste plus à lâcher mon livre. J'avais qu'une hâte, c'était d'aller reprendre le métro pour continuer. Je ne pouvais plus le lâcher. J'ai beaucoup aimé.
Ok, cool. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, comparé à ta voisine de gauche.
C'est moi.
C'est Pam, oui, attention.
C'est pas très podcastique.
Oui. La personne de gauche.
Les blagues visuelles, merci.
Émeric, tu en as pensé quoi?
Eh bien, moi, ça doit être le premier de ce qu'on lit, qui est signé, publié sous le nom de King, que j'ai apprécié de lire, enfin dont j'ai apprécié la lecture, parce qu'on est dans un style à mi-chemin entre celui de 22-11-63 et de Rage ou Marche ou Crève, donc on a quand même des longueurs parfois, mais ça reste fluide, donc ouais, j'ai bien aimé le lire, et puis l'histoire est vraiment ouf, je trouve que ouais, c'est... Enfin, j'ai bien aimé l'histoire, la façon dont ça s'articule, les différents personnages, leur rapport, leurs histoires. C'était vraiment, vraiment cool. Et puis le côté horreur, mais pas trop, sans en faire vraiment trop dans le gore, ça, j'ai trouvé que c'était bien.
Ok. Émilie, tu en as pensé quoi?
Moi, une fois n'est pas coutume, je ne l'ai pas relu pour ce podcast.
surprise.
Oh là là.
Voilà. Je m'en souviens très bien. En fait, c'est terrible. Je l'ai lu, j'avais 13 ans et à peu près vers 200 pages de la fin du livre, mon animal de compagnie est mort. Et c'était un peu terrible. C'était une tortue, mais c'est tout ce que j'avais le droit d'avoir parce qu'il y avait des allergies à la maison, machin. Donc j'avais une tortue, elle est morte au bout de 3 ans. Elle est morte pendant que je lisais Cimetière.
Mais c'est horrible.
J'en garde un souvenir un peu traumatisant parce que... Bah voilà.
Mais tu l'as enterré dans ton jardin ou pas?
Oui, dans le jardin de mon père.
Il n'y avait pas de sortie.
Turtle, si tu m'entends. Mais j'en garde un très bon souvenir.
Elle est revenue pour cette émission.
Mais c'est un King, c'est un King.
Pardon, je suis désolée, je fais des blagues nulles.
T'as raison. Ok. Urde. Tu en as pensé quoi?
Alors, moi, j'ai trouvé pas mal. Je l'avais jamais lu, donc j'ai découvert. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, pour une fois, on avait une famille à peu près normale, comparée à d'autres. Et sinon, l'histoire en elle-même, sympa. Mais pour moi, ça manquait d'horreur, par contre. Pas assez gore.
Pas assez gore, pas assez d'explosions.
pas assez d'explosions, pas assez de sang, pas assez de tout, quoi.
Pas assez de Michael Bay.
Pas assez de culottes. Il y a des points culottes. Et donc, et toi, Julien, qu'en as-tu pensé?
Alors moi, il fait partie de ma Sainte Trinité, avec Jessie et le Fléau, qui sont ceux que j'avais lus quand j'étais ado et que j'avais bien aimé. Et comme Jessie, eh ben, j'ai bien aimé le relire. Parce qu'il y a Marche ou Crève que j'avais détesté relire. Je trouvais ça trop cool.
Ok. je comprends du coup le petit
pour savoir dans quel clan
début.
Tu es.
Ça marche, je te donnerai mon avis.
Mais non, Cimetière, il est toujours cool à lire, quoi. Il est, j'aime bien la description d'Emeric, en fait. Il est entre très réaliste et parfois quelques longueurs, mais franchement, pour un bouquin de moyenne taille, il est super cool à lire. Et moi, je trouve qu'on s'ennuie pas, en fait. Et j'ai même appris pas mal de choses sur les pompes funèbres. Donc, comme quoi.
Les différents cercueils, la matière, l'emplacement.
Exactement.
Non, mais c'est bien, c'est que ça rejoint, enfin, ça peut se rajouter. On devrait faire un wiki entre ce qu'on apprend. La dernière fois, Émeric nous a appris comment on
crocheter une serrure.
Et cette fois, ça serait comment...
Choisir un cimetière pour ton bébé mort.
Les petits tutos du roi.
Ouais, ou quel cimetière choisir, quel type de tombe.
Choisissez un caveau scellé.
Voilà, c'est plutôt intéressant. Je vous propose de... Si tout le monde a tout dit...
Oui.
Je vous propose de commencer le résumé de ce livre. Tout le monde est bon?
Yes.
On est bon.
Tout le monde est bon.
On t'écoute.
Alors, c'est parti. Première partie, le cimetière. Louis et Rachel Creed, leurs enfants, Ellie, 5 ans, Gage, 1 an et demi, et leur chat, Winston Churchill, dit Church, arrivent à Ludlow.
Ludlow.
Pas mal, ça, comme moyen mnémotechnique.
Petite bourgade du Maine pour commencer une nouvelle vie. C'est une ambiance de déménagement et de fin d'été. Et on en profite pour faire la connaissance de cette petite famille lambda et de leurs voisins lambda, Judson et Norma Crandall, deux petits vieux qui ont toujours habité ici.
Alors
pour précision, juste je fais ma petite précision, pendant tout le résumé, je vais les appeler les vieux, le vieux, la vieille. C'est vraiment, c'est affectueux, je tiens à le préciser maintenant.
En même temps, ils sont vieux.
Ils sont vieux, et pour moi, le vieux ou la vieille, c'est pas forcément méchant.
C'est pas une insulte.
Voilà, c'est tout. Donc je préfère préciser, c'est pas par animosité pour eux.
Ouais.
Grand poil.
Okay. Très bien, c'est noté.
Grand poil, tu allais dire quelque chose?
Que dès l'entrée, là, on sent que ce que t'appelles l'ambiance de déménagement, ils ont l'air contents d'arriver, mais surtout, ils ont l'air bien sur les nerfs. À deux doigts de se fighter assez régulièrement, et le chat, il a failli prendre cher aussi dès le départ.
C'est une préparation de paiement, je dirais.
Peut-être.
C'est une préparation de paiement.
Peut-être bien.
Ou simplement un déménagement normal.
C'est jamais très marrant, les déménagements.
Et là, du coup, on en apprend un peu plus. On voit, ils nous décrivent la baraque qui a l'air franchement énorme pour un professeur d'université. Et on a tout de suite le.
Oui, ils sont tous super impressionnés par ça.
Ah, mais il touche 60K, le mec, il pèse, hein.
J'avoue.
Non, mais, oui, mais là-bas, ouais. Le système d'impôts et de charges est très différent. Donc, en fait, 60K, c'est pas énorme aux États-Unis.
Oui, mais avec l'inflation, on a pas.
60K en, dans les
on
années 80.
On a déjà
80.
Eu cette discussion.
Ah, oui, j'avais
oublié. C'est pas toi, Marie, qui calcule l'inflation normalement, Bruno.
Alors, oui, mais non, c'est moi qui en parle. Mais, ouais.
Alors, pour nos auditeurs qui sont. Comme moi, et qui ne gagnent pas 60K, donc ça veut bien dire 60 000 $.
Hein? Oui.
Par an.
Voilà, par an, évidemment. Non, mais tout le monde n'emploie pas 60K.
Ah, pardon.
Ah bon?
Alors, on va peut-être avancer, parce que là, on en est juste au premier chapitre.
Ouais, mais tu passes très très vite, hein, la connaissance de... La prise de connaissance avec Judson, donc Judd, qui sera, comme il sera appelé tout le long, est quand même, je trouve, importante. Le petit vieux qui a l'air de rien et qui a l'air...
Super
dès le départ, on le présente un peu super sympa et surtout mystérieusement agile de ses doigts pour un mec de son âge.
Oui,
parce qu'il aide le petit Gage qui se fait piquer par une abeille dès l'arrivée.
Voilà, il a des grosses mains, il lui enlève, genre.
Enfin, il a l'air surtout d'avoir une famille relou. Comment il s'appelle le héros?
Louis.
Bah,
oui, Judd,
normale,
en fait,
quoi,
c'est un vieux sympa. C'est le voisin parfait. Et d'ailleurs,
et Louis
la
tout
toute
suite
première
lui,
phrase... Hein. Vous m'entendez ou pas?
Oui,
vas-y.
On t'a juste coupé.
Oui, on s'en fiche. Okay.
D'ailleurs, la toute première phrase, qui est digne d'un roman de Proust, elle fait je sais pas combien de mots, il doit y en avoir une centaine dedans, c'est la première phrase qui dit que c'est... L'ouverture du roman, c'est Louis Creed n'en revenait pas de découvrir qu'il a...
Ça va, Emmerich?
Je vais vous la lire, ce sera plus simple.
Non,
Louis
si,
Creed,
ça
qui avait perdu son père à l'âge de 3 ans et n'avait jamais connu aucun de ses deux grands-pères, ne serait jamais attendu à trouver un père aux approches de l'âge mûr, et pourtant c'est exactement ce qui lui arriva, quoiqu'il préféra donner à cet homme le nom d'ami, comme on est bien forcé de le faire lorsqu'on est adulte, et qu'on découvre le père qu'on aurait voulu avoir dans une phase relativement tardive de l'existence.
Alors, respire un coup.
Justement, moi, ce que j'avais noté, au départ, c'est info qui a l'air importante pour la suite de l'histoire parce que ça revient plusieurs fois. Le vieux, donc je l'avais prévenu, le vieux va devenir le père que Louis aurait aimé avoir. Et en fait,
c'est ça.
Cette info, on s'en tape.
Non.
Bah non, ils sont potes.
Bah non.
Mais tu peux être pote sans avoir l'impression.
Non, mais ça induit une relation de confiance. C'est-à-dire en plus, Judd va se montrer ensuite un peu comme un maître mystique par la suite du roman. Donc
moi,
c'est super important.
La relation, elle est plus dans le sens où Louis va être un fils pour Judd et du coup, il va lui confier un secret qu'il n'est pas censé lui confier. Je pense que il le présente plus. Il est le père qu'il aurait voulu, mais c'est plutôt l'inverse.
Moi, je sais pas. Moi, je trouve que le fait qu'ils soient très amis suffisait. Je m'attendais à ce que ce soit plus développé. Bon, on continue.
Si, c'est logique.
Oui. Mais... Bon, d'accord. Bon, ok, c'est logique.
Je vais pas le dire maintenant, sinon ça spoil. Mais bon.
Alors, dès le premier soir, Louis profite que sa petite famille dorme pour répondre à l'invitation des vieux à les rejoindre sous leur porche pour boire une petite bière, et sa papote de la route qui fait du bruit et qui est fatale aux animaux qui la traversent. Et à ce moment-là, Jude dit quelque chose que je trouve que c'est un conseil que tout le monde devrait vraiment garder. Il dit « Un homme qui n'est pas sincère en offrant une bière se fait des ennemis. » J'aimerais que tout le monde note cette phrase et la garde.
En fait, voilà. il y a une raison aussi un peu à ça, c'est que Louis étant médecin, il pense que l'invitation de Judd et de sa femme, c'est surtout pour qu'il puisse les examiner à l'œil, et il va vite s'apercevoir que c'est pas du tout le cas.
Oui, c'est vrai.
Donc ça continue à induire cette relation de confiance entre eux assez rapidement.
Ouais, c'est comme quand t'es un informaticien et qu'on t'invite à manger et que « Oh mince, mon imprimante, elle marche pas, au fait !»
J'ai des
Ça sent le vécu, Urde.
Ah, complètement.
Bon, le vieux file des infos sur le petit chemin qu'il y a derrière la maison de Louis et qui part dans la forêt. Donc, on nous explique qu'il est entretenu par les mômes du village, qu'ils font ça d'eux-mêmes chaque année. Donc, je pense que ça arrive dans aucun vrai village ou ville. Et c'est le chemin qui mène au cimetière des animaux. Et du coup, le vieux met en garde Louis contre le risque que le chat se fasse écraser sur cette route très passante.
Ouais, d'ailleurs, il lui demande s'il a toujours ses couilles.
Oui, c'est vrai.
S'il est coupé.
Ouais. Mais c'est une question super pertinente pour les propriétaires de chats.
Tout à fait.
Normalement, il faut les castrer, oui.
Bah voilà.
Moi, j'avoue que c'est pas forcément la première question que je pose aux gens quand ils me disent qu'ils ont un chat.
Est-ce qu'il a encore ses couilles?
C'est ça. Moi, le mien, les a plus, et le vôtre.
Franchement, c'est pas parce que ton chat
a posé la question pour savoir s'il allait.
S'il est du genre à vagabonder.
Voilà.
Mais oui.
S'il est du genre à aller chercher la femelle.
Donc, lorsque Louis.
Entre
Sinon, on en pense quoi de Churchill pour un nom de chat? Ça passe ou pas?
Aucun ça passe sur la question.
Pour les États-Unis,
le diminutif est plus mignon. Sympa quand même.
En fait, c'est un peu comme si j'appelais mon chat Georges Pompidou.
Je pense que je viens pour appeler son
Jacques
chat
Chirac.
Macron,
hein.
Et tu l'appelles Chirac. Son diminutif, ce serait quoi? Pompi.
Pompi, ouais.
Pompi, ouais. C'est bien pour un chat.
Pompon. Pompidou.
Alors, juste non, à ce passage-là aussi.
Ça serait jour.
Il y a une référence à un autre bouquin de King dans ce passage-là. Parce que c'est le moment où il lui dit que dans le sud de l'État, il faut qu'il se méfie de la rage, que dans le sud de l'État, il y a eu un gros chien. Saint-Bernard qui aurait croqué des gens.
Mais qui sait?
Et ça, ce serait Cujo.
C'est pas Christine?
Donc on reste sur Cujo, hein. On valide tout.
Parce que Christine, c'est une femme, c'est pas un chien.
On reste sur Cujo. Christine, c'est une voiture. Ça suffit. Lorsque Louis rentre chez lui, donc après avoir bu des coups avec les vieux, on assiste à une séquence émotion virile très années 80, puisqu'il profite du fait que personne ne le regarde pour faire un petit bisou à son fils qui dort. Ah. Et c'est bien précisé.
Moi j'ai noté ça, c'est pas viril. J'ai l'impression que c'est plutôt qu'il a peur de ses sentiments. Alors ça rejoint un peu le côté viriliste, mais qu'il a peur de ses sentiments. Il y a quelque chose qu'on verra un peu par la suite aussi.
Il a peur d'aimer son fils.
Bah, c'est non, mais de le montrer, de montrer ses sentiments. C'est ça qui doit être.
Ah mais oui, mais c'est ça. Quand t'es un homme dans les années 80, tu montres pas tes sentiments.
C'est la masculinité.
Mais non, mais Louis, c'est différent. Il a pas eu de relation avec ses parents beaucoup. C'est pour ça qu'il a un rapport difficile avec ses enfants. Parce que quand t'as pas eu toi-même de modèles parentaux, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quoi reproduire avec tes enfants.
Plus simple pour Victoire.
Pourtant, il s'en sort bien, je trouve.
Bah oui.
Mais oui.
C'est
un père modèle.
C'est un père modèle.
Bon, allez, les vacances sont
finies. À part quelques détails, ça va.
À part de tenir son enfant en laisse.
Les vacances sont finies. Donc, Louis a commencé en tant que médecin du campus à la fac. Et Ellie rentre de son premier jour d'école ravie. Donc, c'est une soirée lambda dans une famille lambda. Mais au moment de coucher le bébé, Louis a soudainement peur. Il ne sait pas trop pourquoi. Il pense avoir senti un fantôme. Alors là, ça tombe de nulle part. Moi, je.
Ouais, alors c'est.
Je pense que c'était censé faire peur, mais.
Un peu bizarre, mais surtout, ça, c'est pour, je pense, installer l'atmosphère un peu pesante. Et peut-être on verra par la suite, qu'on s'étonne pas trop que Ellie, elle aussi, ait des prémonitions plus tard.
Des visions, ouais.
Et puis aussi, je trouve que dans ce livre, ça, enfin, c'est assez cohérent parce qu'en fait, il arrête pas, enfin, l'auteur Stephen King n'arrête pas de dire que ça va mal se terminer, en fait, que ça va mal se passer. Il n'arrête pas de dire, il y a des mauvais présages, le cauchemar allait bientôt commencer. Donc, c'est cohérent par rapport à l'atmosphère qu'il veut distiller, je pense.
C'est vrai qu'il prépare pas mal.
Il prépare énormément. Il arrête pas de dire attention, le cauchemar va commencer.
On sait que ça va mal se passer, quoi. Dès le départ, ça pue un peu.
Ouais.
Exactement, ça pue.
Ouais,
littéralement. Ouais, puis on n'a même pas besoin de chercher si loin. Quand tu viens de déménager dans une nouvelle maison, finalement, ça me paraît pas foufou de tout d'un coup te dire putain, c'était quoi ça. Enfin,
il y a enfin. Ouais, puis ça pue, quoi. Il faut ouvrir pour aérer.
Voilà, <aussi. rire> Non, mais ça y est, c'est nickel. Ça me paraît pas foufou, moi.
La première semaine est finie, c'est enfin le week-end, et toute la petite famille et le vieux, donc, en profitent pour partir à la découverte du petit chemin qui mène au cimetière des animaux. Quelle merveilleuse promenade en famille.
Ouais.
On revient sur le fait que ce sont les enfants qui l'entretiennent chaque année, donc moi je reste convaincue que c'est pas possible dans la vraie vie. Le chemin est fleuri, et le cimetière est organisé de manière quasi maniaque, donc de manière concentrique. Les tombes sont installées de manière concentrique. Et
spirale.
Donc,
il est
utilisé... Hein ?
Ça veut dire quoi,
spirale ?
Ah.
Ah oui, tu as raison.
Alors, il me semble que non. Il me semble que la spirale, c'est pas à cet endroit-là. Là, ici, c'est des cercles concentriques.
Si, c'est une spirale.
Pardon.
Mais en fait, au début, spirales, il croit que c'est des cercles concentriques. Et puis, au final, il se rend compte que c'est une spirale. C'est
oui, d'ailleurs, les tombes du milieu, elles sont quasiment illisibles tellement elles sont anciennes.
Voilà, c'est ça, plus de 100 ans. Et donc, arrive un des personnages principaux, à mon sens, de ce livre, le tas de bois.
Ah oui.
Alors c'est peut-être pas un personnage, mais c'est un élément principal.
On va s'éclater.
Ouais, c'est une super lecture. Alors personnage principal, attention.
Est-ce que vous sentez que Pomme a vraiment aimé ce livre ou pas?
C'est vrai qu'on n'a pas fait un tour de table des avis, mais ça se sent. Ouais.
En fait, non. À ce moment-là, il y a Ellie qui monte. Il y a un tas de bois. Ellie monte dessus et le vieux lui dit: "Ouh là là, surtout pas. Ça risque de s'écrouler. Tu vas te faire mal. On en reste là. On rentre à la maison. Tout va bien." Avec cette balade au cimetière des animaux, la petite Ellie donc a pris conscience que tout être vivant peut mourir un jour. Bon, elle a 5 ans, c'est pas normal. Elle s'inquiète pour son chat et elle est extrêmement triste. Bah si, à 5 ans, tu prends conscience de ce genre de choses.
Vous dites la même chose.
Oui, il a dit c'est pas anormal.
Allez, bah, en fait, il nous manque, enfin moi, de mon côté, il manque encore de temps en temps quelques mots, ou des morceaux.
Oui, mais ça va venir, c'est de ton âge, c'est normal, en grandissant, tu vas les apprendre. Donc avec cette balade au cimetière des animaux, la petite Ellie a pris conscience que tout être vivant peut mourir un jour. Comme elle a 5 ans, c'est pas anormal. Et elle s'inquiète pour son chat, elle est extrêmement triste. Et Louis raconte ça à sa femme, qui explose de rage et lui interdit de reparler un jour de la mort avec leur fille, parce qu'elle estime que ce n'est pas naturel de mourir.
Ça cache on sent qu'il y a, un gros traumatisme de cet endroit.
Puis déjà, Rachel, elle voulait même pas, quand elle a vu que c'était un cimetière, la balade du dimanche, elle était super vénère.
Elle était pas bien sur place.
Il me semble qu'elle a même pas voulu rentrer dedans, hein, qu'elle est restée juste à la
ouais,
limite.
Ouais, elle a pas été regarder les tombes
regardé,
en détail.
Elle a regardé Gage, je crois. Mmh.
Donc on sent bien qu'il y a un truc.
C'est
on
ça.
Sait pas quoi, mais on sent qu'il y a un truc.
Elle a, pris le bébé comme excuse, genre. Pour
un
pas
adulte
aller,
qui t'explique que c'est pas naturel de mourir, il y a quand même un truc qui. Bon, bref. Mmh. Au chapitre 10, nous avons un chapitre de réflexion sur la mort avec les vieux. Chapitre important. Il nous explique que jadis, on ne parlait pas de sexe, mais que la mort était partout. Et alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire.
Et alors, qu'en penses-tu, Pomme? Vous avez 4 heures.
Ce sera pour l'épisode bonus de ceux qui donnent au Patreon.
Voilà, c'est ça. Donnez au Patreon si vous voulez savoir ce qu'on pense de ça.
Et on enverra une dissertation signée de notre main.
Dans le chapitre 11, j'ai relevé une phrase que je vous cite. Donc c'est Louis qui réfléchit et qui dit que il ferait couper Church et cela mettrait un point final à la paranoïa morbide qui s'était emparée d'eux. Et j'ai trouvé ça d'une logique imparable. On a peur de la mort, on va faire couper le chat.
C'est logique pour essayer de le protéger, vu ce qui a été annoncé au départ, que s'il vagabonde trop, il prend encore plus de risques qu'avant.
Ouais, mais j'aimais bien sortir cette phrase du contexte.
En plus, on verra que c'est une superbe idée déjà.
Ouais.
Et de deux, on n'a pas aussi appris que Judd, il a enterré son chien dans le cimetière des animaux.
Si.
Pas à ce moment-là, si déjà.
Si,
quand il a précisé quand il est mort de sa mort naturelle.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, c'est ça, la précision.
Et là, il avait 10 ans, je crois. Non, 14 ans quand il est mort de sa mort naturelle.
Ok. Parce qu'il y a, après, il y a une réflexion,
il y a
sur,
une réflexion
l'âge.
Sur l'âge.
Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi, enfin, c'est un peu peut-être de la masculinité mal placée, mais pourquoi Louis, il pète un câble à l'idée de faire castrer son chat? Parce qu'il y a quand même toute une réflexion là-dessus en mode, non, mais mon chat sera pas pareil si je le fais castrer. Enfin, je veux dire, calme-toi, c'est pas tes boules, quoi.
Bah, il a peur pour lui. Il y a un rapport, je pense qu'il fait un rapport direct.
Bah oui, mais c'est quand même On est d'accord, c'est de la masculinité mal placée.
Oui, mais il le dit de toute façon que même lui, il trouve ça bizarre sa réaction, c'est clairement en lien avec ses testicules.
Ouais.
Mais pour dire que ça a été écrit il y a 30 ans, ça, je trouve déjà, il pensait pas mal parce que.
Même
à l'heure actuelle, ça existe, au 35 même, parce qu'à l'heure actuelle, ça existe encore des gens qui veulent pas castrer leurs animaux parce que, putain, il sera pas
c'est
pareil,
un mal
et puis moi je pourrais pas,
pareil,
ouais. Et puis machin, alors que oui, castrez vos animaux, ok.
Oui, c'est super important, je suis complètement
d'accord.
C'est
mon message personnel.
T'as raison.
Surtout après, ils font pipi partout les chats, c'est chiant.
Voilà, ils font chier et tout, donc castrez vos putains d'animaux, voilà.
C'est peut-être pas le sujet
de cet
épisode.
Oui, mais après, ils
n'ont
plus leur instinct de tueur.
Ouais, c'est ça.
Bon, ah, mon chat a toujours son instinct de tueur, même en étant castré. Voilà,
c'est l'excuse que sort Lou.
Non, le mien aussi. Hein.
Qui perdra sa vivacité. Son,
alors, puisque tout le monde parle de son chat,
baroudeur.
Si quelqu'un veut adopter un chat, il peut me contacter. Il est castré.
Et là, c'est le moment où il y a une première engueulade entre Louis et Rachel qui sont pas d'accord sur la façon dont ils doivent continuer à aborder ce sujet-là avec Ellie. Pour Rachel, ils doivent
on
plus rien
dire.
C'est ça, ils doivent plus rien dire. Et pour Louis, et du coup, elle le charge, elle dit, c'est toi qui t'en occuperas, tu te débrouilles, quoi.
Attends, tu nous parles de quoi, là?
De la castration?
De la castration du chat?
Non, du sujet d'aborder la mort auprès d'Elie, parce qu'elle continue, à s'inquiéter, elle a fait une grosse colère en disant, c'est pas le chat du bon Dieu, c'est le mien, enfin voilà, plein de trucs comme ça.
C'est mignon quand elle dit ça.
Parce qu'en gros, ils lui ont expliqué que des fois.
Choper tous les chats, ouais.
C'est ça, le bon Dieu peut choper les chats, peut les rappeler à lui, et dit « Ah non, c'est mon chat, c'est pas celui du bon Dieu !»
Donc les choses sérieuses, quoi.
Elle veut plus qu'on parle des chats.
Non, c'est bon, je dis plus rien. C'est bon.
Le week-end est fini, tout le monde va se coucher, demain c'est lundi, et c'est là que les choses sérieuses commencent, à mon sens. Pour l'instant, c'était du blabla. Première mort à la fac, sur le tapis de l'infirmerie directement. Le gars, qui s'appelle Victor Pasco, s'est fait défoncer par une voiture et a le crâne explosé.
Qui, dans l'adaptation en français, s'appellera Pascal.
Ah ouais ?
L'adaptation du livre. L'adaptation du film.
T'as regardé le film en VF ?
Bien sûr.
Ah ouais, non, parce qu'en VO, c'est bien respecté.
Ouais,
c'est
en VO,
Pasco,
c'est respecté. Ouais.
Je savais pas qu'en anglais, Victor se dit Pascal.
On apprend beaucoup de choses.
Je l'ai regardé hier soir, je me souviens pas qu'ils l'ont appelé Pascal. Pascal Pasco ?
Non, Pascal, juste Pascal.
Non, c'est Pascal, le gentil fantôme dans la bouche d'Elie.
Ah. Okay.
Non, mais il y a rien de pire que les VF des films des années 80.
Ah non, elles sont trop bien.
Ah. Ouais, revenons.
Mais il a une belle première journée à la fac.
Ouais. Voilà, première journée. Et t'as un étudiant qui s'est fait défoncer par une bagnole, le crâne explosé, l'épaule démise. Enfin, ça a l'air assez crade.
Alors, ouais, ça sert.
Juste avant ça, moi, j'ai noté un petit point marrant, c'est que sur le trajet pour aller à l'université, il a les Ramones qui sont en train de chanter.
Oui, un peu tout le temps. Ouais.
Voilà, et c'est Rockaway Beach, donc ça n'a pas de rapport avec la chanson, mais ça m'a fait marrer de voir que derrière, ils avaient...
Ah, mais d'où le fait qu'ils ont fait ensuite la bande originale du film.
Voilà, les Ramones ont fait Pet Sematary, le titre du film.
Ah, exactement. Bien vu.
Il y avait un truc à sauver du film, quoi.
Oh, ça va se fighter.
Allez, missile.
Vous voyez pas les têtes, mais...
On avance.
Émilie a retroussé son nez d'un coup. Bon, allez, on avance parce que... Bon. Donc, le gars, il est en mort cérébrale sur le tapis, mais avant de mourir complètement, il glisse quand même à l'oreille de Louis que le cimetière qu'il a vu n'est pas le vrai cimetière et plein d'autres trucs de mecs mourants chelous dans un film d'horreur.
Notamment son nom. Qu'il lui a jamais dit.
Oui, et puis il lui dit aussi une sorte de petit poème. J'ai pas retenu.
Et d'ailleurs, vous avez pensé qu'il divaguait ou que c'était vraiment ce qui s'était passé?
Je pense que c'est le flash de conscience que t'as juste avant de mourir.
Non, mais non, il est en mort cérébrale, le gars, déjà, à ce moment-là.
Mais il est pas censé parler, c'est chelou.
Bah oui, c'est ça.
Oui, mais attends, on n'a pas vu que Victor Pasco, ses parents, c'était un peu des Indiens qui vivaient dans une réserve. Donc il n'y a pas eu un truc mysticisme en mode esprit qui est passé?
Je sais plus s'il a un... Ouais, je crois qu'il y a un lien avec les Indiens, mais par contre, il n'a pas un lien avec Ludlow. Non, mais parce qu'il a pas un lien avec la ville.
Ah oui.
Donc, c'est pour ça que Louis se demande mais comment il connaît le cimetière des animaux. Mais s'il a un lien avec les Indiens, il connaît le cimetière des animaux.
Ouais, moi je me suis dit, c'est de la magie.
C'est un micmac.
Voilà.
Peut-être.
Qui est le nom de la tribu des Indiens du coin. Non, parce que tout le monde le sait pas. Tout le monde n'a pas compris la vanne, forcément.
Bah ouais.
Allez, on avance parce que là, on va arriver à ce que tout le monde attend depuis le début, à savoir le premier point culotte.
Ah.
Louis a
à passer une
victoire
journée.
Un peu circonspecte. Circonspecte.
Ouais. Ah non, moi j'aime bien qu'on parle de culottes.
Très bien. Tu vas aimer King.
Tu devrais lire plus de King alors.
Ah ouais.
Il y a un point.
C'est prévu. C'est dans ma pile à lire.
Il y a au moins un point culotte dans chaque livre de King. Et maintenant que tu le sais, bah, tu vas les voir.
Oui, il y a Rachel en barésie, c'est pas ça?
Alors, c'est pas des barésies, c'est sa culotte. Qui... Non, son soutien-gorge est en résie et sa culotte est transparente. J'ai noté exactement...
Élégant, très élégant.
Et on est dans le détail.
Exactement. Alors, donc, ce qui s'est passé, pour remettre un peu dans le contexte. Louis a passé une journée de merde, on est d'accord. Il rentre.
C'était son premier jour au boulot.
C'était son premier jour. Il rentre, il ouvre la porte et, je cite... Sa femme lui ouvre donc en ne portant pour tout vêtement que le soutien-gorge en résille qu'il aimait tant et une culotte à moitié transparente. Moi, ça m'a fait penser à une femme des années 30. C'est-à-dire qu'elle reste à la maison, elle s'occupe des gosses, elle s'occupe de la maison. Et quand son mari a passé une journée de merde, elle arrive, elle doit être agréable à vivre, sexy et sympathique.
Attends, vous ne faites pas ça, vous?
Bah, quand ton mec a passé une mauvaise journée, la moindre des choses, c'est de pas le faire chier, quoi. C'est...
Voilà, la moindre des choses.
Dis plus, donc, est-ce que quand moi je passe une mauvaise journée, tu crois que mon mec il a autant de considération?
Est-ce que
il devrait être
transparent déjà.
Est-ce qu'il met un petit
soutif en résille?
Il met un petit caleçon en résille. Je ne sais pas l'avouer, mais oui.
Un petit Marcel en résille.
Et un Marcel en maille, là.
Un petit Marcel en maille, là.
Non, par contre, on se demandait si oui. Jessie était un livre féministe. On sait que Cimetière l'est, hein, parce que le personnage de Rachel.
Débat, ouais, c'est
donc Louis s'endort comme un bienheureux après s'être fait tripoter par sa femme à s'en faire péter les tympans, c'est ce qu'il y a écrit dans le bouquin.
Oui.
Ce qui est une expression assez étrange, ouais. Mais ça sent la traduction un peu à l'envers.
Je sais pas, ouais. Je suis pas allée chercher, mais j'ai tellement aimé ce truc.
Oh, d'ailleurs, et on a oublié, je voulais juste vous signaler une expression que je ne connaissais pas, qui l'emploie, mais bien avant, qui s'appelle, il dit à un moment qu'il fallait laisser pisser le mérinos.
Oui, j'ai
vu
ça.
Je l'ai noté parce que je sais pas si quelqu'un la connaissait, celle-là.
Non, non.
C'est
non,
pas important, mais du coup, indispensable à mentionner.
Et pourtant, je viens du Nord-Pas-de-Calais, donc les expressions, normalement, je connais, mais.
Celle-là, elle n'existe pas dans le Nord. Les mérinos, on les mange, c'est des lapins, non?
Ah mais bon, c'est pas des mouettes,
des moutons.
C'est pas des
Bienvenue c'est, sur c'est, 50 c'est... millions d'amis.
C'est des moutons.
C'est 50 millions d'amis bourrés. Hein.
C'est la laine de mérinos. C'est des moutons, des lamas, non?
C'est pas une ligre. C'est pas une ligre.
Les lamas et les moutons, c'est déjà pas la même chose.
Oui, c'est pas la même chose, mais tu sais ce que c'est, toi?
On clôt le débat.
Bon, on avance pendant que quelqu'un.
C'est une race de moutons, voilà, le débat.
D'accord, très bien.
Voilà, j'avais raison.
Mais oui.
Donc Louis dort, le chien. Donc là, il est profondément endormi.
Bah, avant, il décline la proposition de Jude, de sa femme qui lui dit va boire une bière chez Jude, et il lui dit pas ce soir, je suis trop pompé. Alors peut-être que je sais pas bien lire, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé.
On n'a pas
tous les détails.
À moins qu'il y ait une ellipse, elle a utilisé que ses mains.
Cela ne nous regarde pas.
Ou alors elle l'a fait sans les mains.
Non, parce que d'abord elle a utilisé que ses mains et après ils ont refait des trucs dans la chambre.
Ah. Ils ont pas commencé dans la baignoire.
Si, c'est ça, justement. C'est à ce moment-là que ça lui fait péter les tympans.
Avec le gant de crin. Avec le gant de crin.
Ah oui, voilà.
Avec le gant de
crin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, dans la baignoire et tout.
Bon, allez, on
n'a pas fini.
J'aurais jamais pensé à un gant de crin. Faut que j'essaie.
Non, surtout pas. Surtout pas.
C'est vrai, exfoliation.
On fera un point gant de crin au prochain enregistrement.
Ça roule.
J'espère que les poditeurs sentent à quel point l'ambiance est lourde dans le livre et que le stress monte.
Et que c'est vraiment un livre d'horreur.
Un livre d'horreur.
Exactement. Justement, Louis est en train de dormir. Quand tout à coup, le macabé du matin, donc Pascal.
Victor Pascal.
Est dans sa chambre. Donc Louis pense qu'il rêve et en même temps, tout lui paraît très vrai. Finalement, Pasco l'amène au cimetière des animaux et lui montre le tas de bois au fond du cimetière qui s'est transformé en tas d'os mouvant. Et lui dit, donc ça fait peur, le tas d'os mouvant. Et Pasco lui dit de ne jamais franchir ce portail. À ce moment-là précis,
qu'il faut
il
pas
ne
l'ouvrir.
Nous reste plus qu'à deviner combien de temps va mettre Louis pour passer par-dessus ce putain de tas de bois.
En même temps, enfin, là, c'est dans tout le bouquin, on sait ce qui va arriver. À ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. La seule surprise, c'est les conséquences que ça a.
Oui,
mais on sait systématiquement qu'il va y avoir des emmerdes et c'est pas subtil, non, c'est pas subtil. Non.
Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a au-delà du portail.
Non, ça, on
sait
pas encore. Mais
tu sais qu'il va le franchir.
Tu sais que ça va arriver.
Oui, mais tu sais pas ce qui se passe.
Bah, tu sais qu'il y a un autre cimetière, donc tu
oui, mais ça garde, ça garde un petit peu de subtilité quand même.
Bon, d'accord. C'est
moi, j'ai noté qu'il faisait peut-être une référence à Lovecraft quand il dit qu'il y a une chose sans âge mais qui n'est jamais en repos.
Alors là, je suis pas complètement sûrement. D'accord.
Bah, c'est Cthulhu.
C'est Cthulhu. C'est Cthulhu qui dort dans Rillier.
Oh putain.
De toute façon, on sait que toutes les références possibles qu'on peut relever de King à Lovecraft, c'est certainement pas dans nos têtes parce qu'il est complètement inspiré de Lovecraft.
Ah oui.
Donc tu as raison.
Moi, je pense qu'on va se faire défoncer par les fans.
Qu'ils viennent.
Oh, oui,
c'est clair. Nous sommes légion.
Louis se réveille dans son lit. Évidemment,
c'est mieux.
Un rêve.
Jusque-là,
il était dans un cimetière d'animaux au milieu de la nuit avec un macabé, quoi. Il se réveille dans son lit. C'était un rêve, c'est bon, tout va bien. Sauf qu'en poussant la couette, il se rend compte qu'il a les pieds sales et qu'il a des blessures qui correspondent à ce qui s'est passé dans la nuit. Alors il se demande si ça s'est vraiment passé.
C'est de la... un rêve. Alors, on avait quand même quelques petits détails qui nous pouvaient nous mettre sur la voie que c'était pas un rêve. C'est-à-dire que Victor, lui, pouvait passer à travers les portes alors que Louis, lui, il se les mangeait dans la gueule et était obligé de les ouvrir à la main.
Ouais, c'est ça. Il y a une règle qui dit que dans un rêve, t'es obligé de pouvoir passer par les portes.
Bah, si y a un qui le fait, si t'as un fantôme qui le fait, normalement, tu dois pouvoir le faire. Si t'es dans un rêve.
Ah bon, d'accord.
Après, c'est de la logique vite fait.
Oui, c'est de la logique vite
Donc il a les pieds sales, il va se laver.
Oui, et il jette les draps au sale pour pas que sa femme les voit.
Pour pas que sa femme les voit. Mais bon.
Il pense qu'il est somnambule, il sait pas trop.
C'est ça, c'est quelqu'un de rationnel. Il se dit qu'il a dû faire. Non, c'est pas là qu'il se le dit d'ailleurs pour le somnambulisme.
Non. Il essaie quand même de il panique. Là, il est vraiment en terreur. Il a l'impression qu'il devient fou. Pour le coup, c'est vraiment.
Mais c'est pas une flaque, alors il maîtrise sa panique. Comme tous les hommes qui ne sont pas des flaques.
Comme tous les hommes des années 80, ceux les vrais.
Exactement. Et il va au boulot et il fait des vannes avec ses collègues.
Mais quand on a eu un mort hier, mais bon, aujourd'hui ça va bien se passer. Regarde la moquette, ça va dégueu, lalalala.
Il a beau essayer de faire le fort et de se dire quand même de rationaliser le truc, il appelle quand même la morgue et on lui dit bien que le corps a été rapatrié dans sa ville d'origine. Et c'est là qu'il se dit que la seule explication possible, c'est qu'il a fait du somnambulisme.
Jusque là, tout va bien.
D'accord.
Toute explication.
Il rentre chez lui.
Logique.
Une fois que cette théorie, ça lui confirme sa théorie, il rentre chez lui et il va se balader dans le cimetière alors que la nuit est déjà tombée. Qui fait ça? Qui va se balader dans le
quelqu'un
cimetière
qui n'a
la
pas
nuit
peur.
Moi,
alors que... qui n'est pas fou, quelqu'un qui n'est pas fou fait
donc,
ce genre
Urde,
de choses.
Okay.
Ouais, moi j'ai déjà fait, hein. Ça passe.
Bah, moi aussi, hein, je suis pas folle.
Un mort du matin t'avais amené dans un cimetière?
Non. Mais j'ai jamais rêvé qu'un mort m'amène dans un cimetière.
Bah, si ça arrive, tu nous diras si tu vas dans le cimetière après.
Et d'ailleurs, on n'a pas fait le point orthographe.
Oui.
Oui,
le point orthographe de cimetière, on l'a pas fait.
Tu as raison, tu veux le faire?
On l'a fait sur le titre anglais seulement.
Allez,
exact.
Ah oui.
Donc, cimetière. Bah oui, mais du coup, là, ça s'écrit donc avec un S et avec deux R, cimetière. Mais en fait, c'est tout simplement mal orthographié parce que c'était un cimetière construit par des enfants. Et donc, ils ont fait la faute d'orthographe en faisant le panneau. Et voilà.
C'est tout?
C'était le point titre.
C'est tout.
Oui. D'ailleurs, on parle ça. Et sur les plaques des animaux, on retrouve les fautes d'orthographe.
Exactement.
DCD, par exemple, ou je me souviens plus les autres, mais.
Le langage texto des
y a
années 20.
Plusieurs.
Les enfants n'avaient déjà pas de respect.
Ouais.
Voilà.
C'était neuf sur le bois.
Ce n'était pas mieux avant, les enfants.
Ça y est, nous avons la réponse à la question de tout à l'heure, et c'était deux. Deux chapitres avant que Louis passe par-dessus le tas de bois.
Mais je crois qu'il se casse la gueule ou je sais pas quoi. Non
en fait, il se casse la gueule avant le sommet et il dit quand même qu'il pense avoir vu un chemin de l'autre côté qui part dans les bois.
Voilà,
exactement. Les semaines passent, c'est Halloween, c'est cool, tout le monde est content. Ellie et Louis sont chez les vieux pour la tournée. Norma fait une crise cardiaque, mais s'en sort in extremis.
Grâce à
la vie est belle.
Oui.
Grâce à Louis,
c'est quand même
lui qui,
c'est quand même
le
lui qui
massage
la sauve,
cardiaque
qui lui fait le massage cardiaque le temps que les secours arrivent.
Exactement. Ellie ne semble pas plus perturbée que ça par l'aventure, alors qu'on aurait pu s'attendre à 5 ans, quoi. Et durant la nuit, Louis entend des bruits dans l'escalier. Il pense que c'est Pascoe, et là, il se dit qu'il va avoir un cadavre en décomposition en face de lui, parce que ça commence à faire quelques semaines que le gars est décédé. Et en fait, il n'y a personne de plus dans la maison, donc sûrement un bruit de maison, quoi.
Comme ça peut arriver dans les maisons de campagne.
Exactement. Nous voilà à Thanksgiving.
Alors, la juste petite... un petit point quand même, pouvoir surnaturel. À un moment, juste avant la crise cardiaque de Norma, il y a Judd et Louis qui sont en train de causer, et clairement, Judd sent le moment où sa femme tombe, alors qu'il la voit pas spécialement.
Bah non, il y a un bruit et il crie.
Oui, mais c'était parce qu'ils sont mariés depuis 60 ans, donc il y a une espèce de lien télépathique entre eux.
Moi, je me souviens pas
de ça. C'est pas plus magique que ça, je trouve aussi, effectivement. Ils sont en couple depuis combien de temps? Genre 60
ans? Ouais, 60 ans. Je pense que c'est plus de la coordination.
Il a 83 ou 86 ans, Judd, donc ouais, ça commence à faire un moment.
Ouais. Donc moi, ça me paraît pas plus paranormal que ça.
Donc ça y est, c'est Thanksgiving. La petite famille part chez les grands-parents, mais Louis reste tout seul à la maison. Un différend impardonnable le pousse à éviter à tout prix son beau-père.
Il nous explique quand même que son beau-père, il a tout fait pour qu'il épouse pas Rachel, et qu'il a même proposé de lui payer toutes ses études pour qu'elle lui foute la paix, quoi.
Voilà, ouais, c'est un gros con. Hein,
ouais, c'est con pour comme ça.
Ouais, ouais. Non, un gros trou du cul.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Urd.
Voilà.
Et c'est à ce moment-là que le chat décide de se faire percuter par un camion.
Oh non!
Mais il lui avait coupé les roues, doudou!
Le pauvre, il a plus de couilles et puis il crève!
Mais justement, est-ce que ce n'est pas un signe paranormal?
Non!
Peut-être qu'il a préféré se jeter sous le camion maintenant qu'il n'avait plus ses couilles. Hein.
Ouais, peut-être.
Ou peut-être qu'une
foutu.
Force maléfique l'a attiré vers lui.
Foutu pour foutu.
Et d'ailleurs, Louis manque de se faire renverser par un camion en essayant de traverser la route pour aller chez Judd. Parce que le chat crevé, il est sur la pelouse de Judd.
Merci.
Oui, c'est vrai. Alors qu'il ne traversait jamais. T'entends. Donc il fait nuit.
Et il est collé par le givre aussi.
Oui. Donc, au moment où le chat meurt, il fait nuit, très froid, mais ni une ni deux. Voilà Loulou et le vieux en route pour le cimetière des animaux, bras dessus, bras dessous.
Alors,
j'ai juste rajouté un petit truc, c'est que il marque dans les yeux du chat mort, on voyait une sorte de rage. Et du coup, moi, je me suis dit que la mort, elle avait guéri la castration, parce que c'est une expression qu'il avait plus depuis qu'il s'est fait couper les couilles.
Non, et puis là, aussi, Louis, il voulait l'enterrer juste, enfin, il savait pas exactement ce qu'il voulait en faire tout de suite, il voulait le garder dans un sac en attendant. Et c'est le vieux qui lui dit, non, on va s'en occuper maintenant tout de suite. Et à l'entraîner vers la forêt.
Il me semble que non, mais c'est.
Il hésite un peu.
Je l'ai noté. Il eut une illumination subite. Il enterrerait Church dans le cimetière des animaux. Tu vois, il y a une reprise du cycle et c'est pas Judd qui lui. C'est parce qu'il sait qu'il y a le cimetière des animaux qui va l'enterrer là-bas, mais c'est pas Judd qui lui a suggéré à ce moment-là.
Ouais, je suis d'accord, mais il avait peut-être pas l'intention de s'en occuper maintenant tout de suite.
Non, par contre,
que Judd l'a poussé à dire allez, c'est parti, mets tes bottes, on y va, quoi.
C'est ça, autant s'en occuper tout de suite.
Ouais.
C'est vrai, c'est Judd qui le pousse.
Et Louis, c'est pas trop pourquoi, mais il est ultra exalté par cette excursion. Il le dit, ça l'excite de ouf.
C'est ça, il a même l'impression.
Il a pété les tympans ou pas?
C'est pas précis à ce moment-là. Mais sûrement.
Mais par contre, il sera trop pompé. À la fin.
Option gant de crin.
Non, par contre, il dit que pendant le trajet, il a la sensation d'être à sa place, d'être chez lui. Vraiment, il y a.
Ouais, c'est ça, il est cool.
Ce sentiment d'appartenance au lieu, quoi.
C'est ça, il est dans le flow, en fait.
Et Judd est un peu bizarre, en plus. Il marche d'un pas très leste. Il a l'air super jeune, alors qu'il a 80 ans. Il a vraiment une ambiance un peu...
C'est ça.
Un peu de d'excitation autour de cette excursion.
Alors, ils arrivent au cimetière des animaux. Mais le vieux veut passer au-dessus du tas de bois. Louis, il a la pétoche. Il se rappelle de la vie de l'avertissement de Pascal. On va l'appeler Pascal. Mais il y va quand même. Alors, il a peur, mais il y va. Et il met bien ses pas dans ceux de Jude. Alors, c'est peut-être là, c'est comme un père. Il met ses pas dans les pas du père. Ça en croise ce que vous disiez au début. Et Jude, il semble suivre un chemin bien précis, pour le coup.
Il le met en garde aussi que ça peut faire comme une... Que ce lieu peut faire comme une drogue et empoisonner. Il fait du bien, mais il peut empoisonner aussi bien corporellement que spirituellement.
Et il ne faut pas regarder en bas.
Qu'il fasse gaffe à ce sentiment de bonheur.
Voilà, tout est étrange. Donc il ne faut pas regarder ses pieds, il faut marcher d'un pas sûr, mais il y a des bruits.
En gros, pour monter le tas de bois, il faut suivre son instinct, quoi. Tu ne regardes pas où tu vas, tu montes. Tu dis j'y vais, et puis c'est parti.
Mais ça aussi, voilà. C'est magique, finalement. Enfin, ça te met tout de suite dans une atmosphère de mystique, alors là, magique.
Oui. Et c'est la partie la mieux adaptée dans le film. Parce que il lui dit « Suis bien mes pas », il lui laisse 50 mètres d'avance et après il le suit pour monter le tas de bois, donc il sait plus du tout où il a mis les pieds.
Alors après le tas de bois, il y a une colline à descendre. Tout en bas de la colline, on arrive dans la forêt maléfique de n'importe quel conte Disney. D'ailleurs, parce qu'il y a du brouillard, des marécages, des bruits chelous et des endroits où il ne faut surtout pas poser les pieds.
Alors le marais du petit dieu et le marécage de l'homme mort. C'est sympa.
Et il y a beaucoup de huards.
Ah oui, il y a des huards.
Les huards, oui.
D'ailleurs, les huards, c'est pas une autre façon de traduire, parce que c'est un mot que j'ai souvent eu dans les Stephen King, c'est les engoulevents, comme type d'oiseau.
Je sais même pas ce que c'est un engoulevent. Enfin, c'est quoi ce nom?
Non, ouais,
c'est un oiseau.
Bah oui, mais j'avoue, je l'ai su.
Mais tu sais, moi, je crois que les mérinos, c'est des mouettes, donc à part.
Alors, j'ai une théorie pour le choix de ce mot.
Oui.
C'est que il a tendance à écrire beaucoup, à faire des longues phrases et des longues descriptions, et le traducteur s'est dit, ou la traductrice s'est dit, on va prendre la version courte du mot parce qu'il y en a déjà beaucoup.
Oui, je crois tu que huard est plus utilisé dans les livres que engoulevement. Enfin, je ne sais plus comment on le dit. Il est trop long, il veut rien dire, quoi. Mais donc, à mon avis, c'est le même oiseau, mais je suis pas sûre.
À peu près au milieu du marécage, Jude s'arrête à nouveau. Il est silencieux. Et une bête énorme a l'air d'être dans le coin. Louis est terrorisé, mais il reste avec le vieux. Moi, je me serais barré en courant. Enfin, à titre personnel, je me serais barré en courant.
Ils arrivent enfin...
Ils arrivent enfin en haut d'une autre colline sur laquelle il y a un ancien cimetière indien. La légende dit qu'un Wendigo rôde dans le coin. Ils enterrent le chat et ils se cassent. Et durant la nuit, Louis entend des pas dans l'escalier, puis s'endort.
Attends, t'as oublié de parler des petits cailloux.
Moi, j'aurais juste rajouté un truc, c'est que on voit que Judd, à ce moment-là, il dans une espèce de jeu avec les ombres, il a l'impression d'être super âgé, d'avoir au moins 120 ans.
Ouais. Mmh.
Et aussi, Judd dit qu'il aurait jamais pensé revenir dans ce cimetière. Donc, en gros, on est en train de se dire qu'il est déjà passé dans cette zone après le cimetière des animaux.
Tout à fait.
Et puis il y a tout un rituel, enfin Louis doit faire ça tout seul, enfin il doit creuser le trou, il doit mettre ensuite ses petits cailloux par-dessus. Il y a vraiment un rite à suivre, un rite indien.
Et des cailloux qui n'ont pas servi sur une autre tombe.
Et des cailloux qui n'ont pas servi, voilà. Donc il y a quand même tout un rituel qui s'installe pour induire le côté un peu
magique. Elle n'a pas aimé le livre, elle va pas le décrire comme il faut.
Alors non, alors ça franchement, bon, on en reparlera en off.
et par contre...
J'ai beaucoup aimé cette partie justement,
okay.
Sache-le. Sauf qu'à un moment donné, si je dis tout, vous ne servez à rien.
Mais non.
C'est ça.
Donc,
ce qui est important de dire aussi, c'est que
vous puissiez dire des choses.
Voilà, creuser la tombe dans ce cimetière, c'est très compliqué parce qu'il y a quasiment que des cailloux et pas de profondeur.
Oui, il faut une pioche.
Mais le sol du cœur de l'homme est encore plus dur.
Voilà.
Que la rocaille.
Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il dit la fameuse phrase
qu'on va retrouver souvent.
Ouais, je crois que c'est là, ouais. Il me semble.
Je ne sais plus par cœur.
Et juste après, on va avoir un festival de mots que je ne connais pas. Il y a eu un truc, c'était Pidgin, je sais pas comment tu dis, et il le traite de vieux podagre aussi. Alors là...
Les années 80
ouais. Bon, après, Jude, il est censé avoir un accent. Jude est censé avoir un accent du Maine. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, mais du coup...
Dans ma tête, il avait un accent un peu picard, du coup.
Il y a un côté un peu plus terreux. Ouais, c'est ça.
C'est
un accent que je connais.
Mais je crois que c'est ça. Enfin, je connais pas assez, mais...
Est-ce que la Picardie, ça serait pas le Maine de France?
On n'a pas d'accent en Picardie.
Non. Non. Il y a moins de forêt, c'est moche.
Non, moi j'aurais plutôt dit la Moselle ou les Ardennes ou...
Moi, je te dirais en Suisse, c'est le Valais, mais bon.
Ah, c'est vrai, le Valais, ça passe.
Ceux qui connaissent le Valais savent.
Même eux seront d'accord.
Le lendemain, le vieux conseille à Louis de ne pas parler tout de suite de la mort du chat à sa fille, qui est toujours chez ses grands-parents, donc elle n'est pas au courant. Il n'y a que Louis qui est au courant de tout ça. Et surtout, de ne parler à personne du cimetière indien. Un peu plus tard dans la journée, le chat débarque à la baraque au KLM.
Et avec Louis une petite référence à Alice au Pays des Mers, il dit que Church revient comme le chat du Cheshire.
C'est vrai.
Ouais,
et lui, il n'est pas ultra zen face à ce revenant. Alors, il dit qu'il ondule. J'ai pas réussi à me figurer ce que ça voulait dire.
Pour l'anecdote, c'est à ce moment-là que j'ai jeté mon livre.
T'as pas jeté le chat?
Non, mais non, mais c'est à ce moment-là quand Louis est dans son garage tranquillou et d'un coup, et Church est revenu, là, j'ai fait ah non, c'est fini. Hop là.
Alors le chat lui paraît quand même un peu chelou et du coup il préfère se barrer faire du sport loin de la maison.
Il pue aussi.
Et il pue, ouais. Il pue.
Mais il le dit à ce moment-là qu'il pue.
Ouais, ouais, il a une odeur. Si.
Il a aussi des petits morceaux de sac poubelle collés, du sang sur le museau. Enfin, ouais, il...
La terre.
Ouais, il est dégueulasse, quoi.
C'est dégueu,
c'est
ouais.
Assez descriptif et graphique, ouais. Quand le chat.
Moi, moi j'ai eu l'image d'un chat qui se déplaçait un peu comme un serpent. Et c'est vraiment. Ouais, ça m'a fait vraiment bizarre.
C'était bizarre.
En plus, c'est pertinent parce que les chats, ils ont un peu des yeux de serpent, des fois.
Faut vraiment que t'amènes ton chat.
Il a une petite langue avec deux petits points au bout.
Alors, mon chat est super mignon, ok. Donc,
il est souvent sur le ventre, mais il a perdu ses poils. Bon, ouais. Le vieux, alors Jude, pour ceux qui préfèrent, donne enfin des explications à Louis sur tout ce qui s'est passé hier et à nous au passage. Ce qui s'est sûrement passé. C'est que jadis, les Indiens du coin ont dû manger leurs morts pour survivre à un hiver rude et les ont enterrés dans ce cimetière. Alors, pas celui des animaux, l'autre, hein, on arrive à suivre. Ils ont ensuite mis ça sur le compte du Wendigo, qui est réputé pour donner envie aux humains qu'ils touchent de manger de la chair humaine.
Il leur donne le goût de la chair, exactement.
Exactement. Ils ont ensuite abandonné cette terre, prétendant qu'elle était devenue aigre. La vérité, c'est que lorsqu'on y enterre un mort, il revient à la vie. Et chaque personne qui est venue une fois est comme possédée et y revient avec quelque chose de mort à enterrer à la moindre occasion. Les animaux revenants ne sont plus les mêmes, ils sont mous et ils puent le cadavre, sauf un qui est devenu agressif. Finalement, un taureau.
Finalement, un taureau. Les mecs ont dû galérer quand même pour le tabou.
Oui,
et
puis, pas n'importe quel taureau, un taureau de compète.
Alors finalement, Louis demande si un humain a déjà été enterré là-haut et Jude s'offusque. Et du coup, Louis pense qu'il ment.
Avec un petit clin d'œil. Mais enfin, Louis! Pourquoi tu penses ça? On a alors oublié que... aussi le coup de fil de Ellie et Rachel. Parce que là, premier point
elle
Shining.
Elle est le pressentiment.
Voilà, premier point Shining. Rachel appelle parce que Ellie en panique, elle a rêvé que Church s'était fait écraser. Donc elle veut avoir des nouvelles de son chat. Donc ça, c'est quand même assez important parce que ça induit. Enfin, on apprend que Ellie va avoir plusieurs pressentiments comme ça dans le livre.
Elle a un don.
Tout Shining.
Ça y est, toute la petite famille est rentrée et Ellie prend conscience que son chat a un peu changé, mais surtout qu'il pue. Et le bébé, il est malade et il manque de s'étouffer dans son vomi.
Oh,
heureusement, son père le sauve.
Ah, puis c'est pas là où l'autre fait une crise là, Rachel.
Bah du coup, voilà.
Mais si elle fait une crise en mode si t'avais pas été là, il serait mort.
Son gamin a failli crever, oui, il a fait une crise.
Ah,
c'est
bon.
Pas non plus.
Le docteur a dit, il avait 9 chances sur 10 de se dégager et voir respiration tout seul.
Grand poil, est-ce que t'aurais fait une crise?
Non, pas du tout, je l'aurais pris par les pieds, je l'aurais secoué.
Très bien. C'est la mauvaise méthode.
Ne faites pas ça chez vous.
Si vous voulez que quelqu'un fasse SOS en le force maltraité.
Elle s'appelle comment cette prise de catch quand il l'attrape
Il
pierre tombale.
Non, c'est pas, non, je parle pas de la méthode Heimlich. Je parle vraiment de la prise de catch.
Un germe
de vraiment de la prise de catch où l'un des combattants attrape l'autre par la taille, se jette en arrière.
Ouais,
pour
ça, c'est le German Suplex. Le German Suplex.
Voilà, le German Suplex. Voilà.
Ah oui,
et franchement,
vrai,
c'est l'image que j'ai eue en lisant ce que faisait Louis à son fils, quoi. Il lui fait un German Suplex sur le lit.
Son fils de 1 an et demi, donc.
Oui.
Comme tout va mieux, la vie avance doucement et nous voilà à la veille de Noël. Le chat pue toujours autant, mais surtout, il ramène de plus en plus d'animaux morts et dépecés. Moi, perso, des chats à la campagne. Un chat qui ramène un animal mort et dépecé, c'est normal.
Oui,
il n'y a rien de flippant là-dedans, ni d'anormal.
Fait ça avant.
Bah, oui, il vivait à Chicago avant.
Oui, mais c'est pas normal, on lui a coupé les roues, loulou.
Déjà ça, et en plus il ramenait genre des rats de sa taille. Ça, c'est pas normal.
Ah, c'est un chat de compète.
Ah, généralement,
les chats. Tu sais, il y a des chats qui ont l'esprit de la fight, hein.
Ouais.
Oui, bien sûr, mais.
Mais lui, ça avait l'air d'être
son style. Pour dire qu'on lui avait coupé les roues, doudou, et puis qu'il était. Que c'était un citadin, c'était quand même étrange.
Ah,
mais par contre,
aussi...
je suis aussi d'accord qu'à chaque fois il faisait le dégoûté et tout, et c'est bon, mec. T'es médecin en plus, quoi. C'est pas un rat mort qui va te.
Ouais, voilà. Et puis Ellie ne veut plus dormir avec son chat aussi.
Ça s'ajoute à la relation entre Louis et Church, où il balance quand même régulièrement des coups de latte dans la gueule.
Ah ouais, là par contre, moi ça m'a choqué ça. C'est un des trucs qui m'a le plus choqué dans le livre.
Son contact le fait réagir, mais il, enfin vraiment comme si c'était, limite, vrai, comme tu disais tout à l'heure, un serpent qui lui passe entre les jambes.
Ouais. Il dégoûte, ouais.
Moi, ce qui me choque le plus, c'est un rat qui fait la taille d'un chat.
Mais c'est le Maine, t'as pas compris.
Tu vis à Paris.
Il n'y a pas
des gros rats à Paris.
Non. Ah, oui. Ils sont que comme dans
les rats d'égout sont grands.
Elle est mignonne.
Allez, on avance dans le podcast et dans l'année. Et nous sommes en février et Norma décède un beau matin. Donc Norma, c'est celle que j'appelle la vieille depuis le début.
La femme de
Jules. Un arrêt cardiaque, non, dans son sommeil.
C'est ça, pardon.
Mort naturelle, tranquillement.
Rien un truc dans le cerveau, non, je sais plus.
Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, on a fait une attaque cérébrale.
La Judd, il a l'air complètement perdu et il commence à faire vraiment son âge depuis sa mort.
Oui, c'est ça.
Oui,
ouais. C'est ça. Donc, Norma est décédée, il y a l'enterrement, etc. J'avoue que sur le coup, je me suis demandé si elle allait pas finir dans le cimetière.
Mais il y a surtout discussion, est-ce que Ellie va assister à l'enterrement ou pas?
Parce que Rachel n'y va pas, elle.
Oui. Ah non, pour Rachel, c'est
ça,
pas
ça,
possible.
Elle le supporte pas, ouais.
C'est là qu'on en apprend plus sur Rachel et son rapport à la mort.
Et son meilleur jeu vidéo, Zelda.
Zelda.
Non.
Ah,
non. Alors.
Non, honte sur toi. Honte sur toi.
C'était pas ça.
Presque. Donc en fait, ce qui s'est passé pour Rachel, effectivement, comme on l'avait deviné, il y a eu un gros traumatisme. Et elle en parle enfin. Lorsqu'elle était enfant, elle avait une grande sœur. Alors, on n'est pas d'accord sur l'âge que pouvait avoir cette sœur.
Pour moi, pour vous, elle a quel âge, la sœur?
Je sais plus.
Je pensais qu'elles étaient
10-12 ans. Rachel a 8 ans et
pour
et
moi, elle avait 12-13 ans.
Ouais.
Mmh. Ouais, moi, je l'aurais mis adolescente, quoi. Ah, 14-15.
Ouais. Moi, jeune ado, quoi. Mmh. Juste, ouais, pareil. 12-13. Entre 10 et 14, grand maximum, j'aurais dit. Mmh. Bon, donc en fait, on est à peu près quand même dans les mêmes idées. Et donc, sa sœur... Oui, voilà, c'est bon, je reprends. Sa sœur est morte, et elle est morte d'une maladie longue, très douloureuse et très handicapante. Et un soir, les parents de Rachel l'ont laissée toute seule avec sa sœur en lui disant de s'en occuper, et c'est ce soir-là que sa sœur est morte.
Parce que, enfin, quand on dit s'en occuper, c'est qu'elle doit la nourrir, quoi. Donc,
la nourrir, la changer,
ses draps.
Donc, parce qu'en plus, elle faisait ses besoins dans son lit, quoi.
Ouais.
Elle le faisait exprès.
En fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, elle le faisait exprès. Elle était devenue, dans sa souffrance, elle était devenue infernale. Elle était devenue méchante, odieuse.
Et folle, en fait.
C'est horrible d'avoir laissé une gamine de 8 ans s'occuper d'une fille en souffrance comme ça. Et
surtout que cette fille en souffrance, elle avait même pas de vraie infirmière. Il l'avait reléguée au fond de la baraque en mode on la cache.
C'est la honte.
Elle avait même pas de vrais soins, en fait. Donc c'était horrible pour tout le monde.
Donc c'est des beaux parents de merde, mais c'était des parents de merde déjà.
Ouais,
des
grave.
Et
on s'aperçoit aussi
qu'ils
ont été soulagés de sa mort, mais pas parce que ça a abrégé ses souffrances, mais parce qu'eux aussi n'en pouvaient plus, quoi. Ça a été un soulagement pour eux qu'elle disparaisse.
Oui, j'ai trouvé que le sujet était vraiment super intéressant, en fait.
J'ai adoré j'ai adoré.
Ouais,
ce
voilà.
Passage m'a beaucoup bouleversé.
Alors, c'est vraiment le moment que j'ai préféré, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Ça m'a remis un petit coup de fouet, j'étais.
Alors, gamine qui meurt et les parents sont super contents qu'elle soit morte, là, d'un coup, je me suis identifiée. C'est le moment que j'ai préféré.
Alors, surtout, c'est non, que mais, du coup, Rachel.
Ouais, je rejoins Pomme et je trouve ce qui caractérise bien, c'est quand Rachel dit qu'elle courait dehors et qu'elle hurlait. Et elle a dit, mais en fait, je hurlais pas, je riais. Et
je
trouvais ça vraiment, c'est ça, en fait.
Voilà. On peut dire que c'était une expérience traumatisante.
Puis c'est une enfant de 8 ans aussi, donc c'est quand même un...
Mais alors, le problème, c'est que Rachel, comme elle est toute seule avec sa sœur à ce moment-là, elle pense qu'elle est responsable de la mort de sa sœur. Et elle la voit dans ses cauchemars venir se venger et lui dire qu'elle aussi, elle va souffrir et qu'elle va l'amener.
Et elle lui dit une phrase aussi. Parce qu'il y avait un tableau dans la chambre de Rachel. C'est un tableau du magicien d'Oz. Le grand, le terrible Oz. Voilà.
Et c'est vrai que ça
c'est important.
Ça va revenir plusieurs fois. Ouais.
Ellie a fêté. Donc, il y a eu ça.
Donc Ellie se comporte bien aussi à l'enterrement.
À l'enterrement, elle pose quelques questions. Mais voilà, ça la traumatise pas plus que ça. Il rentre à la maison.
Et c'est à ce moment-là que Louis se rend compte qu'il est amoureux de Jude.
Quoi?
J'ai raté un truc là, attends.
un amour paternel, enfin filial.
C'est
quoi.
Ça, il lui dit, il lit que Louis se sentait porté vers lui par un grand élan d'admiration et cette était-ce de l'amour? Oui, incontestablement, c'était bien de l'amour.
Ouais, mais ah c'est pas de l'amour d'amoureux, c'est de l'amour.
L'amour
final.
Mais
non,
il y a pas de type d'amour.
Oui, c'est bien ce que je. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire qu'il était
amoureux. Mais t'as dit qu'il était amoureux. Faut être clair.
D'accord.
Alors attends,
c'est vrai que le terme
comme un fiston aime son papa.
Le terme amoureux est plutôt.
Je vais écrire une fanfic porno gay.
Merci. Ça tombe bien, j'ai un kink sur les vieux.
Très bien.
Alors, on a moins de choses à se dire.
Allez, il faut qu'on avance. Ellie vient de fêter ses 6 ans. L'hiver touche à sa fin. Gage a sa première coupe de cheveux. Ça a l'air important. Et Jude commence à se relever de la perte de sa femme. On est le 24 mars 1984. Oui. À titre très personnel, j'ai 3 mois et demi.
Ok.
Et c'est une journée parfaite dans la mémoire de lui et sûrement aussi dans celle de mes parents. Mais on apprend que dans 2 mois, Gage, qui vient d'avoir 2 ans, mourra écrasé par un camion. Et moi, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décroché du bouquin.
Quoi ? Attends, non !
Parce que j'ai besoin qu'il y ait un minimum de suspense dans les histoires que je lis. Et c'est pour ça que je suis extrêmement sensible au spoil.
Bah justement, c'est bien en fait.
En plus, on nous dit que Louis, il vit sa dernière année de véritable bonheur.
Journée.
Donc, il reste encore... pour moi, ça y est, c'est bon, on connaît la fin
dernière
d'histoire,
journée,
c'est
relou.
Mais non, mais tu connais pas la fin d'histoire, c'est comme ça depuis le début.
Ouais, mais c'est ça, c'est relou.
C'est un effet de style.
Mais non, après, c'est chacun...
En
fait, je me suis rendu compte avec ce livre que j'ai besoin qu'il y ait un minimum de suspense dans une histoire. Ouais.
Toi, tu as besoin qu'on te surprenne tous les jours.
Exactement. Avec des gants de crin.
Non, ça va.
Tu préfères être surprise par quelqu'un debout dans un coin de la chambre quand tu te réveilles.
Creepy.
Ça fait référence. Si tu l'avais écouté.
Mais vous spoilez les livres. Je peux pas écouter Jessie avant même de l'avoir lu. Enfin.
Bah lis-le. Il est court.
Très bien. Je vais aller l'acheter. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était que moi j'aime. Enfin, je trouve ça bien en fait comme figure de style le fait qu'il annonce, parce que justement dans Cimetière, le principe c'est que tu sais exactement tout ce qui va se passer. Tu sais que Louis va faire que de la merde, on lui dit pas aller sur le tas de bois, il va sur le tas de bois, son fils meurt, tu dis ah bah je sais ce qu'il va en faire, tu le sais. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que malgré tout t'as une fascination où tu peux pas t'empêcher de le suivre et tu le sais très bien que ça va mal tourner. Mais tu as une sorte
mais lui
de
le
fascination
sait aussi, c'est ça qui
oui.
Mais c'est la chute, la déchéance, la chute aux enfers de Louis qu'on va suivre.
Voilà,
quoi.
En fait,
c'est ça
c'est,
l'intérêt de l'histoire et de la fin du bouquin.
Exactement. Et
voilà,
en fait,
lui le sait aussi et toi tu le sais aussi et t'es là, oh putain, on peut rien faire.
Mais oui.
Voilà.
Et c'est ça, tu sais que tu peux rien faire. Et en fait, c'est une tragédie Cimetière au sens classique du terme. C'est-à-dire comme les pièces de Racine, tu sais très bien qu'à la fin, Phèdre va mourir. Bah là, c'est pareil. Tu sais qu'ils vont enchaîner mauvaise décision sur mauvaise décision et que ça va mal se terminer. Mais c'est ça qui est fascinant, en fait.
On vient de citer Phèdre et je dois sortir de ce podcast. Ça devient
on vient de spoiler Phèdre. on n'avait pas prévu ça. On vient de spoiler Phèdre alors qu'à la base, j'avais comme mission de placer le mot bit, quand même.
Oui.
Ouais, voilà, c'est fait.
Donc j'ai réussi à dire Phèdre avant que tu dises bit.
Et ça, c'est bon.
Santé.
Ça va, Emery?
C'est pas moi.
Non, puis sur le côté spoiler, je crois que la quatrième de couverture dit que le gamin va mourir.
Ah, mais moi je l'avais pas lu.
Non, ça le dit pas.
Non, oui, j'ai eu un gros sujet sur le site parce que je l'ai dit sur le site. On m'a dit en commentaire, oh là là, tu spoil que le gamin meurt. Et j'ai dit en fait, enfin, on le sait un peu partout. Dans la bande annonce, c'est plutôt clair.
Ouais.
Non, mais... Gage.
Putain, mes oreilles.
Ça se sait, et puis même toutes les. Enfin, dès que tu parles de cimetière, la première image que t'as, c'est le gamin zombie, quoi.
D'ailleurs,
moi, je le savais pas.
Fun fact, si vous tapez cimetière dans YouTube, il y a des mecs qui font des compilations des pires moments du film.
Alors, cimetière, S-I-M-E, enfin,
dans le bouquin, bien sûr. Donc, t'as la compilation de la mort de Cage. De Gage, pardon. T'as la compilation de tous les passages gênants dont on parle. Il y a des gens qui ont fait des compilations que de ces moments-là dans YouTube.
Ah, parce que j'aime vraiment beaucoup les passages un peu morbides et gênants. Voilà.
Tu seras ravie.
Tu l'as fait ?
Ouais, c'est moi. J'avoue. En plus, vous m'avez pas du tout forcé à regarder ce film. C'est vraiment.
On arrive à la deuxième partie du livre, le cimetière des Micmacs. Presque, il faudrait une petite musique d'ambiance à chaque fois.
Je t'en mettrai une.
Et là, on a un chapitre qui est vraiment terrible.
Enfin, moi, en tout cas, et je sais que Grand Poil,
terrible
c'est pareil.
Terrible à lire ou terrible émotionnellement?
Non, terrible émotionnellement, puisque c'est la description de la mort de Gage.
Ah, moi, j'en ai chié donc... pendant tout ce chapitre-là.
Ouais, mais je le sais.
Ah,
et
m'étonnes.
Autant j'ai pas accroché à la majorité du livre, autant là, ça fait partie des moments où j'étais
C'est un des meilleurs
dedans.
Moments.
Bah, c'est vraiment
le
très
cerf-volant.
Bien décrit.
Gage, non, ça c'est avant le cerf-volant. Okay. C'est dans le chapitre d'avant.
Le cerf-volant était vivant, suis un peu, enfin.
Ah merde.
Le cerf-volant.
Gage est mort, percuté et traîné par un camion. Donc il venait d'avoir 2 ans. On se situe le jour où les personnes peuvent aller voir le cercueil au funérarium et on assiste à l'accident via les pensées de Louis. Point intéressant, à mon sens, que j'ai noté. À ce moment-là, tout le monde attend de Louis qu'il soit fort, qu'il fasse l'homme, qu'il prenne les choses en main et qu'il soutienne sa femme. Sauf qu'en fait, ben, lui aussi, c'est un parent qui a perdu un enfant et il n'est pas plus fort que l'autre parent qui a perdu cet enfant.
Donc c'est le point masculinité toxique.
Exactement. Merci.
Alors pourquoi du coup enfin, pas par rapport à Louis. Du coup, Louis, lui, il réagit, on va dire, normalement.
Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est l'entourage qui attend de lui.
Oui, voilà, l'entourage.
Qu'il soit fort et tout. Et lui, il dit, mais j'y arrive pas, je peux pas, c'est pas possible, et puis c'est normal.
Mais je pense que dans beaucoup de situations comme ça, il y a des gens qui cherchent une personne à qui se raccrocher. Et du coup, je suppose que traditionnellement, c'est l'homme qui est censé être le pilier, etc. Donc, c'est peut-être pour ça, je pense que c'est un peu le patriarcat qui lui dit qu'il doit être
ah oui,
le pilier, quoi.
Oui,
mais
c'est
non,
ça.
C'est ça. Sois là pour ta femme.
En même temps, on va faire l'inventaire. On a une petite fille de 5 ans. Une meuf qui est terrorisée par la mort et un gars médecin à peu près normal. Donc.
Ouais, mais qui vient de perdre son fils comme ça.
Oui, mais voilà, mais c'est le seul.
Il y a le voisin, il y a les parents.
Les grands-parents auraient pu être aussi un peu un pilier, mais ils ont préféré agresser le beau-fils en plein cérémonie.
Et alors, justement, on y arrive.
C'est ça, le meilleur passage.
On y arrive.
Je trouve aussi que c'est les grands-parents qui auraient dû, mais voilà.
L'après-midi, Louis et son beau-père se battent dans le funérarium jusqu'à faire tomber le cercueil de Gage. Ambiance.
Ah, pardon.
On savait déjà que le beau-père était une flaque de pisse qui détestait Louis. Vous rajoutez à ça de l'alcool, une douleur infinie et un besoin de trouver un responsable et vous obtenez un sacré sac à merde bien rempli.
C'est voilà. Super poétique ce que tu écris, Pomme.
Merci.
T'as pensé à faire de la poésie en prose?
Vite.
Vite.
Vite, vite.
C'est pas drôle, putain, le petit vient de mourir et son cercueil est par terre en plus.
Il a perçu sa main.
Dans son petit costume
ouais,
de cérémonie.
Alors, on est d'accord qu'un gamin de 2 ans qui se fait percuter alors, par un 36 tonnes.
Bah,
il doit pas rester grand chose.
Bah c'est pour ça que le cercueil est fermé.
Par contre, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un gros manque de logique par rapport à la suite.
D'accord.
Mais il pense l'avoir aperçu, hein. De souvenirs
oui,
dans le livre.
Il voit un truc
pense.
Rose
ah, mais même,
et il se dit.
Mais sa main, normalement, elle doit être en charpie.
Mais, tu sais
non,
pas,
mais il sait pas qu'il sait pas que c'est sa main. Il aperçoit un truc rose et son esprit lui dit c'est sa main, ça doit être sa main.
Voilà, ça pourrait être sa bite.
C'est tout.
On parle d'un enfant. Merde.
Il aperçoit un truc rose.
Vas-y, Pomme, vas-y.
Pardon, je dis, j'ai dû m'éloigner du micro tellement j'ai toussé.
Une fois, on t'a entendu quand même. Une fois rentré chez lui et sa femme et sa fille endormies, Louis se ruine la gueule à coups de bière à 4 degrés. Parce que quand j'ai vu le nom de la bière que j'ai pas retenu, je suis allé chercher le degré.
Parce que nous, 4. On fait de l'investigation dans le roi Steven.
Exactement. Et la bière, elle s'appelait Light, j'étais sûre qu'il y avait un piège. 4 degrés. Bon.
Ah bah c'est de la merde.
De la
Spitz.
Hmm allez-y,
la
qui Spitz commence
Light, ou un truc.
Ouais, c'est ça.
Quoi mais ça, c'est les Américains, hein. Ils ont que des bières comme ça.
Enfin, donc les bières les plus connues sont des bières dégueulasses. Ils font maintenant beaucoup d'autres choses plus intéressantes.
Oui, oui, oui.
Il envisage d'aller enterrer Gage dans le cimetière des animaux, mais il sait que c'est la pire idée du monde. Il est sur le point d'abandonner parce qu'il est saoul et qu'il va vomir. Il est sur le point de s'écrouler ivre et malade quand minuit sonne à l'horloge et le vieux à la porte.
Ça, il était en train de se dire quand est-ce que tu vas le faire, parce que enfin dans sa tête à ce moment-là il sait qu'il va le faire, il est en train de se dire qu'il va le faire même si il pense que c'est l'alcool et bah voilà c'est parti pour le drame quoi.
Mm-hmm.
Mais peut-être que si le vieux n'avait pas sonné, bah il serait juste allé s'écrouler et il l'aurait pas fait. C'est ce qui est sous-entendu après.
Moi je suis pas sûre, je pense que ça lui aurait trotté dans la tête et que quoi qu'il arrive, parce que c'est facile hein, de tout rejeter sur ce pauvre Judd.
Ah non, j'ai pas dit ça. Mais justement, non, j'ai pas dit ça, mais ça peut rejoindre justement cet esprit, ce truc de, que vous aimez beaucoup dans ce bouquin de
force maléfique.
Peut-être que quelque chose a poussé Judd à venir parler à Louis à ce moment-là.
Ah oui, mais c'est
clairement.
Sûr.
Voilà.
Oui, je suis d'accord.
On le verra plus par la suite, mais c'est clairement un effet du cimetière.
Oui, oui, tout était calculé.
Bah, comme dans Shining avec l'hôtel.
Shining a été écrit en quelle année? Avant, après? Au moins savoir avant, après.
Je crois que c'est un peu avant.
Attendez, je regarde mon gros dos.
Bon, on avance en attendant. Le vieux raconte à Louis ce qu'il a vu dans les années 40, lorsqu'un père endeuillé de la région a fait revenir son fils qui était mort à la guerre. Le mot abomination revient souvent, l'odeur a l'air aussi vraiment immonde.
77.
77, donc c'est avant. Ouais, bah c'était un humain, alors peut-être ça pue plus. Et on apprend que les revenants sont dotés d'une capacité à connaître la vérité sur chacun.
Alors, c'est là, alors, quand on parle de la vérité, c'est
l'air de... Il aux femmes de petite vertu.
Il allait aux putes.
Le mort a l'air de, le mort ressuscité a l'air de connaître les tous les pires secrets de tous les gens qui sont autour d'eux, quoi. Oui.
Mais justement, ça renforce ce côté esprit maléfique où en fait c'est pas vraiment lui, c'est il y a un démon.
Ouais. Mais c'est ce qu'il dit à un moment. Il dit, on a l'impression que on est connecté à quelqu'un qui est très loin et que c'est pas la personne qui est dedans.
Cthulhu.
Sa voix change. Ses expressions changent, il peut prendre l'apparence, entre guillemets, d'autres personnes.
C'est ce que je disais.
Dans ce chapitre, il y a un passage où il parle de trucs cycliques, un pouvoir qui passe comme des phases de la lune, et je me suis dit, ça m'a fait penser à un autre bouquin.
Ça ?
Avec un clown, où c'est aussi cyclique.
Oui. C'est ça.
C'est ça.
C'est vrai.
En fait, il y a une espèce de transmission du savoir qui en fait... soit le cimetière réclame un sacrifice, soit il y a une transmission qui peut se effectuer qu'au travers de l'utilisation du cimetière. Pour que le vieux, pour qu'il y ait un nouveau gardien qui vieillisse en même temps à côté du cimetière.
Bah là, on peut considérer que c'est un sacrifice parce que.
Oh, je l'avais pas compris.
Il y a toute une analyse comme quoi aussi le fait que Church ou Gage soit mort, c'est le cimetière
qui a provoqué ça, oui.
Voilà, donc ça peut être considéré finalement comme un sacrifice parce qu'en plus, Gage est mort et. On va apprendre qu'il va être enterré à un moment où la lune est particulièrement forte et maléfique.
Elle est maléfique, carrément ?
Elle donne une lumière maléfique sur le cimetière. La puissance est très forte.
Bah, en tout cas, ce que tu viens d'expliquer, Grand Poil, ça donne une... ça éclaircit un point que je ne comprenais pas sur la suite. On y reviendra, mais très bien. Merci.
Ah. J'ai juste aussi un point à dire que l'odeur est particulièrement immonde parce qu'on apprend dans l'histoire qu'il a été donc enterré dans le cimetière Micmac plusieurs jours, voire plus d'une semaine après.
Oh, ouais. Plus que ça, parce qu'il est mort au front.
Il est mort en Europe.
Il a été rapatrié, donc c'était la Première Guerre mondiale.
La deuxième.
Ouais. Donc, peut-être même deux semaines, je sais plus.
Il est passé en cargo, en bateau, en avion, mais c'est peut-être
plus. Il y a plus de 6 jours, il est revenu en train, il ne l'a pas récupéré.
Et après,
de suite.
Il y avait le train, la distribution, il n'y avait pas de clim. Voilà. Enfin bref, l'horreur, quoi.
Et Émilie avait fait remarquer, à très juste titre, qu'il faut arrêter de demander de l'odorama dans les cinémas. Pour ce genre de moment. Louis va se coucher, il se réveille et soulagement, tout ceci s'est passé dans sa tête. Il a rattrapé Gage. Tout va bien, la vie va pouvoir reprendre son cours pépère comme pour des millions de familles. Tout le monde est heureux. Et ben, sauf qu'en fait, c'était ça le rêve. Le gamin, il est toujours mort le lendemain au réveil.
Ça m'a vraiment fait mal parce que j'ai vraiment eu une toute petite pointe d'espoir.
Oui, moi aussi.
Ouais, c'est fait.
Tu le sais que c'est pas vrai, mais t'as envie d'y croire.
Bah ouais.
L'enterrement, il n'y a rien de particulier à raconter de mémoire. Mais le soir de l'enterrement, Louis arrête de se mentir, il sait qu'il va amener son fils dans le cimetière indien et il arrive à convaincre sa femme de partir avec la gamine chez les parents à Chicago.
Ah, t'as oublié le restaurant de poulet ?
Quoi ?
Peut-être.
Ils vont au KFC.
Ouais,
Ils vont dans une espèce de resto
et il y a aussi Steve, le collègue de Louis. Et en gros, Louis, il est en mode amorphe. Et Steve, il arrête pas de lui lancer des sales œillades en mode « Et pourquoi tu consoles pas Rachel alors que Rachel est triste ?» Mais Louis, il est déjà dans son plan, dans sa tête, pour aller déterrer son gamin. Donc
Louis,
il est dans la stratosphère, là.
Louis, il est triste aussi,
oui, parce
qu'il a consolé Rachel.
Il en parle un petit peu, mais le but de... Alors, chez moi, on appelle ça le goûter, après un enterrement. C'est un peu de se soutenir et puis de passer un peu à autre chose et de se soutenir, mais en famille.
Oui.
Bah là, Louis, il en parle, il dit c'est con et tout, enfin voilà. Et effectivement, comme il trouve ça débile, bah, il fait pas ce pas qu'on est censé faire à ce moment-là.
Bah, c'est surtout que c'est pas un pas non plus évident à prendre, je veux dire, effectivement.
On rappelle
c'est une
que lui aussi a perdu un fils. C'est pas juste le mari de la femme qui a perdu un fils.
Alors, ce que je dis, c'est théorique. Moi, je suis assez David Louis, j'ai jamais trop compris. Voilà.
Bon, allez, une fois que tout le monde est dans l'avion, donc les parents, enfin les beaux-parents, sa femme et sa fille.
Et son beau-père qui fait sa flaque.
Et oui, son beau-père l'appelle, s'excuse, tout ça, essaie de faire en sorte que ça se passe mieux. Bon, il fait un premier pas, allez. Donc tout le monde est dans l'avion. Louis part acheter le kit.
Honnêtement, je...
Ah non, t'as oublié le point avion.
Le beau-père,
le point aéroport.
C'est quoi le point aéroport ?
Bah, le point aéroport, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aéroport, Louis fait genre « Allez, on s'en va !» Et Ellie, elle lui dit « Non mais papa, il va se passer un sale truc, il faut pas que tu partes et tout !» Et elle prend l'escalator et elle le fixe avec un regard terrifié. Et là, tu dis « Ah putain, ça va chier
!» Oui, j'ai...
Pas mieux.
Moi, j'ai noté que dans les années 80, les dames, elles doivent payer pour aller faire pipi et les hommes, non.
Bah, toujours maintenant.
Bah, les hommes, ils font pipi dans un coin.
Bah
ouais,
passage,
vous pouvez toujours faire pipi dans la rue et nous, toujours pas.
Non, mais il y a un petit passage aux toilettes où les toilettes, les femmes ont, dans les toilettes des femmes, ont cassé les serrures et ont mis des graffitis disant que les femmes aussi veulent pisser à l'œil, gros cochon sexiste.
Ah, encore des cochons.
Bah, ça existait vraiment. Et ça existe encore, non?
Oui, mais maintenant, bah,
les toilettes payantes, mais ils sont payants pour tout le monde.
Ah, ok.
Tu rentres dans les toilettes. T'as pas les pissotières d'un côté qui sont en libre service et puis les.
Bah, si, dans les rues à Paris.
Les toilettes assis où tu dois payer. Si tu
payes,
tu dois rentrer
dans
les
rues.
Ouais.
Non, mais t'as des pissotières dans les rues de Paris. On en est où? Tout le monde est dans l'avion, c'est ça. Louis part acheter le kit du parfait psychopathe. Donc, une pelle, une bâche, je sais plus quoi.
Une chambre d'hôtel sous un faux nom.
Et il se loue une chambre d'hôtel sous un faux nom en ville pour ne pas être repéré par le vieux. Parce que le vieux, il a capté, enfin voilà.
Ah bah, il sait qu'il va se faire juger, hein.
Donc, il préfère rester en ville. Et dans le même temps, Ellie, qui fait un terrible cauchemar et arrive à convaincre sa mère de repartir chez eux en lui expliquant que Pascal le Maccabé, du début, est venu la voir en rêve pour l'avertir que quelque chose de terrible allait arriver.
Et donc là, on utilise le 3615 Minitel.
Non, on appelle la dame des transports. Et Rachel parvient... Alors, d'abord, Rachel, elle appelle chez elle. Ça répond pas. Du coup, elle appelle Jude. Et Jude comprend que Louis va faire de la merde. Et donc, il s'installe chez lui pour surveiller le retour de Louis.
Sur la terrasse.
Sur la terrasse, avec des bières. Non, mais c'est important pour la suite.
Bonne idée
le coup
pour
des
se tenir éveillé.
À ce moment-là, il y a Louis qui a déjà commencé à se poser quand même des questions, à savoir si vous souhaitez récupérer un quartier de viande qui respire, ou alors est-ce qu'il arriverait à expliquer, à sa femme, sa fille, tout ce qui allait se passer, quoi.
Il avait, non, mais surtout, ça on en a pas parlé, en fait, je viens de m'en rappeler. Il a demandé à Rachel, tu te souviens la fois où Gage a eu un accident, je sais plus quoi, il aurait pu être, en gros,
hydrocéphale.
Mort?
Non, pas mort, hydrocéphale.
Ah, bah celui-là, oui.
Et avoir du coup des problèmes de. Ah.
Cerveau,
de
un QI un peu bas.
Ok.
Bah être teubé, voilà.
J'ai noté ça aussi.
Et donc, pardon, mentaux qui nous écoutent, vous êtes mal.
Et Louis dit à Rachel, est-ce que tu l'aurais aimé pareil? Est-ce que, voilà, tu t'aurais voulu. Enfin, tu sais, ça aurait été ton... Elle dit, ben, évidemment que je l'aurais aimé pareil. Donc, ça fait partie des trucs qui le confortent dans l'idée que c'est pas grave s'il récupère
si c'est
un
zombie,
de,
c'est pas grave.
Villes. Voilà, ça reste son fils.
Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long du bouquin, je trouve que Louis, parfois, traite son fils de débile.
Ah bon?
Il lui donne des petits surnoms, un peu limite et tout. Moi, je me suis toujours posé la question, et quand il parle justement de cette histoire d'accident... Et d'hydrocéphale, je me dis, ok.
En même temps, un enfant de 2 ans, est-ce que c'est pas un peu débile?
Il est débile, il dit juste qu'il jette sa bouille un peu partout.
C'est normal. Jusque-là, c'est. Moi, ça m'a pas choqué.
Je sais pas,
hein.
Alors, je sais peut-être que moi, hein, mais.
J'ai déjà pris des cuillères de bouillie dans la gueule.
Ah oui, il a aussi déjà bouffé des billes. Les billes de sa sœur ou je sais pas quoi.
C'est
un enfant, quoi.
Ça arrive aussi.
Ça, c'est normal,
fait, hein.
Des Legos, des pièces de monnaie.
Et voilà. Julien l'a fait et il est toujours là pour
en
parler.
J'ai sniffé des têtes de Lego par le nez.
Tu veux dire, tu les as mises dans ton nez ou tu les as juste reniflées?
Je les ai mises dans mon nez.
Ah, ok.
Et elles sont ressorties après
Non,
il y en a encore.
Elles sont toujours là. Elles sont toujours là.
Il fait un peu d'asthme depuis.
On voit très bien.
Des fois, quand je fais des radios de ma tête, je vois le petit Playmobil.
Si vous voulez voler des Lego dans les boutiques Lego, le nez.
Après, vous pourrez pas les récupérer,
ça,
mais le nez, c'est
ça marche
mal.
Que pour les têtes. Mais...
De temps en temps, quand il éternue, il a une tête.
Quand il se mouche.
Bon, allez, tout s'accélère.
Ouais. Femme, vas-y.
On va jamais y arriver. Non, mais là, la situation est quand même critique, les enfants. Ça va pas. Tout s'accélère, ou presque, parce que pour moi, ça a été une partie extrêmement longue pour rien. Mais Louis bah non, rentre c'est, dans c'est le pour, cimetière.
C'est fait exprès pour poser l'ambiance. Il flippe. Ouais. C'est pas non plus un acte facile qu'il va commettre, quoi.
Ah, je suis d'accord.
Et puis aussi, c'est parce qu'entre temps, il y a aussi Rachel qui est en train de rentrer. Donc la grande question, c'est rentrera-t-elle à temps ?
On n'y est pas encore.
D'accord. Pardon.
Donc Louis, là, il est en train de rentrer dans le cimetière. C'est extrêmement loin. Il est accroché à un mur, à un arbre. Il n'y arrive pas. Il ne sait pas comment. Il y a une voiture qui arrive. Est-ce qu'il va se faire choper ou pas ?
Il y a des lumières à la fenêtre.
Et une fois dedans, comment il va faire pour sortir ?
Mais quel mépris dans cette description. Je suis outré, madame.
Il y a des grosses bourrasques devant. Il y a une espèce de tempête. On dirait que comme un signe.
Comme un signe divin. Exact. Exactement. Donc 20. il est dans le cimetière et il commence.
Non, on rigole pas à ça. Non, personne ne rigole.
On continue comme si
on
rien n'avait été.
Voilà, désolée, je suis très
Rachel
très facile en humour.
Rachel qui a réussi à avoir un retour en avion avec plein de correspondances rate la dernière. Oh, c'est ballon.
Ouais, mince.
Louis finit de. Alors je vais vite parce que vraiment à ce moment-là les chapitres s'enchaînent rapidement sur l'un puis sur l'autre. Louis
le
finit de déterrer son fils et l'embarque dans la voiture pour rentrer.
Alors attends donc, parce que là tu vas vachement vite.
40 pages à rentrer
vite,
dans
là.
Le cimetière.
Il y a quand même le moment où il récupère son fils. Déjà il a une surprise où il pense qu'il a plus de tête. Bon après il peut se tromper.
Ah oui c'était horrible ça.
C'est dégueulasse. Mais surtout quand il le sort il le berce contre sa il a de la mousse partout mais surtout il le berce contre sa poitrine c'est déchirant comme passage
avant de le bercer sur sa poitrine il a quand même ouvert le truc ça puait il a dégueulé aussi hein. Oui, il y a pas tout qu'un mignon non plus, quoi.
L'autre passage moins sympa.
Et voilà. Et donc il a essuyé la moisissure qui commence à pousser sur les joues de son fils.
Ah. Voilà.
Et c'est vrai. Et après, effectivement, il le berce.
Et à la fin, t'as un petit moment un peu, j'ai envie de dire, un peu comique inventaire, c'est-à-dire que Gage ne rentre pas dans le coffre. Ou qu'il galère.
Ah oui,
puis
il dit,
quand il quoi son coffre, ouais.
Je m'excuse de rire, mais.
C'est une Honda Civic. C'est
tout. Quand il le met sur le siège. Et qui veut démarrer, et dans son esprit, il se dit, mais est-ce qu'il a du bon sens? Et lui-même se dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et, mais là, j'étais
mais
mort.
Alors, mais
pour
lui,
j'ai compris sa question. Ça me choque pas qu'il se soit posé cette question.
Oui, mais.
Mais effectivement, il le dit lui-même, c'est con.
Non, mais attends, imagine, il freine un peu brusquement, et le cadavre s'envole dans le pare-brise.
Non, mais à l'endroit ou à l'envers, ça revient au même.
Mais en fait, c'est ça.
Mais il faut quand même penser à ce genre de choses.
Non, sa question c'était est-ce que une fois posé, est-ce qu'il est bien allongé sur le dos ? Tu vois, est-ce qu'il l'a pas mis en vrac comme ça
Est-ce qu'il avait pas la tête contre
Imagine. Non, mais oui, mais c'est ça son sens parce qu'il y avait des voitures de police et n'empêche que les voitures de police, elles passent. Si elles voient une forme qui n'a pas l'air d'un humain assis dans la voiture, ça fait chelou. Du coup, là, il maintient les apparences quand même. S'il l'avait mis sur le ventre,
il est pas assis.
Il est enroulé dans la couverture, scotché et couché sur le long de la banquette arrière.
Ah, autant pour moi, alors j'ai mal compris.
Alors j'ai mal compris aussi, parce que moi j'ai compris qu'il était assis.
Ah, mais non, pas
bon, j'avais
mais...
dit que tout s'accélérait.
Moi j'ai.
Ouais. Ah, putain.
Ah, c'est pour ça que c'était drôle alors.
Quelle horreur. Il l'a plié, il a fait. Oh, c'est bon, il va
pas. Bah oui.
Ça passe.
Justement, il voulait pas le plier parce que il avait peur de. Il s'est dit, ça lui fera pas de mal, mais quand même, j'ai pas envie de le plier.
Puis il allait l'abîmer pour après.
Aussi.
Rachel a raté sa correspondance. Louis a mis son fils un peu comme il a pu dans sa voiture et il rentre. Rachel appelle Jude au milieu de la nuit parce qu'elle veut savoir ce qui se passe, vu qu'elle n'arrive pas à rejoindre son mari. Et le vieux répond et lui dit qu'il lui expliquerait dès qu'elle arrivera, mais qu'il faut qu'elle reste là où elle est à l'heure actuelle, qu'elle se prenne un Airbnb sur place, là, enfin pas un Airbnb mais
un
motel sur place.
Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ?
Au début, elle le fait, mais finalement, elle le fait pas.
Et elle fonce en voiture.
Alors, dans les trucs importants, que vraiment je trouve débiles dans cette fin. Non, mais je suis désolée. Mais
là, ça dénonce. Hein.
Là, je dénonce. Ça n'a aucun sens. Jude essaye de ne pas se rendormir, mais il échoue. Et il pense que c'est la volonté du cimetière indien. Donc, on rappelle, Jude a plus de 80 ans. Il s'est sifflé des bières, c'est le milieu de la nuit. Mais c'est à cause du cimetière indien qu'il sent qu'il n'arrive pas
oui,
à.
Oui, mais il s'est pris un café bien noir.
Mais non, pas du tout. Il avait la niaque, il était prêt à raison.
Surtout avec leur bière à 4 degrés, il a beau avoir 80 balais, ça va pas lui faire grand effet, quoi.
Non, mais puis il avait l'habitude.
Non, moi je suis pas d'accord. C'est vraiment, on sent l'influence du cimetière pour que les choses se passent comme il a envie.
Alors, peut-être pas.
plus, le cimetière a une influence.
Le sommeil de June n'est pas le meilleur exemple.
Non, mais parce qu'après, Rachel, c'est la même. Ouais. C'est de la merde, pareil, le truc de Rachel. Mais j'y reviens. Ouais.
Alors, je rejoins Julien aussi. Je rejoins Julien. C'est vrai que c'est pas le meilleur exemple de l'influence.
Non.
On a une
Louis
petite,
est en route.
On a une petite référence à l'autre bouquin de l'univers de King dans ses, sur le chemin de Rachel.
Shining. Ouais. Shining.
Non, elle croise Jérusalem's Lot, qui est le lieu où va se passer le bouquin, ce qui s'appelle Salem.
Par contre, elle en croise pas plusieurs des villes.
Mais elle en croise plusieurs, mais c'est celle-là. Je crois que c'est la seule qui a vraiment une référence.
Mais là, à ce moment-là, elle a pas encore repris la route. Hein.
Moi, si je disais Shining aussi, c'était parce que pour moi, toute la partie où Rachel, elle prend l'avion, elle prend sa voiture, etc., pour moi, ça me fait penser exactement à la partie dans Shining à la fin quand le mec, il essaie justement.
Et là, on vous a spoilé Shining!
Mais non, mais en fait.
Je ne l'ai pas lu à titre personnel.
Mais non, mais pour moi, en fait, penser que Shining, c'est le seul livre de King que j'ai lu à part Cimetière, et pour moi, c'est vraiment.
Mais bon, on l'a pas encore fait.
Oui, mais je vous dis, c'est vraiment un énorme parallèle et ça va vous sauter aux yeux quand vous allez le lire. C'est du copier-coller.
La fin ?
Non, mais je dis juste qu'il y a un mec qui prend sa voiture pour aller essayer de sauver la famille.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est exactement ça. Et c'est, tu vois, qu'il prend son avion, il est dans l'avion, il en a marre de prendre l'avion, il prend sa voiture, il y a des accidents. Enfin, c'est exactement comme
la
partie de
Rachel. T'as ça dans Brume aussi, à ce compte-là.
T'as ça dans Brume, t'as ça dans ça aussi, non ?
Bah dis donc, super l'originalité, King.
Tout est connecté.
T'as ça dans 22-11-63.
La femme de Bill. La femme de Bill, quand elle vient, quand elle arrive à cette putain de ville de Derry.
Allez, Louis est en route pour le cimetière indien.
Oui.
Finalement, Rachel vient directement à Ludlow en voiture.
Oui.
Louis refait tout le parcours fait avec le vieux pour enterrer le chat et il flippe sa race.
Ah oui, alors attends, le parcours il se passe pas de la même façon qu'avec le vieux quand même. Il croise une espèce de fantôme, une face sinistre. Il croise enfin le Wendigo, une espèce de monstre qui est aussi haut que Saint-Étage, qui écrase les arbres sur son passage.
Avec des cornes de chèvre.
Ouais, voilà.
Il a des cornes de chèvre.
Oui,
le
il a des cornes un peu de Satan. Ah non, il dit justement que c'est pas les cornes de Satan. Justement, il dit que c'est pas les cornes de Satan, mais que c'est les cornes de chèvre.
Ouais, c'est pas bouc, c'est chèvre. Elles sont pas. Voilà, elles sont d'une certaine forme et pas de l'autre forme.
C'est ça.
Elles vont vers l'arrière en tournant. Merci, comme une spirale.
Mais pas vers l'avant.
Mais du coup, voilà, il flippe vraiment parce que les légendes ont l'air de prendre vie sous ses yeux et il se dit que putain, le Wendigo, si vraiment il rend les gens cannibales, c'est pas bon pour
lui. Ça va être la merde. Alors, est-ce qu'il arrive en haut cette pyramide ?
Il arrive en haut de la putain de pyramide et il creuse.
C'est pas une pyramide.
C'est une spirale aussi.
Non,
c'est un plateau.
Et d'ailleurs, je crois que c'est là que j'ai noté qu'on voit que c'est une spirale, qu'on voit encore à nouveau le symbole de la spirale. On le savait pas au départ. Hein.
Oui, là, oui, et là, il remarque que le cimetière de Micmac est aussi en spirale.
Et ça veut dire quelque chose ou pas, la spirale ?
Oui,
bah, il explique
c'est le symbole religieux. Puis le chaos et l'ordre, il y a un délire comme ça.
Ah, j'avais oublié.
Oui,
okay.
Oui, c'est un
spirale infernale, quoi.
Okay,
c'est le premier
bien.
Symbole de l'humanité.
Ok, très bien.
Quasi, ouais.
Rachel, qui n'a pas dormi depuis 48 heures et vient d'enterrer son fils, se dit que quelque chose l'empêche d'aller à Ludlow. La preuve, elle a envie de dormir.
Vous sentez le cynisme ?
Non, mais sérieusement, faut arrêter.
C'est super méprisante quand même.
C'est débile. Ah, ça fait 48 heures qu'elle a pas dormi. Elle vient d'enterrer son fils.
Mais justement, quand tu viens d'enterrer ton fils, est-ce que tu crois que t'as envie de dormir ?
Mais bien sûr.
Mais non, que dalle. Tu fais une insomnie pendant je sais pas combien de jours.
Moi, je prendrais la route, ouais.
Je vous trouve assez insensible, madame la marquise de Pomme.
Pardon ?
Va prendre un
Je vous trouve assez
Rachel.
Insensible, madame la marquise de Pomme.
Non, pas du tout. Mais là, je suis désolée, Rachel, c'est normal qu'elle ait envie de dormir.
Ok.
Louis rentre chez lui et il s'endort épuisé. Bah, je vois, lui, il s'endort épuisé.
Ah, mais attends,
là,
il a fait du sport là.
Mais Rachel, elle a pas creusé deux fois une tombe dans la soirée.
C'est clair. Bon.
Au petit matin, quelqu'un ou quelque chose qui pue vient se servir dans la trousse de médecin planquée en haut de l'armoire. Mais Louis ne se rend compte de rien. Ah, c'est écrit comme ça. Je suis désolée. Hein. On parle de l'odeur. On dit, on sait pas trop qui sait ce que c'est. Et ça va chercher le scalpel, enfin quelque chose à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est, dans la trousse de médecin.
Mais c'est aussi pour un esprit maléfique, parce que Gage, il n'était pas censé savoir où était la trousse de son
père.
Mais
à ce moment-là, on ne sait pas que c'est Gage.
Oui, mais...
Après, quand on le sait, on
s'en Attends, je ne suis pas Sherlock Holmes, mais j'ai bien deviné qui c'était.
Le vieux est
c'est
réveillé par un bruit, donc il dort sur son... à côté de
Et puis c'est normal qu'il ne se réveille pas avec l'odeur, il a le nez dans l'oreiller.
Oui, en plus. Oui, oui, mais c'est juste. Non, non, mais par contre, c'est juste. Ok, j'ai précisé détail l'odeur important, parce qu'ils en parlent.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus.
Et après, on me dit que. Ouais, d'accord. Après, on me dit que je fais trop long sur certains bouquins. Là, les détails, ils dorment avec le nez dans l'oreiller. Pardon de ne pas l'avoir relevé.
En fait, on est en janvier 2020 et ça fait un an et demi qu'on est sur Cimetière.
1h39.
Ça va.
Donc, ça y est, le vieux, il est réveillé par un bruit et par une odeur. Finalement, c'est le chat Gage venu le buter pour se venger. Alors, c'est là que j'avais pas compris de quoi il venait se venger, mais du coup, peut-être il vient se venger du fait qu'il était censé être le gardien et qu'il a mal gardienné.
Mais non,
oui. Juste parce qu'il vient se venger des gens. Alors
non. Ouais, il a juste envie de tuer, ouais.
Mais déjà,
ouais.
Il y a marqué qu'il y a, je sais plus ce que dit oui, Gage, non, en fait, j'ai dû le noter.
Alors, je lis ce que dit Gage. Il dit « Bonjour, Judd. Je suis venu pour expédier en enfer ta vieille âme puante et pourrie. Tu m'as baisé dans le temps, tu devais bien te douter que je reviendrai un jour ou l'autre pour te rendre la politesse. »
C'est par rapport au gamin qui a été de la Seconde Guerre mondiale.
Mais
qui
non,
a
parce
été...
qu'après il dit que c'était non. Pas vrai cette histoire, qu'il a raconté ça pour faire peur à Louis.
Non. Quoi ?
Non.
Ah
non,
si,
non,
il le dit.
Ah bon ?
Je retrouverai.
Tu as, moi, j'ai tu as lu des, fra- tu as lu des phrases qu'on n'a jamais lues.
Ok, mais je, enfin, ouais. Si c'est vrai, je pense que c'est lié à ça.
Et c'est pas parce qu'il a fait un avertissement à Louis, le fait qu'il lui ait dit que le cimetière était maléfique, enfin qu'il ait essayé de le garder loin, un truc comme ça, c'est peut-être pour ça.
Peut-être, ouais.
Ou alors parce que lui, quand il a enterré son chien, le chien est revenu gentil.
Ouais, mais après, il a pas...
Mais en quoi ça
le chien est mort,
est
mort de mort
naturelle
ensuite ou il l'avait tué?
Ouais, le chien est mort de mort naturelle.
Non, non, moi,
enfin,
moi
il est mort de vie.
Je pense que c'est vraiment lié au. C'était Timmy Bateman, là, celui qu'ils ont tué
et qu'il
a empêché d'accomplir tout ce qu'il était venu pour accomplir en temps. Sous cette forme de démon, quoi. Comme si.
Oui, enfin, Timmy, il accomplissait pas grand chose. Il faisait juste que traverser la rue en long, en large, en travers.
Bah oui, mais on sait pas.
Oui, mais c'est quand ils sont venus avec les.
Parce qu'il préparait l'Iron Man du
Oui, mais après, le mec, il s'est tué. Enfin, il a tué son fils et il s'est tué. Peut-être,
oui,
ça.
Peut-être. Mais
alors, parce qu'il n'a pas enterré sa femme.
Alors, non, attendez. Je viens de me rappeler un truc, c'est que quand Jude et ses potes sont allés voir le père de Timmy avait l'air d'avoir pris un sacré coup de vieux. Donc peut-être que l'entité qui était revenue à travers Timmy voulait aspirer encore toute la vie du père plutôt qu'il se suicide en brûlant
Timmy.
Sa maison.
Oui, trop.
Et que du coup, l'entité en veut à Jude d'avoir provoqué la mort prématurée du père de Timmy avant d'avoir pu lui aspirer toute sa force vitale.
Voilà, puis il en avait après le père de Timmy en particulier. Je veux dire, c'est un mec un peu random, non ?
Non, mais c'était une victime comme un autre. C'est un peu comme un vampire qui choisit
son
victime random.
Non, mais oui, c'est intéressant.
Ouais, c'est possible. Bah,
c'est intéressant.
Ouais, je te rejoins aussi en ajoutant que finalement, c'est son intervention qui a fait que le gars a tué Timmy et s'est tué après.
C'est
vrai. Encore pire, voilà.
Et en plus, depuis, il n'y a pas eu d'autres cadavres humains enterrés là.
Pas qu'on sache, ouais.
Du coup, ça a créé un précédent, en fait. Et du coup, plus personne n'a osé le faire.
Ah, ça, ouais. Dans le code civil du cimetière des animaux, on a dû rajouter un alinéa.
Bon, Jude, il se fait buter à coups de scalpel par le gamin.
Ah, mais tu vas super vite.
Bah, en quoi je vais super vite?
Mais attends, il lui dit quand même, ouais, t'as trompé ta femme, et puis ta femme
non.
aussi, elle baisait mais partout.
Ouais,
mais
ça, ta femme,
tout le monde
fait
le
putain.
Mais si.
Il le redit là.
Le petit gamin,
il s'énerve pas comme ça. Tout le monde lui est passé dessus.
Victoire.
Elle t'a trompé.
Elle se faisait prendre par derrière, une bite dans le cul, c'est ce qui lui plaisait le
oh,
mieux.
Oh, c'est ça.
On l'a. Non, mais...
Même pas besoin de forcer pour avoir le point bite, hein, en fait, finalement.
C'était ça, il n'y avait pas besoin de forcer.
Et d'ailleurs, j'ai posé la question à Pomme, parce que j'étais pas arrivé à ce moment-là dans le film, enfin dans le livre quand je regardais le film, mais on est d'accord qu'il ne mange pas de jus de...
Okay. Non, 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 le point zombie, ça, non. C'était pas dans le livre.
Ouais.
On est d'accord. Bon, j'en reparlerai. C'est prévu.
Dans le livre, il en parle après. Quand il découvre le cadavre, il est croqué.
Le cadavre
de
Rachel.
Pas
le cadavre de Jude.
Ah, alors c'est Rachel. Ah, autant pour moi.
Spoiler,
alors.
Rachel va se
Parce
faire buter.
Parce qu'il préfère manger les femmes. Elles ont un meilleur goût à Skip.
Mais non, mais vous spoilez, là.
Elle vient de nous spoiler tout Shining.
On y est
et
pas
elle
encore.
Nous accuse de spoiler le livre dont on parle.
Et Phèdre.
Et Phèdre.
Mais écoutez, si vous avez pas de culture littéraire,
que
est-ce que c'est de ma faute?
Et on l'invite plus, hein.
Vas-y, Pomme, t'es bientôt au bout.
Ouais, allez, on y est presque. C'est bon, je peux dire qu'il est mort, là, ou pas?
Oui.
Le vieux,
oui, pareil, oui, c'est pas, il s'est fait tuer au scalpel.
Le vieux est mort à coup de scalpel voilà. par le
Je
gamin.
Trouve que c'est un peu facile. Hein. Et je pense qu'il y a l'influence du cimetière des Micmacs qui l'empêche.
Bah, sans blague.
Qui l'empêche de quoi?
De se défendre parce que bon, c'est quand même un c'est quand même un enfant.
Mais non, mais il y a il y a le chat qui le fait tomber et tout.
Ouais.
Il y a une team, hein.
C'est un enfant.
80 balais, il a picolé. Bon, je...
Ouais.
Non, mais c'est pas un vrai enfant.
C'est pas un vrai enfant, mais regardez, souvenez-vous ce qu'ils disent sur quand Church qui est revenu, c'est qu'il est complètement maladroit, il a plus rien de, il a plus.
Mais c'est un animal. Là, on sait que Gage, il a été enterré au moment où l'esprit maléfique était fort. Donc là, il y a l'esprit, on sait que l'esprit, il est vraiment dans Gage. Donc, okay. D'où la force surhumaine,
ouais,
je pense.
Ouais, puis en plus, bon. Jude, un des derniers trucs qu'il s'est dit, c'est que de toute façon, sa femme, elle ne le fera plus, quoi.
Oui, certes.
Bon, Rachel arrive. Ça y est, Rachel, elle est là. Elle va directement chez le vieux. Elle voit le chat. Elle voit du sang.
Et
à l'étage...
Elle voit les traces de pas, ouais.
Voilà. Et à l'étage, elle croit voir et entendre sa sœur. Mais en fait...
Le grand, le terrible Oz.
Mais en fait, c'est Gage qui lui dit avoir ramené un cadeau. Et Rachel lui ouvre les bras en grand pour l'embrasser. Louis se réveille, enfin, tout courbaturé et blessé. En descendant faire son petit-déj, le téléphone sonne, et c'est le père de Rachel qui lui dit que Ellie a été hospitalisée suite à une crise de panique incontrôlable. Elle a dit que Gage avait tué sa mère et que Pascal avait dit que c'était trop tard.
Et attends, Louis aussi, il avait fait un rêve. Il se réveille et il avait fait un rêve. Il avait rêvé qu'il était dans le cimetière des animaux et qu'il y avait Jude et aussi Rachel qui avait une grande tache de groseille sur la poitrine. Et il se demandait, bah tiens, qu'est-ce qu'elle a ?
Ah bah, on va le savoir assez
vite. Bah, elle s'est pas mangée.
Elle a fait tomber sa tartine.
Donc c'est à ce moment-là, c'est après le coup de téléphone.
Oh non, ça tombe toujours du côté de la confiture.
Après le coup de téléphone, Louis se rend compte que Gage est venu dans la maison, parce qu'il voit les pas, les petites traces de pas. Donc il est venu avant son réveil et qu'il lui a piqué son scalpel. Donc il quitte la maison et il va directement chez le vieux.
Alors il fait des emplettes avant de quitter la maison quand même.
Ouais,
mais avant, il voulait se faire à manger.
Oui.
Quand il s'est réveillé, il avait prévu de se faire un petit déjeuner.
Et donc
non mais le mec il est tranquille quand il se réveille, il est combattu et blessé, mais bon, il veut faire son petit déj. Je vais attendre mon fils. Quoi.
Bah attends, normal, il a grimpé la nuit dernière.
Il dit qu'il a faim, il dit que le chat était revenu que dans l'après-midi et que donc son fils reviendra sûrement que dans l'après-midi.
C'est vrai. Mais je le trouve un petit peu trop serein. Heureusement que le coup de fil leur met un peu d'aplomb.
Voilà. Je suis d'accord.
Donc, comme disait Grand Poil, avant de quitter la maison, il récupère des seringues avec des sédatifs dedans, de ce que j'ai compris.
C'est ça.
N'empêche qu'on est d'accord que si Louis n'avait pas été médecin, bah, ça aurait été quand même vachement.
Ça aurait été une histoire nulle.
Ah bah.
Déjà, il aurait pas.
S'il aurait été notaire.
Ça serait devenu probablement plus graphique.
Il aurait peut-être récupéré une batte de béret. Voilà.
S'il aurait été notaire, il aurait essayé de le tuer
en
la gorge avec des contrats de location et de propriété.
Avec un ouvre-lettre.
Donc, il voit le chat sur la bagnole, il l'endort ou le tue, j'ai pas bien compris.
Ouais, il le tue,
il lui
injecte une dose massive de sédatifs pour
Il rentre dans la maison, il trouve le cadavre de Jude dans une mare de sang. Et à l'étage, il trouve le cadavre de Rachel recouvert de sang et également un petit peu grignoté.
Alors là, j'ai dit, c'est l'influence du Wendigo qui rend les gens cannibales, quoi.
Là, le Wendigo, c'est le seul moment où je trouve qu'il. Bon, voilà, ok. Il tombe enfin sur Gage qui essaie de le tuer, mais Louis est plus rapide. Et finalement, il s'en va après avoir foutu le feu à la maison.
Mais elle fait vachement peur cette scène, hein. Parce qu'il y a quand même une. Là, tu vas vite, mais il y a une empoignade entre lui et son fils, où son fils il a une force, et qu'il essaie de le poignarder, et que l'autre il essaie de le repousser. Enfin, ça fait vraiment phaser, quoi. Tu l'imagines se battre avec un espèce d'enfant bébé maléfique.
D'un enfant bébé zombie.
Ouais, moi ça m'a vraiment foutu. Tu l'es jeté.
Moi, dans ma tête, Chucky. Voilà, bah exactement, c'était l'image que j'avais.
Ah ouais, c'était trop ça,
n'a rien à voir avec l'image du livre, du film.
Mais Hurd, t'es la seule à le dire avec un sourire.
Ouais. Complètement.
C'est super rigolo, les bébés zombies, j'adore.
Trop, mais oui.
Allez, on a presque fini, il ne manque plus que quelques pages. Donc Steve, le collègue de Louis, qui s'inquiète de l'absence de celui-ci à son poste, arrive à Ludlow et voit la maison en flammes. Et il aperçoit également Louis qui se carapate dans les bois. Il le suit et quand il le rattrape, il se rend compte que Louis porte le cadavre de Rachel. Il a l'air vieux, dément et épuisé.
Il a les cheveux blancs maintenant,
Louis. Blancs, exactement. Steve se sent attiré sur le sentier derrière le tas de troncs d'arbres, mais le charme se rompt d'un coup. Et
quand il
repart chez lui.
En haut de la pile.
Ouais, et il repart chez lui en courant et oublie ce qu'il s'est passé.
Alors il se dit quand même que aussi avec Gage il a attendu trop longtemps et qu'il faut qu'il le fasse tout de suite avec Rachel.
Ouais, mais, voilà. Mais Pomme, dis-moi, tu m'as l'air de vite tracer là. Est-ce que tu serais pas un petit peu en train de flipper ?
Non, pas du tout. C'est juste
que l'influence du cimetière te ferait peur. Parce que je trouve que tu passes un peu vite sur le fait que Steve, justement, quand tu dis il se sent attiré, puis hop, le charme se rend d'un coup.
C'est parce qu'elle a un rendez-vous à minuit.
Il y a un dialogue à l'intérieur.
Au Père Lachaise.
Intérieur de Steve et c'est, enfin. C'est quelque chose qu'on a assez régulièrement dans le bouquin, d'ailleurs, des espèces de dialogues intérieurs. Il y a Jude, quand il monte sa garde, il a l'espèce de dialogue avec le cimetière Micmac qui lui parle.
Ah bon?
C'est un truc sur lequel on est passé rapidement, mais qui rajoute un petit peu à l'ambiance.
Oui, on l'a beaucoup avec Louis. De sa situation vieillard. Et ça aussi, c'est une situation qui est dans Shining, où le mec qui... le mec qui fait la route, il l'entend de loin, à des milliers de kilomètres, l'hôtel lui parler et lui dire « reste en dehors de ça ». Et c'est pour ça que moi, toute cette partie-là, ça m'a vraiment fait penser à Shining. Le cimetière, je pense que c'est un peu le même esprit.
Mais est-ce que l'hôtel de Shining ne serait pas construit sur le cimetière des Micmacs?
Il y a toute une théorie là-dessus, donc je me demande si c'est pas lié.
Des énormes propriétaires terriens au XVIe siècle, dans le Maine.
Avant de se faire exterminer, tu veux dire?
Avant de tout perdre dans l'alcool et la drogue.
C'est ça. Épilogue. Épilogue. Alors... Puisque j'arrête pas de me faire bâcher, j'ai adoré la fin de ce bouquin. Voilà, je tiens à le dire.
Mais il n'y en a pas. C'est tout ça.
Mais si, c'est quand même une fin. C'est quand même
elle est géniale, cette fin.
Vas-y, explique-la.
Épilogue. Non, mais quand je dis la fin, la partie aussi où il amène Rachel au cimetière et tout ça, j'étais à fond dedans. Après avoir enterré Rachel dans le cimetière indien, Louis revient chez lui et répond aux questions des policiers tranquillement. Puis, il joue aux cartes jusqu'à minuit et ne s'arrête que lorsque Rachel, couverte de terre et traînant la jambe, lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Bonsoir, chérie. »
Fin. Elle dit pas juste « Mon chéri ».
Elle dit juste « Mon chéri ».
Bon. Elle dit « Mon chéri ».
Bonsoir, mon chéri. Ouais.
Et vous me gonflez, là.
Oh bah t'as cherché un peu. Hein.
Madame. Non, mais je croyais que cette phrase avait marqué Pomme, il faut être précise un peu.
Alors, elle regarde
le
livre.
Elle ne dit que « Mon
chéri ». Dit,
«
Mon chéri ». Bah la fin, bah, chocolat.
Voilà,
placement produit.
De King.
Non, cette fin, elle est très. Enfin, toute la fin, toute la partie.
Sneakers. T'imagines, ça aurait été une moins bonne fin.
Ah, oui. Je comprenais pas ce que tu dis. Pourquoi c'est... J'ai raté.
Non, mais là, Julien, ça va commencer à se voir que tu touches des royalties. Enfin. Intégrité, merde.
Mars, Kit Kat.
Voilà.
Ça fait 3, c'est bon.
Et donc, c'est la fin.
Ça y est, c'est la fin.
Bravo, bravo pour ce résumé, Pomme.
Bravo, Pomme.
Merci.
T'as réussi à en venir à bout.
Bon courage au monteur.
Ben, c'est pas grâce à vous.
cette fin, elle est quand même enfin, rapide.
Cette
fin,
moi, elle est rapide, mais elle se suffit elle-même. Il nous manque des détails, c'est pas le but aussi de tout expliquer, sinon après, on s'en sort jamais.
Moi, j'ai fait des cauchemars de cette fin.
En fait, ça m'a fait penser à moi quand je faisais mes dissertes de philo au lycée.
T'en avais marre.
Où j'ai ma première partie qui fait quasiment 2,5 pages. La deuxième partie qui fait 1 page. Et puis la troisième partie, elle fait une demi-page. Et la conclusion, elle fait 3 lignes.
Mais tu voulais que Louis écrive une lettre à sa meilleure amie pas vue depuis 20 ans pour lui expliquer tout ce qui s'était passé.
Non, sans aller jusque dans les travers dans lesquels il est tombé pour Jessie. Je trouve que dès le dernier tiers en fait du bouquin, il accélère vraiment beaucoup les choses et c'est un truc que j'ai un peu ressenti aussi dans ça, c'est qu'il
dans ça c'était fait exprès.
Ouais, mais c'était mal fait dans ça, alors que dans Cimetière c'est plus lisible.
C'est peut-être fait exprès, mais c'était mal fait.
On va pas revenir là-dessus.
Dans Cimetière, non
mais sérieux,
pages,
il commence son bouquin avec une phrase qui fait une demi-page entière toute seule. Et il finit avec
un
truc en 3 mots quoi.
Elle
donc
pas drôle,
non,
cette
mais
blague.
Je sais pas. J'étais un peu déçu.
Non, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment très percutant, très violent. Et c'est en suspens, mais pas trop, parce que tu te doutes bien que.
Alors que la fin du film, quand tu vas faire ta chronique.
C'est plus définitif, mais. Moi, en fait, j'avais compris que le livre allait se terminer comme ça aussi, de toute façon.
Ouais, moi non, j'avais pas.
Pas moi.
C'est ouvert et j'aime bien.
Ouais, bah c'est ouvert mais moyen bof quoi. Quand tu vois comment c'est passé pour le gosse, tu te dis
attention,
Rachel.
Oui mais il y a cette théorie comme quoi s'il l'enterre assez tôt, peut-être qu'elle.
Mais non,
pas,
mais non, ça il dit ça parce qu'il est devenu complètement barjo.
Mais regarde le chien, il était gentil.
Non, il était pas gentil le chat.
Bah en fait.
Si. Le chien, il était gentil, hein.
Non, le chat, des fois, il était un
le
peu...
Chien,
non,
ah,
le chien,
chien.
Le chien de Jude.
La mouette, elle a rien fait.
Okay.
Attention, j'ai pas, j'ai pas dit que je voulais plus de détails.
Statistiquement, il y a plus d'animaux mauvais qui sont revenus que d'animaux pataux.
Bah, et au niveau des humains, il y a 100% des humains qui sont revenus
On en sait rien pour Rachel.
Ouais.
Aymeric, t'allais dire quelque chose.
Oui, je veux dire, attention, hein, j'ai pas demandé à ce qu'il détaille vachement plus les choses sur la suite, mais que j'aurais aimé un peu plus de, enfin là justement, j'ai trouvé que il allait un peu trop vite sur la fin. Je demande pas à ce qu'il détaille plus ce qui arrive après, mais ce qui arrive là, ça, je trouve que c'est pas assez bien détaillé.
Mais c'est glaçant, c'est ça qui est incroyable.
Oui, mais c'est vrai que sur un bouquin, alors ça dépend des versions, mais entre 6 et 700 pages, t'as toute la partie qui enfin, tout amène au fait que Gage va mourir, qu'il va être enterré, qu'il va revenir. Et à partir du moment où il est enterré, où il revient, avant la fin, t'as 40, 50 pages. Donc c'est un peu, je comprends ce que veut dire Aymeric par là, c'est que c'est quand même hyper court, tout ça, pour juste 50 pages de...
J'aurais préféré plus court ailleurs et plus long cette partie. Je suis d'accord.
Pareil.
Peut-être pas hyper bien équilibré.
Oui. Je pense que de toute façon, on ne sera jamais d'accord sur les fins.
Mais vous ne trouvez pas que ça aurait fait redite en vrai? Parce que tu as déjà vu que quand on enterre un humain, ça se passe mal. Donc si tu avais refait un long passage sur Rachel, tu ne crois pas que ça aurait été une redite et un peu too much? Tu as compris au fond que...
Développer un peu plus la partie de Gage. Ou... Tu vois, c'est pas forcément...
Attends, tu n'as pas trouvé que c'est déjà assez développé, Gage?
Mais non, justement, non. La partie...
Trop,
la
d'autres
non,
mais par sont exemple, trop développés.
Par exemple, Gage, il faut que ce soit efficace, il faut que ça marche tout de suite. Il ne faut pas justement perdre de temps. Ils veulent pas... L'horreur, il l'a déjà installé avec le chat. Le comportement, ils l'ont déjà de l'humain, ils l'ont déjà instauré avec les exemples du jeune là qui revenait de la guerre. Enfin, justement, Gage, c'est là pour montrer tout de suite ce qui se passe. C'est les conséquences. Il va prendre dans la gueule les conséquences de tous ses actes et ça va pas prendre de temps quoi à ce niveau-là.
Je crois que comme d'habitude, on sera pas d'accord. Donc ça sert à rien d'en faire des heures et des heures. Et je vous propose de passer à la suite si tout le monde est d'accord.
C'est quoi la suite?
Vas-y.
Alors aujourd'hui, Marianne n'a pas pu préparer les questions, elle était occupée. Donc on a sélectionné plusieurs questions d'auditeurs au lieu d'en choisir qu'une. Et c'est maintenant Aymeric qui va les poser à vos places.
Alors, j'ai quand même prévu deux petites questions un peu dans le style des questions que Marianne nous posait pour nous échauffer avant les questions des auditeurs. Donc première question... Qui est votre personnage préféré? Quel personnage avez-vous détesté?
Bon, Tom m'a déjà répondu. Hein.
Ah bon?
Elle t'a dit le tas de bois.
Non, moi j'ai kiffé. Moi j'adore cette gamine. Pauvre gamine.
Il lit l'innocence et la préscience.
Mais elle est casse-couille.
Bah quoi? En quoi?
Oui. Elle voit l'avenir, c'est hyper pratique.
Oui, d'accord, mais elle fait quand même des crises de nerfs pendant 2/3 du livre.
Parce qu'elle sait que son frère va mourir.
Mais même avant ça.
Si elle était pas là, sa mère serait pas revenue et elle serait pas morte.
Elle a un petit côté parfaite qui est un peu énervant.
Elle est un peu pourrigatée quand même. Enfin, elle fait que des crises au début. Bref.
Bon. Bah, je vais fermer ma gueule, du coup,
Non, on a le personnage détesté de Victoire.
Non, moi, j'ai pas de personnage préféré dans ce livre. Globalement, ils prennent quand même tous de très mauvaises décisions.
Alors, celui qui t'a le plus attaché,
plus
ouais, marqué, ouais.
Marqué. Ok, merci.
C'est tout pour moi. Je dirais Louis quand même, parce que même s'il prend que des mauvaises décisions, je suis pas un papa, mais je me dis, bon, pourquoi pas.
Ah non, Louis, c'est pas possible. Louis Carmar. Autant Jude, ouais. Alors Louis. Ouais.
Mais non, Jude, d'où il est normal ce mec-là?
Bah, il est sympa.
Ah, aussi, ouais.
Mais non,
j'aimerais bien avoir un voisin.
Un
comme
campagne, un peu
moi,
isolé,
j'aimerais beaucoup avoir un voisin qui m'emmène enterrer mon chat dans un cimetière indien. Vraiment, je trouve que c'est super sain. Et ça développe un peu la fête des voisins. On a des choses à raconter ensuite.
On a chacun nos animaux morts. Toi, ton mouton.
Ah bah oui, bah mon personnage préféré, c'est le chat, c'est Church.
Ah, clairement.
Parce que j'aime beaucoup les petits chats.
Et vous,
même
là-bas
quand ils sont maléfiques.
Moi, j'aurais dit Judd aussi. Moi, j'aurais dit Judd.
En préféré ?
Ouais, en.
Non, avec qui
ouais, en préféré.
Plus,
c'est ça.
De toute façon, le pire, c'est le beau-père, hein, je pense.
Ah, bah le beau-père, là, lui, il méritait des grosses torgnoles dans sa face.
Quelle sale merde.
Ah non, moi je pense que Louis mérite aussi un petit peu.
Louis, mais il est un peu poussé par les événements.
Ouais, justement, il a par moments, il a une personnalité, mais globalement, il a pas vraiment de.
Mais c'est le côté tragédie, c'est de toute façon, il est face à des éléments qu'il ne maîtrise pas et qui l'entraînent. C'est comme Phèdre.
C'est comme si le cimetière des Micmac avait une influence sur lui.
Voilà.
C'est ouais.
Bon, question 2.
Question suivante.
Question 2.
Victoire se fait chier visiblement.
Alors, bah.
Ouais, Victoire, elle est timekeeper maintenant, vous allez voir. Clac, 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 clac.
Ça, attends, Pomme m'a dit de grouiller mon cul, alors je le fais.
Si vous avez déjà perdu un animal de compagnie, auriez-vous suivi le vieux Jude s'il était venu vous proposer de l'enterrer au cimetière des Micmac? Alors, il y a deux façons d'aborder cette question. Je vous laisse choisir laquelle version de cette question vous préférez répondre. Soit vous savez à l'avance ce qui va se passer. Ou alors vous êtes dans le même état d'esprit que Louis pour Church, donc vous savez pas trop. Vous savez pas ce qui va se passer et vous avez juste perdu un animal de compagnie.
Moi j'aurais suivi.
Je pense que dans les deux versions.
J'aurais suivi Judd sans savoir. En sachant, j'y serais peut-être pas allé, moi.
Dans les deux versions.
Non, en sachant juste qu'il va revenir, pas qu'il va revenir de façon dégueulasse.
Ouais. Moi, si j'avais pas su ce qu'il voulait faire, je l'aurais clairement pas suivi. Enfin, je veux dire, les gars, soyez sérieux, 2 minutes. Est-ce que vous allez au fin fond d'une forêt avec votre chat dans une sac poubelle
à minuit alors qu'il
minuit,
fait froid?
Je veux dire, en suivant un vieux, n'importe
clairement,
quoi, personne fait ça.
Oui.
Bah oui. Ouais, si ouais. Moi, ça me choque pas.
Moi, je l'aurais fait aussi.
Non, mais
je
l'aurais
fait parce que t'es pas sous l'influence du cimetière des.
Non, mais même, tu le fais si tu sais que ton chat va revenir. Mais en vrai, si tu le sais pas, je me dis, bah non, que dalle. Déjà, je vais l'enterrer dans mon jardin parce que si je veux me recueillir sur la tombe de mon chat, je vais quand même pas faire 20 km à pied.
Non, moi, c'est l'inverse.
Non, moi, j'aime bien les traditions.
3 ou 4 seulement. Je crois que c'est que 3 km jusqu'au cimetière des animaux.
Il y a quand même un élément qu'on prend pas en compte, c'est que Jude en a rien à foutre. Non, pas Jude. Louis, le chat en lui-même, il s'en fout. C'est pour sa fille qu'il fait ça.
Bah, c'est encore moins compréhensible.
Bah justement, non, il veut que sa fille ne soit pas malheureuse.
Mais non, mais en fait, le truc,
bah
c'est
si.
Que... Oui, mais il savait pas que le chat allait revenir à la base quand il allait enterrer le chat. Donc,
oui,
du
c'est
coup...
après que Johnny lui dit.
Bah oui, ouais. Du coup, il savait pas du tout ce qui allait se passer. Donc il va enterrer son chat à Perpète, le chat de sa fille.
Oui, mais à ce
et du coup, quand
on...
elle rentre, qu'est-ce qui se passe?
On dit qu'il est sous l'emprise du truc, déjà.
Oui,
c'est pas
bah
l'emprise
oui, bah du
seul.
Coup... Bah du coup, la question, elle est biaisée, elle est nulle, cette question.
Bon, bah, Emmerich.
je m'en vais. Du coup, on passe à la question suivante de Pierre Ferré sur Facebook, qui nous demande comment...
Et tu dis pas que nos auditeurs sont nuls, d'accord?
Ah, pardon. Ah, bah, je m'en fous, c'est pas ma communauté.
Voilà.
Oh là là.
Je vous respecte
tu coupes pas, hein, Donc...
Vas-y, Emmerich, vas-y, s'il te plaît.
Question de monsieur Pierre Ferré sur Facebook. Comment auriez-vous réagi à la place de Louis pour la mort de Gage?
C'est chaud.
J'arrive pas à me projeter. C'est
j'ai,
pas
ouais, j'ai du mal.
Je suis pas maman.
J'ai
donc,
du mal à me dire, mais je pense que j'y serais pas allé.
Après, la question ne me semble
le risque,
pas.
Il y a l'espoir, mais le risque encouru paraissait tellement chelou que non, j'y serais pas allé.
La question ne me semble. La question ne me semble pas s'arrêter à auriez-vous tenté de le ressusciter, mais aussi englober tout ce qui se passe après. L'enterrement, etc.
Bah,
enfin,
clairement,
avant
on
va
acheter une pizza par la fenêtre moitié pleine.
Cache ça.
Il y a quand même des gens qui meurent de faim.
Mais tu l'auras envoyé.
Tout ne justifie pas ça.
C'est vrai.
Non, mais
pauvre pizza.
C'était même pas vegan en plus.
Ouais. En plus. Est-ce que tu jettes une margarita?
Voilà.
Alors là encore moins.
Tout le monde. Tout le
non,
monde
je pense
a
que
répondu.
C'est compliqué sur ce genre de questions
ouais,
de se projeter sur un truc que tu vis pas et que t'as jamais vécu. C'est
la
non,
mort d'un enfant.
La mort d'un enfant.
Pour reprendre, moi je pense comme Louis, je n'aurais pas voulu le faire, mais j'aurais été poussée à le faire.
Ouais. Oui, après, effectivement, il y a ce côté malédiction.
Ouais.
Oui, puis
je pense que je voulais pas vraiment le faire.
Je sais, ouais.
Vas-y, Emmerich.
Question de monsieur X sous de son prénom qu'il nous la pose régulièrement
chaque épisode,
tout le temps
chaque épisode
et en direct aussi quand on le rencontre dans la rue.
C'est C'est quand l'épisode sur les yeux du dragon?
Pas pour le moment.
Le rendez-vous.
Moi, j'ai envie de lui répondre, il a déjà eu une occasion de faire jouer ses relations et il en a pas eu assez.
Et deux, même non, d'occasion, je crois qu'on l'a proposé.
Je crois deux fois.
Fois,
il était dans deux sondages. Ouais.
Donc ça sera
allez,
quand
ne t'inquiète next. Pas, Suzy, quand ça sera dans je vais militer pour le remettre dans un prochain sondage.
Quand ça sera dans un sondage, si les gens votent pour, on le lira. Question suivante.
Question de Dinouche sur Twitter. Moi, je me suis toujours demandé quel était l'avenir de la petite Ellie. À votre avis?
Ça, c'est la meilleure question. Hein.
Très bonne question.
Hôpital,
très bonne
question, Dinouche.
Pas très glorieux, je pense.
Moi, je me suis posé la même question, effectivement, à la fin.
Bah moi je me suis dit que comme elle avait clairement le Shining, je me suis dit que ce serait intéressant de faire aussi une suite façon Doctor Sleep. Vous savez, il y a eu une suite de Shining sur Danny Torrance, où tu vois justement comment Danny...
Tu vas nous spoiler en... Doctor Sleep aussi ou pas?
Pose ce couteau, pomme.
Mais du coup je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment elle vit avec son pouvoir, s'il... grandit quand elle grandit, puis bon bah elle va être clairement orpheline, donc c'est comment elle va vivre avec ses propres démons, si elle va avoir des chats maléfiques partout. Ça alors, peut être intéressant peut-être... de faire un livre dessus.
Vu sa relation à la mort, peut-être qu'elle saura accepter l'état de sa mère. Elle avait l'air de...
Mais qui te dit que sa mère sera encore en vie? On ne sait pas.
Ah mais moi, pour moi, elle sort plus de l'hôpital. Hein.
Non, moi, pour moi, c'est pareil. Je vois bien un truc en psychiatrie.
Ah ouais?
Voilà,
parce que elle, pas forcément parce qu'elle est folle, mais parce qu'elle passe pour folle. Elle voit des morts, on lui parle. Ouais. Et toi, c'est un peu sixième sens.
On va dire, oui, mais surtout qu'elle va vivre chez ses...
Ah bah voilà, t'as spoilé sixième sens.
J'ai dit que le gamin voyait des morts, c'est bah... dès le début, on le sait.
Ah non, on le sait pas.
Non, mais c'est surtout ses visions et ses cauchemars vont continuer. Donc là, elle est quand même à l'hôpital parce qu'elle a piqué une crise. Donc ça va continuer ses crises et c'est la
oui,
merde,
mais peut-être
quoi.
Que ces crises, elles vont se calmer quand elle va grandir, qu'elle va apprendre à contrôler son pouvoir et la...
Ben on verra quand la fanfic sera écrite.
Ouais, puis après, il ira voir le professeur Xavier, et puis voilà, c'est très bien.
Et on va écrire une lettre de fan à Stephen King. Bon, Stephen.
Je crois qu'Emily a son adresse perso.
Bah voilà.
Non, laissez-moi en dehors de ça. Je vais pas griller mes relations. Je ne dis rien depuis tout à l'heure.
Allez, question suivante.
Question suivante. J'ai pas de nom, donc la question est: achèteriez-vous une maison au bord d'une nationale?
Alors, s'il y a un cimetière, oui.
On peut pas faire mieux que cette réponse.
Je propose qu'on s'arrête sur cette réponse.
Ça paraît bien.
Merci Aymeric pour ces questions. Allez, on passe à la chronique suivante. Et c'est Grand Poil qui va nous parler de la place du livre dans la bibliographie de l'univers de King.
Alors, ce livre, on va le voir par la suite, c'est un parallèle quasi direct entre la vie de King et les événements du roman. Début 79, Stephen King travaille comme écrivain / professeur à l'université du Maine. Ah, alors, c'est le nom de la ville, c'est Orono. Pour lui, c'est une façon de les remercier de l'éducation qu'ils lui ont procurée. Et il vit justement dans une maison louée dans une ville voisine. La maison, comme dans le roman, est située au bord d'une importante route, empruntée par des camions. Route qui coûte souvent la vie à pas mal de chiens et de chats des familles du coin. Dans les bois derrière sa maison, des enfants du coin ont aussi créé un semblant de cimetière pour les animaux. Un jour, le chat de sa fille, Smokey, est tué par un camion. Et Stephen a la lourde tâche d'enterrer le chat dans le cimetière, puis d'expliquer à sa fille ce qui s'est passé. Le troisième jour après l'enterrement, l'idée d'un roman lui passe par la tête. Que se passerait-il si une famille perdait le chat de leur fille face à un camion, et si le père, plutôt que de le dire à sa fille, devait enterrer le chat dans un cimetière? Et ensuite, que se passerait-il si le chat revenait le lendemain, vivant mais fondamentalement différent? La suite logique étant, que se passerait-il si un enfant venait à mourir et à être enterré dans le même cimetière? Les King ont failli vivre la même tragédie que la famille Creed avec leur fils Owen, qui court vers cette même route, et il, lui par contre, est rattrapé in extremis avant le passage d'un camion.
Ouais, c'est typique chez King de reprendre des éléments, enfin il passe devant un truc, il se dit « Ah tiens, et si ça se déroulait comme ça ?» et pouf, il en fait un livre.
J'aimerais tellement pouvoir être capable de faire ça.
Mais là pour le coup, c'est vraiment, par rapport aux autres romans qu'on a pu lire, où il y avait des petits morceaux droite à gauche, là c'est vraiment ultra proche, tu sens que c'est très très personnel comme bouquin.
Et puis ça, en
je pense
plus,
c'est pour
je
ça
pense
que,
projeté,
que le passage, voilà, que le passage où il voit les plusieurs fins possibles avec
avec le fils, une fois il le rattrape pas, une fois il le rattrape. Ça, il est vraiment fort dans le livre, donc ouais. C'est pas étonnant.
Donc, après avoir écrit le premier jet du roman, King le juge trop sinistre et il ne veut pas le faire publier. Mais comme il doit encore un livre pour son contrat à son ancien éditeur qui s'appelait Doubleday, il finit donc par leur proposer ce manuscrit. Et je crois que c'est aussi sous l'impulsion de sa femme et le livre finit par sortir.
Il l'a gardé 3 ans, hein, quand même. Pendant 3 ans, il a refusé de le publier.
Effectivement.
C'est long.
King est le premier surpris du succès et il considère ce roman, je traduis de l'anglais, c'est comme une longue descente en spirale, terme important, dans les ténèbres. Le roman a l'air de dire que rien ne fonctionne et rien ne vaut la peine de se battre. C'est quelque chose en quoi je ne crois pas vraiment. C'est un livre un peu étrange pour King. Il n'y a pas vraiment de méchant clairement identifié, sauf si on considère le cimetière comme un personnage, le tas de bois comme un personnage à part entière.
Ou ses propres démons, ce sont des gens qui sont tués par leurs propres démons et leurs propres peurs de la mort.
Oui, il n'y a pas un méchant.
Il n'y a pas un méchant voilà, qui te permet de dire
mais
lui,
finalement,
j'aime pas.
L'homme est son plus grand ennemi.
L'homme est un loup pour l'homme.
Voilà.
Bah. De tout temps.
De tout temps, l'homme.
Comme je disais, il n'y a pas vraiment de méchant. Et Louis Creed, c'est pas un homme mauvais, c'est quelqu'un qui fait souvent des mauvais choix et qui pourrait être la parfaite illustration de l'expression que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il subit tout le long du roman une impressionnante descente aux enfers. Et là, j'ai noté que c'était quand même un bon rapport avec la spirale qu'on retrouve régulièrement mentionnée dans le bouquin. Et il ne cherche qu'à préserver le peu de bonheur qu'il a. En se voilant la face, on se rend compte qu'il n'a jamais approfondi le traumatisme de sa mort, de sa femme envers la mort. C'est quelque chose qu'on sait depuis le départ qu'il est au courant, mais on ne sait pas pourquoi. En se voilant encore une fois la face, il cache la mort de Church à sa fille. Et finalement, encore une fois, en voulant retrouver son fils par un moyen qu'il sait intolérable et inhumain, il termine cette déchéance totale. Et il termine très très mal avec sa femme par la suite.
Pas bravo, quoi.
belle chronique.
Merci. Donc, on les a dit pendant le podcast, mais j'ai noté en tout cas 2 liens avec l'univers de King. Donc, Judd Crandall qui fait la mention de cadrage dans une ville voisine et un gros Saint-Bernard qui fait plusieurs victimes. Donc, là, une référence directe à Cujo. Et Rachel qui passe devant Jérusalem's Lot qui est sur l'autoroute et elle indique qu'elle a une sombre prémonition en lisant ce mot. Et c'est donc le lieu où se déroulent les événements du livre Salem et pour le coup, pas de spoiler.
Et j'ai 2 autres connexions, si je peux me permettre de compléter. En fait, Gage Creed, la première fois où il est enterré au cimetière de Mount Hope, qui est le même cimetière que Georgie dans ça.
Ah oui?
Ah ouais?
Ouais,
ah.
C'est le même cimetière. Et on a aussi.
Est-ce qu'ils flottent tous en bas?
Bah, Gage, ouais, à mon avis, il a un peu flotté. Peut-être un peu trop.
Il flotte plus du tout.
Bah, il y avait de la flotte hein, dans
stop,
la tombe.
Stop.
Ah bah voilà.
Ah, c'est ça. Et un des camions qui passe sur la nationale entre chez Judd et la famille Creed, c'est le Speeding Orinco. Et c'est un camion qui passe aussi dans la part des ténèbres devant la maison de Tad Beaumont à un moment donné où il est assis sur son porche en train de regarder les voitures passer. Voilà.
Merci pour ces précisions.
Là, effectivement, c'est une pro. Je les ai trouvés nulle part.
C'est un métier.
Oui.
C'est tout pour moi.
Voilà.
Quelqu'un
mais t'as même pas parlé du lien entre Lou Creed et Apollo Creed.
Non. Il n'apparaît pas dans ce jeu.
Après Zelda.
Et personne n'a parlé de Shining.
Si, quelqu'un en a beaucoup parlé.
Elle a pu voir revenir,
est-ce
tu sais.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, très bien, on passe à la suite.
Ouais, ou la dictature dans ce podcast.
Tu veux rajouter quelque chose, Victoire?
J'ai parlé de Shining.
À la base, ça devait s'appeler Shine Cimetière.
Non, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter alors?
Non, c'est bon.
Non, vu qu'on en est sur le titre, moi je trouve ça très dommage dans les traductions qu'on respecte pas le choix de l'auteur parce qu'on passe de cimetière des animaux
à
juste cimetière et c'est, on perd quelque chose dans ce qu'a voulu dire l'auteur quand il a choisi son titre. C'est tout.
Oui.
C'est vrai que moi du coup, moi j'avais pas du tout, comme j'avais pas lu le résumé de la 4e de couverture, j'avais pas compris à la base. J'entends le bouchon qui se dévisse, ça me perturbe.
J'ai essayé d'être discret.
Emric.
Ça l'aidait pas trop. Mais du coup, ouais, j'avais pas compris que ça faisait référence justement à un cimetière d'animaux et voilà, c'est vrai que c'était pas très explicite.
C'est pas facile, Victoire.
Je propose de passer à la suite.
Ouais, passons à la suite.
Et la suite, donc les adaptations du livre par Victoire.
Oui, c'est là que j'interviens.
Oh bah. C'est seulement là que tu interviens, on s'en était pas bien rendu compte.
C'est ta partie, lâche-toi. Mais rapide quand même.
Dites-le si je vous saoule.
Allez, allez, on y va, on y va.
Alors, je tiens à dire que j'avais pas trop envie de regarder ce film à la base. C'est Pomme qui m'a forcé. Parce que j'avais déjà eu peur en lisant le livre, donc le film, voilà. Donc alors, le film, il est sorti le 17 janvier 1990 en France. Il a été réalisé par Marie Lambert, donc une femme réalisatrice dans les années 80-90, c'est très rare. Et en fait, c'est son deuxième film et elle avait d'abord réalisé des clips de Madonna, donc Material Girl, Borderline, Like a Virgin, Like a Prayer, enfin bref, des grands clips de Madonna. Et c'est comme ça qu'en fait, elle a été repérée par Stephen King. Et Stephen King, il a vraiment mis sa main à la pâte dans ce film puisqu'il est le scénariste. Et c'est la première fois qu'il est scénariste sur un de ses films. Donc du coup, il y a eu un peu moins de bordel que sur Shining. Enfin, je suis désolée, j'arrête.
Je donne 1 euro à Emily pour son Uber à chaque fois que tu dis Shining.
Ok, pardon, excusez-moi.
Jonathan, est-ce que c'est rétroactif?
Du coup, 15 euros. Cimetière, c'est le film qui apporte à Marie Lambert une grosse notoriété comme réalisatrice parce que c'est un film qui a eu quand même de succès. Pourtant, les acteurs ne sont pas très connus. La plupart ont d'abord eu des. Ont ensuite eu des carrières à la télé avec des apparitions dans certaines séries, notamment toutes les séries type Les Experts, toutes les séries comme ça avec de la police scientifique à la télé, voilà, ils sont tous dedans globalement. Donc, voire pas de carrière du tout pour certains. Donc, Louis Creed, c'est Dale Minkiff. Il avait d'abord joué le rôle d'Elvis Presley dans un film appelé okay. Elvis et moi, sorti en 88.
King.
Voilà, le King.
Oh. Oh. Il a un peu le charisme du mitre quand même dans ce film.
Il a pas beaucoup de charisme, on est d'accord. Et puis en plus, son jeu d'acteur est très inégal. Mais bon, ça, c'est pas un film qui est reconnu pour sa prestation.
Et puis, est-ce qu'il ressemble au Louis que vous étiez
non,
fait,
non,
en fait
non,
ouais,
non, pas du tout. Parce que j'avais noté la taille de Louis Creed. Normalement, il devait faire 1m88. Dans le livre, il fait 1m88 et là, il est.
Alors, moi, j'avais une toute petite anecdote sur Louis Creed. À l'origine, le rôle, il avait été proposé, je crois, à Bruce Campbell. Et je trouve que ça aurait franchement eu une autre gueule.
Ouais.
Certes, mais on ne peut pas réécrire l'histoire.
Non,
donc,
c'est triste.
Passons à la suite. Jude Crandall, il s'appelle...
Vas-y, Victor, vas-y.
Il est joué par Fred Gwynn, donc lui aussi, il a une petite carrière dans des films pas trop connus, je trouve. Et en plus, c'est l'un de ses derniers rôles, parce qu'il est mort quelques années plus tard, en 93. Rachel Creed, c'est Dennis Crosby. Voilà, j'ai même pas pris le temps de noter sa filmographie parce qu'elle est quasiment inexistante. Elle est assez semblable à celle de Dale Minkiff dans le sens où elle fait beaucoup de séries. Voilà. Le petit garçon qui fait Gage Creed, c'est Miko Hughes et c'est son premier rôle.
En même temps, il a quel âge?
Putain, il a vraiment.
Il a
mis du temps à démarrer.
Ans.
Hein.
Oui, donc.
Après, il n'a pas une grosse carrière non plus.
Une carrière qui démarre sur le tard.
Non, mais quand même, c'est un sacré rôle.
Et vous faisiez quoi à 2 ans, hein?
Alors, puisqu'on en parle.
Je mangeais de la terre.
En fait, désolé. J'ai commencé à manger de la terre. Parce que
je peux continuer ou.
Madame est vexée d'être coupée.
Alors, arrête-toi.
J'ai coupé une fois, quoi.
Sympa. Je note.
Vas-y, vas-y.
Ellie, l'actrice, c'est Blaise Berdal. Elle a une filmographie quasi inexistante. Et Victor Pasco. Il s'appelle Brad Greenquist. Et par elle, c'est son premier rôle. Et il a un rôle beaucoup plus important que dans le livre. Et Church, pour la petite info, il y a 7 chats qui ont fait son rôle. Et ce sont des British short hair gris aux yeux jaunes.
Ok.
Je trouvais ça important de noter ça.
Mais est-ce que tu trouves que le casting en général ressemble à ta projection?
Non, moi j'avais pas du tout imaginé les acteurs comme ça. Jude, je le trouve super creepy. Il a vraiment dans le film, l'acteur, il a vraiment des dents un peu dégueu. Il fait vraiment un peu le cutéreux. Enfin, franchement, moi je lui fais pas confiance à ce mec-là. Rachel, elle fait un peu pétasse.
Sa façon de parler, que ce soit en français, j'ai checké la VO aussi pour Judd. Il a une voix en VO qui est quand même vachement assez profonde à de basse, mais il a pas l'air du mec sympathique. Il fait moins bien le mec sympa que ce qu'on a pu imaginer dans le roman, quoi.
Que dans le livre.
Bah moi, le truc, c'est que sa gueule, elle fait peur, je trouve. Donc dès le départ, t'as pas la confiance, je trouve. Mais c'est vrai que...
Bah, il était spécialiste des films d'horreur, hein. Donc il a une bonne tête de film d'acteur voilà. De film d'horreur, mais ouais. Pas trop de vieux gentils pépés, quoi.
C'est vrai.
Voilà. Le film en France a quand même fait 377 000 entrées.
C'est pas mal.
Donc c'est quand même pas mal. Enfin, c'est...
Surtout avec l'inflation.
Le nombre d'entrées subit l'inflation aussi.
Et maintenant, fais pas l'inflation, s'il te plaît.
Donc on va faire un petit point économie. Donc du coup, Stephen King, comme il était le scénariste et que voilà, c'était son livre, il a exigé que tout soit respecté à la lettre parce qu'il est vraiment très fier de son livre et il veut vraiment que ça se passe comme il l'a décidé. Et du coup, le lieu de tournage du film a lieu dans le Maine. Et en fait, c'est la première fois qu'un de ses films est tourné dans le Maine. D'habitude, c'est pas respecté. Donc, c'est très important pour lui parce que, d'après ce que j'ai compris de son œuvre, tout se passe à peu près dans cette région. Donc,
oui.
C'est cool quand même que ce soit respecté pour une fois. Le scénario du film est rigoureusement identique à celui du livre. Il y a beaucoup de passages éludés. Forcément, le film ne fait qu'1h40 par rapport à un livre de 600 pages. Donc, il y a énormément de choses qui passent à la trappe. Et il y a des personnages du coup qui ont été modifiés ou supprimés, comme Norma, la femme de la vieille, comme dit Pomme. Donc elle n'existe pas. Et Steve, le collègue, ne sont pas mentionnés. Voilà, il y a la nounou d'Ellie et Gage qui a un petit rôle et qui se suicide. On ne sait même pas pourquoi. Bon, c'est un peu cadeau. Et il y a un caméo de Stephen King qui fait justement le prêtre pendant son enterrement. Ça aussi, c'est cadeau. Voilà,
il joue le rôle très fun. Il adore, ouais. Quand vous regardez les adaptations de King, cherchez en général, il aime bien être là, même dans les séries, il y a toujours un épisode où il apparaît. C'est son petit kiff, un peu à la Stan Lee.
Excellent, moi j'adore, je l'ai vu direct.
C'est plutôt cool.
C'est son kiff de faire des caméos ou son kiff d'être un prêtre?
Non, de faire. Alors, dans sa vie privée, je ne sais pas ce qu'il fait avec sa femme, mais je sais qu'il aime faire des caméos.
D'accord.
Voilà.
Sinon, je me suis aussi noté que dans le livre, il y a énormément de préparation de paiement parce que il y a beaucoup, beaucoup de plans sur la route avec des camions qui passent et vraiment des camions qui font énormément de bruit et qui passent très vite. Donc en fait, vraiment, c'est minute 2 du film, ça arrive. Donc ils annoncent quand même pas mal ça. Et d'ailleurs, Gage, au lieu de se faire piquer par une abeille. Oh, pardon.
Je disais, non, je me demandais juste, ça insiste plus que le bouquin. Le bouquin, on a juste une ou deux fois
des
camions qui passent avant l'accident.
C'est presque lourdingue. Et d'ailleurs, Gage, au lieu de se faire piquer par une abeille, il manque de se faire écraser avant d'être sauvé in extremis par
Jude. Vrai. C'est vrai.
Mm-hmm. Et du coup, c'est un changement par rapport au livre parce que c'est beaucoup plus.
Mais c'est le seul bon changement du film par rapport au livre.
Mais là, c'est du raccourci, c'est je pense. Pas un peu, je trouve un peu nécessaire pour pas alourdir avec des détails qui sont pas utiles.
Ouais, c'est ça. C'est juste que du coup. C'est juste que du coup, le film manque un petit peu de subtilité par rapport au livre, parce qu'en plus, dans le film, le vieux répond souvent « Sometimes dead is better », donc des fois, c'est mieux d'être mort. Et il le répète vraiment très souvent, donc du coup, là, la morale du film est vraiment un peu lourdingue par rapport au livre.
Pour le coup, je trouve qu'ils doivent le répéter à peu près aussi souvent que Louis pense que le cœur des hommes est plus sec que celui des femmes.
Oui, mais attends, tu peux pas comparer un livre de 600 pages à un film d'1h40 sur 1h40, ça te fait vraiment beaucoup, tu vois. Ensuite, une des différences majeures pour moi, c'est celle, donc, comme je le disais, du personnage de Victor Pasco. Donc, sa mort a bien... Non, je ne dirais pas ça. Je l'ai regardé en VO, moi, parce que je me respecte.
Mais c'est
et bim.
Une chance, on n'a jamais eu autant de jugement dans cette
désolée.
Je suis désolée.
Désolée, je t'en prie.
Donc, sa mort violente est très montrée. Il y a d'abord des jolis plans sur son crâne ouvert avec son cerveau qui dégouline. C'est génial. Et par contre, les dernières paroles qu'il adresse à Louis ne sont pas les mêmes que dans le livre. Donc, autant dans le livre, il lui dit « Le cimetière n'est pas le vrai cimetière, comme vous vous en souvenez. » Et là, il lui dit clairement « On va se revoir, toi et moi. » Globalement, il lui dit ça. Donc, ok, tu sais qu'il va revenir sous forme de cadavre, de mort-vivant, de zombie, de fantôme, tu ne sais pas. Mais du coup, ça te spoil un petit peu son retour, alors que dans le livre, c'était une surprise. Bon. Et enfin, quand il revient du coup sous forme de fantôme et qu'il emmène Louis au cimetière des animaux, là, il lui dit carrément « Ne traverse pas le tas de bois, ne va pas à l'endroit où les morts peuvent marcher. » Donc là, du coup, il lui spoil carrément direct « Ah oui, si tu vas derrière le tas de bois, les morts peuvent être vivants. » Donc du coup, pareil, c'est un gros spoiler par rapport au livre. Et moi, ça m'a dérangé parce que justement, je savais pas ce qu'il y avait derrière le tas de bois dans le livre. Et là, ils te disent carrément…
T'as vu le film avant le livre ?
Non, je l'ai vu après.
Ok.
Je l'ai vu samedi, le film. C'est vraiment très récent.
Oh, t'inquiète, j'ai vu il y a 3 heures.
Oui, j'ai pu comprendre.
Ça fait 2 heures et demie qu'on enregistre.
En VF.
Non, mais sans commentaire. Et donc là aussi, normalement, dans le livre, on ne voit Victor Pasco qu'une fois sous forme de fantôme. Mais là, par contre, il est là tout le temps.
Ouais,
je veux dire, il suit tout le monde.
C'est le guide.
Oh, ça m'a pas choqué. Ses interventions auprès de Rachel, il rationalise. Rationaliser, c'est pas le bon terme. Mais ils expliquent un peu plus ses intuitions, le fait qu'elle a l'air d'être guidée un peu pour retourner voir Louis.
Bah, ça explique, mais. Moi, en fait, le truc, ce que j'ai trouvé qui manquait de logique, c'est que comme il est turbo creepy parce qu'il est à moitié décomposé, tu sais pas en fait s'il veut les aider ou si c'est un esprit maléfique. Enfin, c'est pas très clair, je trouve, son personnage. Et en plus, tu sais pas ce qu'il fout là. Dans le livre, autant t'as l'explication.
À la fin, il le dit, je crois, qu'il essaye de les aider.
Ouais,
quand
mais
même.
Tu sais pas pourquoi. Enfin, tu vois, il y a pas de, c'est pas très clair.
Voilà, j'aime pas ce film, hein. Mais je trouve que le fait d'avoir Victor Pascal qui aide la famille Creed à ne pas commettre l'irréparable qui est d'enterrer le chat ou le fils, ça fait plus confrontation entre le bien et le mal, alors que dans le livre, bah c'est juste le mal qui attire c'est moins évident, c'est juste le mal qui attire les personnages à faire de la merde.
C'est vrai.
Ça, dans le livre, il intervient au début et puis à la fin dans la vision que Ellie raconte à sa mère, mais c'est tout quoi. C'est il y a pas vraiment de lutte au final, lutte elle est plutôt intérieure.
Dans le film, tu le vois vraiment
personne.
Genre qui retient les portes pour qu'elle prenne les avions et tout.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ouais, bah du coup, ouais, c'est en fait, j'ai juste trouvé ça moins subtil en fait, globalement, ça paraît. Ouais. Et enfin, mon dernier point, j'ai presque fini.
J'ai rien dit.
Juste la chronologie est super différente dans le livre de celle du dans le film de celle du livre, parce que en gros, le dernier tiers du livre fait la moitié du film.
Oui, c'est exactement.
C'est-à-dire que Church, il se fait écraser minute 25, j'ai noté, j'ai fait pause, j'ai vu 25e minute.
La télé.
Non, c'est quand tu reviens que j'ai la télé.
Donc voilà. Donc c'est ça. Donc sur 1h40 de film, minute 25, Church est mort et minute 50, Gage meurt aussi. Ouais. Donc voilà, donc en fait, du coup, moi, là, c'est là. Par contre, j'ai fait une pause, du coup, à 50 minutes, parce que je me suis dit, c'est pas vrai, il reste 50 minutes de film, ça va être 50 minutes de la partie qui m'a fait le plus flipper. Donc ouais. C'est vraiment la dernière partie la plus horrifique, mais ça a du sens, parce que c'est un film d'horreur. Et je pense qu'il a voulu justement appuyer sur toute la partie la plus horrible. Horrible, mais par contre, je trouve que du coup, ça perd en explication, et il y a beaucoup de non-dits. Genre, en fait, le côté presque vivant, personnifié du cimetière avec sa force maléfique, ça, c'est pas très clair, c'est pas expliqué. Et là, Gage, quand il revient à la vie, en quelque sorte, c'est juste un bébé zombie. Mais il ne parle pas, enfin, il ne dit pas les saloperies en mode...
Non, il parle comme un bébé bourré.
Ouais, il parle comme un bébé bourré.
Comme un mec bourré, quoi.
Il dit pas « ta femme aimait ça prendre dans le cul », quoi.
Non.
Et du coup, il est pas.
J'ai un cadeau, ma mauvaise. Comme un mec bourré.
Voilà, du coup, il est pas du tout l'incarnation de l'esprit du cimetière comme dans le livre. Et la fin, enfin, du film est beaucoup plus explicite par rapport au livre. Parce que là, en fait, quand Rachel rentre, elle poignarde Louis Pépou.
Attends, mais déjà, ils se font la meilleure galoche de l'histoire du film.
Oui, elle
est horrible. Ouais. Avec son œil, tu dégoûtais.
Avec son œil,
avec
du pu.
Ah, ça, c'était chaud. C'était,
mais du pu d'œil.
Mais en fait, j'ai trouvé ça cohérent aussi parce qu'en fait, Marie Lambert, dans ce film, elle a voulu rendre hommage à George Romero, qui est spécialiste de films de zombies. Et du coup, Cimetière, le film fait beaucoup de références,
du coup,
en fait,
elle a mis
film,
des zombies.
La nuit des morts vivants. Donc du coup, tout le côté, donc Gage qui est un bébé zombie, Rachel qui est dégueu, etc., qui est maléfique, ça, enfin, j'ai trouvé ça, et le côté film d'horreur, c'est vraiment très cohérent par rapport à l'hommage qu'elle a voulu rendre à George Romero.
Alors c'est pas les effets spéciaux, c'est le maquillage, ouais, fait très Romero, pour le
coup.
Oui,
c'est ça. C'est très d'accord. Avec l'œil noir, la terre.
Par contre, moi j'ai trouvé que c'était filmé avec le cul. Hein.
Bah, moi je croyais que c'était un téléfilm à la base, je pensais même pas que c'était sorti au cinéma.
Franchement, il y a des plans... C'est très bizarre, il y a la lumière, c'est très bizarre, c'est...
Je pense que c'est un film à petit budget. Hein.
Autant tout le monde me dit « Ah, oh, c'est génial, personne n'aura jamais fait mieux », mais ça a mal vieilli. Et surtout quand tu viens en fait, de relire le bouquin juste avant, c'est là où les parallèles sont vraiment difficiles à justifier.
Bah, en fait, le point adaptation, c'est que c'est une bonne adaptation, mais ce n'est pas un bon film, on va dire. C'est une adaptation fidèle au livre, on ne peut pas lui enlever ça, mais le film n'en est pas très bon pour autant.
Alors, c'est le livre jusqu'à la fin.
Ouais, ah, mais
moi, j'ai pas aimé qu'elle prenne le couteau en mode je vais le tuer, quoi. Parce que bon, là, il y a aucun équivoque, même si on ne voit pas.
La fin, on passe en mode bien gore, et j'ai trouvé ça bien.
Ah si, il y a un autre truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est vous allez dire mais c'est pas du tout drôle. C'est
en fait donc j'étais là, j'étais en train de prendre mon petit déj et il a éclaté de rire.
C'est quand il rentre et donc qu'il cherche Rachel et Gage et que en fait elle est il marche et donc elle tombe pendue.
Ah, j'ai pas compris, c'est le bébé qui l'a pendu, je me suis dit quand
bah
même.
Oui, l'impression qu'il l'a poussé.
Ah oui.
Et qu'il lui saute dessus genre.
Et là ça fait très choqué pour là, le coup.
Ouais. Oui oui.
C'était entièrement un plan à la Chucky.
Mais,
quoi.
Toute la bagarre avec le gamin a été un peu choqué. Hein. C'est vrai qu'ils ont là sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont un peu. Autant il y a des moments où le gamin, je trouve qu'il joue pas trop mal, il rend bien le côté un peu creepy. T'as vraiment l'impression que c'est un gosse normal avec un couteau et ça fait un peu peur. Autant quand il commence à latter Louis et compagnie, ou quand il pousse sa mère, enfin c'est trop quoi, c'est too much.
Ouais. Mais la Paramount va avoir l'occasion de se rattraper en termes d'adaptation.
On l'espère. Oui.
Vous parlez pas du 2.
Bah, non.
Moi
je me le suis
maté le 2.
C'est nécessaire de parler du 2.
Vas-y, t'as 30 secondes, grand.
Moi je vous en dirai pas plus.
Vas-y, allez vite, rapide.
Tiers 2, vas-y.
Et ça parle de quoi, le 2? Allez, vite.
Non, le 2, c'est, pour résumer, alors, c'est un gamin de la ville qui est joué par Edouard Furlong, le gamin dans Terminator 2, pour situer.
Donc, plus simple.
Alors, il joue comme le gamin dans Terminator 2. Il a vraiment une gueule de petit con tout le long, il est un peu insupportable. Les parents sont séparés et sa mère est une actrice qui décède sur le tournage de son dernier film, un film d'horreur d'ailleurs, un film de zombies. Et il doit donc aller vivre son père, il se retrouve dans la petite ville paumée de Ludlow. Il se fait emmerder à l'école, il devient pote avec le petit gros du coin, et le beau-père est aussi le shérif violent de la ville. Et c'est à partir de là que ça part en sucette, le beau-père tue le chien de son meilleur ami, ils vont l'enterrer au cimetière, et à partir de là, c'est de l'horreur et du jumpscare à gogo. Le chien tue le beau-père, alors je sais plus comment il se fait enterrer aussi au cimetière pour pas se faire emmerder, il revient, il massacre les bullies, enfin...
Non, putain.
C'est graphique. Sur la fin, c'est encore plus graphique que du coup cimetière 1. Et franchement, enfin, tout le monde m'avait dit c'est vraiment de la merde, c'est dégueulasse, c'est nul. Et c'est quand même par rapport à même au premier, c'est pas si mal filmé que ça. Il y a quand même des bonnes idées, je trouve, dans ce film là. C'est pas tout n'est pas acheté. Ah oui, et le père du gamin qui est joué par Edouard Furlong, c'est comment il s'appelle? Anthony Edwards, celui qui joue le docteur Green dans Urgence. Ou Goose dans Top Gun.
Ah oui, putain, oui.
Voilà, c'était le petit détail.
Merci, Grand Poil.
Donc ne regardez pas Cimetière 2, il ne sert à rien.
Allez plutôt au cinéma en 2019.
Oui,
parce le 2 mai.
Oui, non, le 1er mai.
Le 1er mai.
Parce que ça faisait longtemps qu'on entendait parler de projets de nouveaux films sur Cimetière, et la Paramount a eu beaucoup de projets de script. Ça a pris beaucoup de temps, comme souvent chez les adaptations de King. Et ça y est, on y est enfin. On a les producteurs, ce sont Lorenzo Di Bonaventura, Mark Varadian et Steven Schneider. Au scénario, on a Jeff Buller. Et on a deux réalisateurs, Kevin Kolsch et Dennis Windmeyer, qui se déclarent fans de King et de Cimetière. Et ça, ils font que de le revendiquer en interview. Et à mon avis, c'est surtout pour rassurer les fans de King, parce qu'on est plutôt difficile en termes d'adaptation, surtout pour Cimetière, qui est vraiment un des livres préférés des fans. Et je pense qu'ils se lèvent.
Des vrais fans.
Des vrais fans, c'est vrai, oui. On est au moins deux. Et je pense qu'ils se les jouent un peu. Nous, on est fans, donc nous, on va faire ce que vous voulez vraiment qu'on fasse et on va respecter l'œuvre pour une fois. Et je pense qu'ils vendent un peu le truc comme ça.
C'est dommage que ce soit pas de nouveau une femme à la réal.
Oui, moi je me dis tant que c'est des bons réalisateurs, on verra quoi.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous avez regardé le trailer?
Oui, oui.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'irai pas le voir parce que je vais me pareil.
Mais j'ai bien aimé le trailer, les couleurs, les choix graphiques.
J'ai trouvé ça bien, je trouve ça un peu chelou, le côté des gamins avec un masque, je sais pas trop.
Exactement, j'allais dire, on en fait quoi des enfants?
Alors moi j'ai pas trouvé ça chelou, je me dis, en fait ils vont vraiment chercher à jouer sur le côté rite qu'on a beaucoup dans le livre, parce qu'il y a une certaine façon d'enterrer, il y a un peu un rituel qu'on retrouve pas du tout dans le premier film. Et ils l'ont beaucoup dit en interview, c'est pas un remake qu'ils veulent faire, le matériau de base c'est le livre, ils veulent vraiment reprendre
une autre adaptation
même.
Quoi.
Oui, une autre adaptation, ils vont pas du tout tenir compte du premier film.
Et ce chat est trop beau.
Oui,
j'avoue,
et du coup,
le chat,
moi ce que je me demandais, Est-ce que, parce que du coup, vu que je l'ai pas relu, je sais pas, est-ce que le chat est décrit dans le livre?
Pas sa race, je crois pas. Hein.
Parce non, que c'est juste un chat.
Moi, j'ai eu beaucoup de ouin-ouin. Le chat, il est pas comme dans le premier film. Et en fait, il est. Moi, je trouve que c'est super bien fait.
Je trouve mignon.
Parce que oui, il est fidèle à la couverture de la première édition de Cimetière en anglais.
Ah, bah, voilà.
Du coup, il est a priori plus fidèle à l'image qu'on devrait s'en faire que un chat gris. Je sais plus quelle race t'as cité.
Non, mais en plus, enfin, vraiment,
après,
on s'en fiche de
les
la
couvertures
race
de
chat,
bouquins. Les couvertures de bouquins, c'est souvent réalisé à l'arrache. En temps, le dessinateur, il sait pas trop ce qu'il dessine.
On parle quand même dans quelle direction il respire dans l'oreiller. Hein.
C'est vrai que c'est pointu.
Non, mais le chat, c'est fait exprès qu'il soit pas décrit dans le bouquin et c'est fait pour qu'on identifie le chat au nôtre. Enfin, si on
ouais.
a eu un
ouais.
chat quand on était
enfant. Ah, mais les oui, c'est tellement
d'ailleurs,
bien
dans
vu.
Le, dans la tête d'Emily, il ressemble à une tortue.
Mais laissons les rageurs rager.
Haters gonna hate.
Il y en aura toujours. Pour moi, c'est Turtle, c'est pas Church. Voilà. Du coup, oui, donc ils vont vraiment se concentrer sur le fait que la mort c'est tabou, jusqu'à quel point on veut aller, on peut aller et on veut aller quand on perd quelqu'un. Et en même temps, ils ont raison, je pense, parce que c'est un peu ce qui fonctionne en ce moment, le côté la mort. Enfin, déjà, les films d'horreur, ça fonctionne hyper bien. Et le trailer, c'est un peu à la ça. Clairement, ils reprennent les codes de ce qui fonctionne.
Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça parce qu'ils ont trouvé que ça n'allait pas assez loin dans l'horreur.
Oui, bah alors attendez de voir arriver le chapitre 2. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'on va se faire un peu tous dessus sur le chapitre 2. Mais le cimetière
vous, hein.
va être classifié R, c'est-à-dire que aux États-Unis, c'est la classification qui fait que un jeune de 17 ans et moins a pas le droit d'aller voir le film s'il est pas accompagné d'un adulte.
Ouais.
Donc c'est après, bon, l'Amérique est un peu puritaine, ouais. C'est pas comme nous en France, mais ça sera au moins moins de 16 ans en France.
Ah mais ça c'est 16. Parce qu'ils ont adapté le gant de crin.
Ah c'est sûr.
Ouais.
C'est évident.
Non mais c'est clair en France ce sera 12, laisse tomber.
Classé R aux États-Unis, c'est un énorme signe.
En France ce sera un avertissement, c'est bon les jeunes.
Non mais oui, mais comme dit Grand-Paul, c'est aussi un pari parce que ça veut dire qu'ils se mettent déjà de côté toute une population qui va se dire soit je vais avoir trop peur ou soit ça va être trop trash. Donc en fait, ils croient tellement.
Du coup, ça peut
faire
monter la hype aussi, quoi. Tu vois, comme Scream à l'époque, qui était interdit au moins de 16. Et
en fait, là,
le
truc,
c'est le voir parce que c'est interdit au moins de 16.
Exactement. On est en pleine vague de films d'horreur. Tous les ados, moi, je l'ai vu quand je suis allée voir ça plusieurs fois au cinéma. Tous les ados ont vu Annabelle, ont vu tous les Conjuring. Ils ont tout vu, ils ont tout regardé. Ils adorent ça. On est en pleine mode. Je dis pas ça juste parce que c'est Halloween. Et du coup, enfin, clairement, là, toutes les adaptations de King, ils sortent sur cette mode-là. Et ils sont persuadés que ça va marcher. Et franchement, les images ont de la gueule, le casting a de la gueule, ils ont l'air de vouloir respecter l'œuvre, donc moi je me dis pourquoi pas.
Et ça sera
oui, et puis Deadpool
de...
a prouvé qu'un film R
un seul.
Être rentable.
Il y a eu des rumeurs comme quoi il y en aurait deux parce que la communication française a été un peu maladroite. Dans le communiqué de presse, il y avait marqué chapitre 1, donc il y a des blogs qui sont amusés à dire ouais. Est-ce qu'il y aura un chapitre 2, machin, etc. En fait, non, c'était juste Paramount qui, pour dire c'est la première phase de notre plan de com, on appelle le communiqué chapitre 1. C'était
d'accord.
Sans compter
en
sur
même
la
temps, Paramount, ça doit être super important pour eux parce que là, à part Mission Impossible, ils n'ont plus aucune franchise lucrative, donc je pense qu'ils vont essayer de miser justement sur les kings comme cimetière pour essayer justement
c'est le
de redonner.
Ah bah clairement, King, non.
Ah, ok.
Non, parce que non, ça, c'est Warner.
Ça, c'est Warner.
Doctor Sleep, je sais plus qui. Je crois que c'est Warner aussi qui est en train de préparer Doctor Sleep.
Ouais, je crois. Mais apparemment, ils ont vraiment plus grand chose en termes de droits d'œuvres intéressantes, vraiment. Enfin, là, le seul truc qui leur apporte de l'argent, vraiment, c'est Mission Impossible, en fait.
Ok.
Et du coup, je pense que. Ouais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un cycle avec le fait de renouveler les droits. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils lancent Cimetière, là. C'est pour essayer justement de récupérer, de garder ces franchises lucratives. Donc on verra si ça fonctionne. Moi je suis assez confiante. Hein. Je veux dire, ça a fait 2 millions d'entrées en France. Donc pourquoi pas.
Et on a déjà des petits secrets de tournage. Pour celui-là, il y a eu 5 chats, non pas 7 comme le premier. Mais surtout, il y a eu...
Ils étaient meilleurs acteurs.
Sûrement. Et surtout, il y a 2 jumeaux qui jouent Gage et pas un seul acteur.
Okay.
Et on a enfin une fille de 12 ans qui va jouer Zelda, parce que dans le premier film...
C'est un homme.
C'est un homme de 21 ans.
Mais tu sais pourquoi?
C'est n'importe quoi.
Mais vous savez pourquoi?
Non.
C'est parce qu'en fait, à l'époque, Stephen King et Marie Lambert s'étaient dit qu'une gamine de 14 ans ne ferait pas assez peur pour le rôle de Zelda. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire une espèce de mec trableux,
parce
qu'ils
se sont
dit que ça ferait plus flipper.
C'est ridicule.
Ouais, c'est ridicule, mais bon, enfin, il faut se mettre dans la peau des mecs des années 80.
Ouais, il a quand même une sale gueule pour l'époque.
Emmerich, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, si, enfin, seulement si on a fini sur l'adaptation
non, on a pas
2019.
Fini.
Non, j'ai une dernière anecdote.
Dans ta gueule.
J'aurai un truc à dire après.
En fait, on sait, je pense que le film, il va être truffé de Easter eggs parce qu'on sait déjà que dans le cimetière pour animaux que la production a construit pour le film, on trouve des tombes pour les chiens et les chats des comédiens et des techniciens, dont une dédiée à Smokey, le chat par qui tout est arrivé. Le chat de King, dont Grand Poil a parlé dans sa chronique. Voilà. Donc, il faudra ouvrir l'œil. Voilà. Émeric, c'est à toi.
Et moi, je suis étonné que vous ayez pas parlé de la meilleure adaptation de Cimetière qui a été faite. C'est la chanson Le Matou revient de Steve Waring. Donc, je vous invite là à écouter.
Voilà. Bah, pourquoi tu parles pas des Ramones plutôt?
Parce que cette chanson est extrêmement bien. Il a bien fait d'en parler.
C'est fabuleux.
C'est une chanson sur un chat qui revient. Qui essaye de un fermier essaye de le tuer et il revient tout le temps.
Tiens, j'ai une question juste rapidement parmi vous, qui a un chat?
Moi. D'ailleurs,
moi.
J'en ai deux.
Moi aussi deux.
J'en ai eu un.
Pourquoi?
Pour savoir si vous avez ressenti quelque chose justement particulier par rapport à ça.
Bien sûr.
J'ai pas de chat, j'ai de la compassion envers les animaux.
J'en veux pas. Est-ce que tu regardais ton chat d'un air
suspect? Le chat c'était. Le chat était suffisamment mal peu décrit pour qu'elle puisse identifier sa tortue.
Alors, il avait un peu une bosse, une carapace.
Je vais faire une fanfiction avec une tortue, je crois que...
Bah, mets-toi avec Urde dans ça.
Avec Urde, ça parle si de cul, forcément, donc méfie-toi.
Oh, d'ailleurs, est-ce que ça serait pas temps d'enchaîner sur la théorie de Urde? Je sais que les poditeurs aiment beaucoup cette partie, et oui, moi aussi, j'avoue.
Elle est Urde. Oh.
D'accord. Alors au début, je voulais passer faire une théorie vraiment avec des chats. Je le voulais vraiment très fort. Mais ça ne correspondait pas assez. Alors je vous ai fait quelque chose d'un peu plus classique. Donc, il y a quelques millénaires, alors même que les humains ne foulent le sol du Maine, la forêt régnait en maître sur ce bout de continent. À cette époque, seuls les esprits et autres dieux se partageaient la suprématie des lieux, et l'ordre se faisait naturellement, mais avec force. C'est ainsi que sur ces terres vivait le protecteur des lieux, un esprit de la nature, un seigneur des forêts. Tantôt protecteur et tantôt dévastateur, son rôle était important dans l'ordre de la vie. Ce n'est pas du tout inspiré de Princesse Mononoke.
Oh, chut, j'allais le dire. Merde, putain, j'exagère.
T'as tout spoilé.
Et spoiler, putain.
Moi, il m'a fait penser à l'esprit de la forêt de Princesse Mononoke et Prout.
Oui, bah moi complètement aussi. Les premiers habitants, probablement Inuits, connaissaient et respectaient les traditions, honorant l'esprit en le louant et en comprenant son langage. Les Inuits, remplacés par les Indiens, ont transmis ce savoir pour que la nature, les animaux et les humains puissent vivre en harmonie, même si cela impliquait des sacrifices. L'esprit de la nature demandait aux hommes d'enterrer leurs morts dans un vaste cimetière en forme de spirale où ils pourraient puiser des forces. Mais un jour, un hiver rude, la tribu indienne des Micmacs commit un acte interdit. Ils consommèrent la chair de leurs semblables. Les morts ainsi enterrés corrompurent l'esprit qui ne tarda pas à devenir malin. La terre du cimetière devint aride, les pluies acides s'abattirent et les hivers furent de plus en plus rudes. Les Micmacs, au lieu de cesser de nourrir le mal, continuèrent de se nourrir des cadavres et firent grandir l'esprit maléfique qui ne se nourrissait que de haine et de maléfices. Sa présence était si forte qu'il dut se cacher dans un monde parallèle vide au risque de s'autodétruire. Bien plus tard, les Micmacs quittèrent ces terres maudites et le cimetière fut hors d'atteinte. Donc en gros, ils ont foutu la merde et ils se cassent. Mais il suffit
bravo les Indiens.
Voilà, bravo. Mais il suffit qu'un seul Indien livre le secret pour que son accès perdure. L'esprit malin pouvait contrôler les éléments et le destin pour que régulièrement de nouveaux cadavres lui parviennent. Ces morts ne partaient plus dans la paix et l'harmonie, mais se relevaient sous la forme de Wendigo. Des esprits remplis de haine, au cœur de glace et à l'odeur putride, qui avaient pour seul but de semer le chaos pour nourrir leur maître. Après le départ des Micmacs, l'attraction du lieu était encore plus forte, et les enfants étaient particulièrement attirés par cette force. C'est ainsi qu'ils répétèrent le rituel de leurs ancêtres, en construisant le cimetière des animaux. En entretenant et en offrant leurs anciens compagnons,
l'esprit protecteur tentait de lutter contre le maléfique. Mais tant que la spirale dessinée par les tombes maléfiques était plus grande, l'influence de l'esprit malin attirera toujours plus de sacrifices et créera des wendigos. Et bien que les enfants soient attirés par le magnétisme de l'esprit bénéfique, une fois adultes, l'esprit malin prenait l'ascendant sur eux et les attirait régulièrement dans le cimetière des Micmacs.
Bravo. Ouais,
bravo.
Franchement, nickel. Ça donne envie.
J'adore.
C'est la meilleure analyse du film, du livre et de tout. Hein.
Alors, c'est un préquel. Par contre, je pense qu'il y a une chose qu'on pouvait ajouter que j'ai pensé un peu après avoir écrit ça. C'est que finalement, il n'y a que des hommes qui se perpétuent la tradition du cimetière.
Donc des oh, pardon, Stephen King serait sexiste.
Oh. Alors, je ne sais pas s'il est sexiste, mais ça aurait une certaine logique vu que si ça
remonte
à des millénaires, on peut dire que c'était les esprits, enfin qu'on enterrait uniquement les. Les hommes combattants, quelque part, parce qu'ils avaient plus de force, aurait une logique. Et ça expliquerait pourquoi il y a cette espèce de lien parental entre Jude et Louis, entre autres.
Alors juste, parce que j'ai assisté à un podcast féministe ce week-end, les hommes combattants, en fait, on n'en sait rien. Hein. On ne sait pas si c'est les hommes ou les femmes qui combattaient à la préhistoire chez les Indiens.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, on n'a pas de traces. Bou Stephen King.
Oui, à mon avis, ça varie d'une.
D'ailleurs, dans Shining. En plus, ça avait du sens ce que j'allais dire. Mais c'est pareil, Wendy, c'est comme Rachel, c'est pas le personnage principal. Je veux dire, c'est pas elle qui est autant touchée que le père par les événements. Enfin, c'est quand même des personnages masculins, globalement, ils ont plus la part belle dans Stephen King et ils sont
heureusement
plus.
Heureusement qu'il y a
héros.
Jessie.
Hein. C'est ça.
Mais attends, elle est pas menottée à un lit?
Sur toute l'œuvre de Stephen King, tu peux pas dire que non, les hommes ont plus la part belle de.
Non,
de
mais bon, enfin, je veux dire.
Il y a 70 bouquins.
Les points culottes, ça ne concerne que les femmes.
Oui, mais il y a quand même des trucs sur les mecs aussi, quoi. Je dis pas que les premiers livres sont pas un peu marqués de leur époque parce que.
Ah oui, j'ai pas lu les œuvres récentes, donc vraiment, je. C'est une
ça
théorie.
S'équilibre bien.
Après, c'est peut-être une tentative de King de renverser la Bible en faisant que seuls les hommes commettent le péché.
Peut-être.
De faire ramener les trucs à la vie de façon démoniaque.
C'est ça. Et accessoirement, moi, je me suis posé une question. On parle uniquement de mâles qui ont ressuscité, donc que ce soit des animaux ou des hommes. Donc, on peut se poser la question sur Rachel.
Ah non, Rachel.
Est-ce que vraiment, elle va être un démon?
Il y a un chat.
Sachant que c'est King
qui
a écrit le scénario du film. Sachant que c'est King qui a écrit le scénario du film, si elle poignarde son mari à la fin, soit c'est parce qu'elle veut arrêter le cycle de la malédiction en l'empêchant de transmettre le savoir du cimetière à quelqu'un, soit c'est parce que elle est possédée par l'entité maléfique et qu'elle se nourrit du meurtre de Louis.
Donc voilà, les deux sont possibles pour moi. Ouais.
Oui, mais après, il peut très bien ne pas s'être posé cette question-là aussi. C'est...
Oui, tout à fait. Hein, on va de l'explication de... texte.
Oui, c'est vrai, toujours.
Ok. Ouais.
Je pense que on peut conclure cet épisode.
Oui. Ah bon?
Oui.
Attends, ça fait que,
est-ce que
deux
tu veux...
ans, trois,
heures.
Trois mois.
Est-ce qu'on peut reparler de Shining?
Est-ce que tu qu'on enchaîne sur Shining?
Justement, j'ai mes notes.
Non, c'est bon.
Non, je pense qu'il est temps de conclure. Question habituelle en fin de podcast, est-ce que vous recommanderiez ce livre?
Mais oui,
bien sûr, mais bien sûr, c'est le meilleur
oui.
King.
Grand Poil, oui, Julien, oui, Emmerich, oui, Urd.
Oui.
Je n'en ai pas
vraiment. Coussi coussa, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas bien non plus.
Alors, de souvenir, j'en ai pas recommandé beaucoup, mais celui-là, je le recommande.
Ah. Très bien. Victoire ?
Ah, moi, je le recommande grave. C'est que le deuxième King, donc encore une fois, que j'ai lu, donc je ne suis pas forcément la plus experte parmi vous, mais oui, je le recommande si vous aimez, les page-turner, si vous aimez les histoires qui vous happent, les histoires un peu de fantômes et les drames comme Phèdre. Je suis désolée, j'arrête mes blagues. Ouais, franchement, c'était un excellent livre et je
donc,
le recommande.
Shining.
Lisez Shining.
Et
bien, écoute, oui, je le recommande.
Ah,
ah bah voilà.
Mais encore une fois, je n'ai jamais dit que j'avais détesté ce livre.
Ah si. Ah si, tu l'as dit.
Non. Alors, tu l'as écrit.
J'ai dit qu'il y avait des grosses longueurs.
Pas le mieux, mais pas
j'ai
le pire.
Dit que j'ai dit qu'il était mouef.
Voilà.
J'ai pas dit qu'il était naze.
Bon, je vais chercher nos messages privés.
Bref, on va se quitter là-dessus. Personne oui. n'a rien à rajouter.
Non, c'est bon.
Le prochain.
Bien.
Le prochain.
Alors, j'allais dire déjà. Donc le prochain, ça sera Brume, la nouvelle, et pas tout le recueil. Voilà. Donc ça sera mi-décembre si tout va bien.
Oui, parce qu'il nous faut le temps de lire la nouvelle, regarder le film et regarder la série.
Non, regarde pas la série.
Je le temps sup. C'est pour combien
faire.
C'est pas grave. Oublie-la.
Sur Netflix.
Oublie.
Hein.
Petit rappel, on est sur les réseaux sociaux tous. Enfin tous. On est sur Twitter, Instagram et Facebook.
On est sur Mastodon.
Sans Google Plus.
Sans Google Plus, ça ferme.
Sur Google Plus.
N'hésitez pas à aller voir les autres podcasts de Podcut parce que vraiment ils sont chouettes. Il y en a pour tous les goûts. Et bah, si jamais vous avez quelques euros de trop sur votre compte en banque, vous pouvez les filer à Podcut et ça permettra d'acheter des top micros.
Et puis
des Uber. Ouais. On puisse rentrer chez elle. Non mais voilà, le Patreon existe. Donc n'hésitez pas si jamais vous estimez que notre podcast ou un autre de Podcut le mérite. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, après-midi.
On te retrouve où, Victoire ?
Quoi ?
On te retrouve où ?
Ah oui.
Parce que t'as un podcast qui s'est lancé.
Oui, j'ai un podcast, c'est vrai, qui s'appelle...
Ça s'appelle le Shining Podcast.
Shining chapitre par chapitre.
Avec des commentaires.
On est en train de la perdre.
Viens dedans, adapte-moi si tu peux. Ça va être un épisode de 30 heures.
Mais elle sera toute seule derrière le micro.
Ouais, mais c'est pas grave, tu vois, je peux alimenter la conversation toute seule. Alors oui, donc adapte-moi si tu peux. Donc on est sur Facebook, Twitter, Instagram.
Mais t'as même pas dit c'était quoi le concept.
Mais si, on en a parlé au tout début en fait.
Parce que tu m'écoutes pas, Julien.
Ah merde, bon bah je m'en casse encore.
Bon bah je le redis, c'est je compare juste des romans à leurs adaptations en livre ou en série. Mais par contre, moi je spoil pas, donc les épisodes sont un peu.
Elle spoil que dans les podcasts des autres.
Voilà. Bah non, mais.
Elle se laisse aller quoi.
Mais non, mais là j'ai cru comprendre que vous spoiliez.
On
spoil, donc je
spoil le livre quoi.
Mais oui, mais vous faites des théories sur les autres kings, c'est pas de ma faute.
Et t'as pas d'autre podcast?
Si. J'ai lancé un podcast Disney très récemment, donc qui s'appelle Chronique Disney, le podcast est pareil à retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Chronique Disney, il y a un site internet chroniquedisney.fr. Voilà, ce sera un podcast
mensuel. C'est des chroniques
mensuel.
Sur Disney.
Et sur Shining. Tous les liens entre Disney et Shining.
Et est-ce que Disney va racheter King comme ils ont racheté Marvel?
Bah oui, non, mais oui, c'est sur toutes les activités de la Walt Disney Company. Donc on parle aussi bien des films Disney, mais on va peut-être parler de la Fox, on va parler de Marvel, de Star Wars, des parcs. Enfin bref, il y a énormément de sujets possibles. Donc globalement, on ne va pas se priver.
Ok, cool, merci.
Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on se dit au revoir.
Oui.
Allez,
au revoir.
Merci Victoire.
Bye
d'être
bye.
Au revoir.
Salut.
C'est bizarre. Ah, t'as déjà commencé à enregistrer?
On va lancer l'enregistrement alors, c'est parti.
Ouais, lancez.
Il y a Audacity.
Ça enregistre chez moi.
3, 2, 1, c'est parti.
Bonjour.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Putain.
Mais c'est bien comme ça, il y a les deux, il y a le deux comptes, il y a les claps, c'est, on est
ça passe.
Très bien.
Bon, on est bon ?
Yes.
OK.
3 2
Attends, il faut taper à
zéro. Non, on tape pas, c'est on juste moi pas. Qui fais un décompte pour préparer Pomme.
C'est juste envie de taper pour faire chier quoi.
Urde, on se calme.
On y est dans 3 heures encore.
3 2 1 À toi Pomme. Attends, parce que j'ai fait une fausse manip.
Ah bah ils sont partis.
Ah.
Julien, vous êtes revenu ?
On revient.
On revient.
Ok.
On fait une pause.
Hein. 2 secondes. On va mettre 3 heures.
Je suis désolée, Émilie.
Non, je rentrerai en Uber.
Émilie, elle vit à 1 heure de métro d'ici, en fait.
Bon, voilà, non, mais je prendrai un Uber.
Ça risque d'être tendu.
Il n'y a plus de seuil.
Tu peux peut-être demander à Podcut...
De me payer un Uber.
De
me
payer
un Uber. Attends, on pèse.
Bah oui, avec la podcast money.
Ah oui, on l'a vu tout le week-end, elle ruisselle à dans Paris.
Avec les 10 euros mensuels du Patreon.
Au personnage principal, le temps.
Non, juste après. Tu veux que j'enlève le fait que ce soit le personnage principal?
Non, bon, allez, on va le tas de chapitre qui ne manque pas de piquant.
Oh, oh, oh.
Alors, je sais que dans le chat pour préparer l'émission, on a fait des gifs de Philippe Bouvard et tout. Mais cela devait rester du niveau de la blague.
Ok, ok.
Bon, allez, chapitre 9. On reprend.
C'est que ça.
Ah bah si, tu leur dis que c'est pas paranormal.
Oh bah ok.
Excusez-nous, non,
c'est peut-être moi qui essaye d'aller trop loin dans ce truc-là.
Non, c'est pas pour vous remarquer. C'est rigoler.
Mais en plus, comme vous avez pas entendu, c'était pas grave. En fait, Julien vient de se lever pour en nous demandant si on voulait boire quelque chose. Émilie et moi, on a discrètement fait non. Et Victoire a discrètement fait rosé dans le micro. Désolé, c'est bon.
La honte.
Mais du coup, je vais prendre du rosé aussi.
Désolé, c'est pas très cool pour vous. C'est
fait oh, le monteur, il va en chier.
Ah, et puis, c'est pas ça comme s'il avait pas beaucoup de temps en plus pour le monter, celui-là. On continue.
Ça
on
passe.
Continue, allez, on continue.
Ouais. Juste, on peut reparler quand même du père, de ce qu'il fait ou pas?
Si
le beau-père.
On en a un peu parlé. Mais
on en a parlé.
Vous avez dit qu'il a voulu payer.
Oui, je l'ai dit. Ouais.
Ok, je me casse à la cuisine.
Vas-y, ravitaille le rosé.
Vous pouvez couper.
2h50.
Oh,
easy.
On savait que ça serait long. Hein.
Non, mais attends, il y a beaucoup
long,
de moments de rigolade. Tu aussi. Peux mettre, on peut couper ça.
Oh non, c'est dommage.